Bonjour tout le monde, ici Better Days. Alors non, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas faire tout le podcast seul, ça c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que nous avons changé de studio pour enregistrer le Vox Tenebrae numéro 3. Et en fait, c'est un studio qui se trouve sous l'eau, au plus profond des abysses, où est actuellement fabriqué le dernier fanzine Tenebrae, le dernier Veilleur. Donc vous allez voir que le son en pâtit énormément, c'est un son subaquatique et vous allez avoir probablement du mal à entendre certaines choses. C'est en grande partie de ma faute, donc voilà, je suis là avant tout pour m'excuser. Malgré tout, si vous tendez l'oreille, vous allez entendre peut-être un de nos meilleurs podcasts, en tout cas une édition qui a été très agréable à enregistrer. Et enfin voilà, je ne peux que vous dire que la qualité va revenir à la normale pour le numéro 4 en janvier. Et en attendant, je vous souhaite malgré tout une bonne plongée dans 5, 4, 3, 2, 1.
Bonjour et bienvenue dans Vox Tenebrae numéro 3. Nous sommes là tous ensemble avec même un nouveau. Je suis là, Better Days.
Le président, Cyprius.
Oui, c'est moi, Cyprius, Arnaud. Sinople, Jérémy.
Et Guillaume Popoff, le nouveau secrétaire maintenant.
Et un invité de marque.
Et Nomad Star, qui est là peut-être occasionnellement, ou exceptionnellement, je ne sais pas.
Mais peut-être pas. Peut-être pas.
Un des compteurs réguliers des nuits.
Dans ouais. Période d'essai, on va voir si ça se passe bien. Et voilà.
Café, Nomad Star.
D'accord, j'arrive tout de suite. Donc aujourd'hui on fait les news avec un peu vos réactions encore une fois au podcast numéro 2 qui était vachement bien. On a quelques citations venues des forums, on a le top des ventes qui va cette fois être sponsorisé par Amazon. On a un petit peu quelques petites choses à vous dire sur le statut de Tenebrae, la reprise du fanzine notamment, quelques comptes rendus, on a voilà. Et donc ensuite on va vous présenter Prométhée hein, cette fois-ci. C'est notre gamme un petit peu du jour qui va faire un lien vers un petit peu notre dossier, comme ça, on lié à la nuit ténébrée, Good Guys, en fait, on va vous parler de la moralité. Une lumière s'allume, et une lumière s'éteint. Ensuite, donc voilà, on va vous parler un peu de la moralité dans le monde des ténèbres. Ouais, voilà. Qu'est-ce qui se passe dans ce studio, alors?
Ce problème de l'étanchéité, on dirait.
Un nouveau studio. Ah, d'accord, le studio est infiltré. Alors, on sait que... Tu n'es pas un très très bon son, hein, parce que voilà,
c'est un peu spécial,
on a changé de studio.
Première proposition, il faut quelque chose de très grand, parce que le master prend la place.
Et oui. Donc on vous parlera de la moralité, un petit peu, on verra comment ça a évolué un peu dans le monde des ténèbres, hein, depuis l'humanité de vampire jusqu'à la clarté de Changeling et un petit peu tout ça.
Et pour finir, les inspirations extérieures.
Voilà, comme d'habitude. On vous parlera de choses et d'autres. Alors, on commence tout de suite par le courrier des lecteurs.
Parce oui.
Moi, je suis tellement content d'avoir du courrier des lecteurs. Hein, parce que c'était une rubrique vraiment que je voulais faire, donc on le fait tout de suite.
Voilà. Ok. Alors, donc, t'as eu.
Alors, on a Z le Ouf.
Première réaction. Oui, Z le Ouf.
Z le Ouf qui nous dit donc, salut les voix, maintenant que vous êtes des stars dont la voix est reconnue partout dans le monde, je me demandais si vous seriez intéressé par la proposition suivante. En effet, je me suis toujours demandé à quoi ressemblaient les parties des autres. Comment jouer le maître, comment s'exprimer les joueurs, et j'ai eu cette idée qui pourrait bien servir à de nombreux jeunes maîtres de jeu ou joueurs, mais aussi ceux qui s'intéressent mais ne comprennent pas bien comment cela fonctionne. Comme les Nuits Ténébrées ont acquis une certaine notoriété, ils ont quelque chose d'officiel pour nous les fans, et à ce titre, je pense que ce serait une expérience énorme que de pouvoir écouter, comme pour le podcast, une de vos parties, ou pire, de longs extraits s'il y a beaucoup de temps mort. Que pensez-vous de cette idée? Pour ma part, je serais incroyable pour... Soit me sentir à l'aise comme maître de jeu, etc. etc.
Ouais, donc l'idée en fait c'est d'enregistrer des extraits des parties
au lieu de les barrer.
Voilà.
Honnêtement, je sens pas franchement une très grande idée parce qu'une partie de jeu de rôle en général, à moins d'avoir un très bon master et des très bons joueurs qui sont bien disciplinés, entre toutes les blagues,
il y aura un montage.
Il y aura beaucoup de montage à mon avis, peut-être avec 6 heures de rush pour 2 minutes.
Ouais. Moi ce que j'en pense, déjà il y aura un problème de... Le fait de savoir qu'on est enregistré, on n'est pas
naturel,
on n'est pas habituel, on fera moins de blagues, moins de choses en tout cas qui peuvent être dites, publiées. En plus ça peut pas forcément rendre tous les paramètres d'une partie. Une partie de rôle c'est pas uniquement une voix, c'est un regard, c'est des illustrations, c'est des jets de dés, c'est parfois des gestes, enfin, ça peut se transformer en TGN des fois. Il peut y avoir des apartés avec les joueurs, enfin, on peut pas rendre tout ce qui fait une partie de jeu de rôle. Et puis il y a aussi quelque chose qui me dérange fortement, c'est savoir ce que c'est un bon MJ. Il n'y a pas de bon MJ, on ne peut pas classer les MJ en disant ça c'est un bon, c'est un mauvais. Il y a des bonnes parties de jeu de rôle, et ça, on ne peut pas copier une partie de rôle pour la faire chez soi.
Non, mais il y a le bon MJ quand même.
Oui, mais bon, enfin moi, à titre personnel, moi j'ai toujours trouvé ça très chiant que quelqu'un d'autre me raconte sa partie de jeu de rôle quand j'y ai pas assisté.
C'est vrai.
Donc c'est pas de ce point de vue-là, c'est vrai que moi je serais assez sceptique.
Mais moi, franchement, j'étais tombé sur un site il y a vraiment longtemps et ils avaient pas des parties entières, mais c'était juste des extraits. C'était vraiment drôle. Je me rappelle d'un truc, par exemple. Enfin, si c'était vraiment des best-of, tu vois, des trucs quelques secondes où c'est vraiment drôle et où c'est accessible. Hein. Tu vois, là, je pense que c'était un mec. Genre, oui, le mal qui m'habite ne peut pas être guéri. Ah, tiens, prends une gorgée de ça, ça va t'aider. Alors, il prend une gorgée. Ah, c'est un bizarre ce truc-là. Ah, c'est normal, c'est du cyanure. Ouais, je trouvais ça super drôle, tu vois. T'as la situation, tu vois, c'est tellement jeu de rôle, tu vois, ton qui se marre. Je sais pas, moi j'aimais bien.
Oui, sauf que ça, c'est possible pour deux raisons. Déjà, parce que c'est rapporté, donc c'est-à-dire que les gens savaient pas qu'ils étaient enregistrés. Parce qu'il a choisi de le dire après, ça change rien, c'est une partie, c'est. Et puis, il faut choisir l'extrait. Comment tu choisis l'extracteur gis, tu sais pas que ça va être drôle.
Charge, il faut c'est du boulot, c'est-à-dire il faut tout enregistrer et ensuite faire un travail de.
Voilà,
c'est un gros travail.
Il faudrait que quelqu'un s'occupe de réécouter toutes les parties des Nuits Télébrae qui durent de 20h jusqu'à 6h du matin.
Better Days.
Si c'est pas tard, hein.
Pourquoi pas. C'est noté. Et notre public sera témoin.
Non, mais franchement.
Pourquoi pas.
Moi, ce que j'aimerais bien faire sur le podcast, c'est faire une espèce de partie fiction où ce serait. Un peu comme une partie, mais genre pas tout à fait où on aura
fausse partie de rôle. En fait, toutes nos répliques seraient déjà faites.
Une vraie fausse ou une fausse vraie?
J'opine du chef. Non, c'est une très bonne idée, je pense, de faire comme ça une
pièce radiophonique.
Voilà.
Ouais, voilà, c'est une espèce de feuilleton. On ne serait pas les premiers, parce qu'il y avait le donjon de. Mais si on pouvait faire une version un peu ténébraille, des vampires, des garous, c'est une espèce de grand crossover comique et tout, ça serait sympa. Mais bon, si vous avez des idées là-dessus, n'hésitez pas
à creuser.
Ouais. On est en train de chercher, ça fait en fait depuis le premier, hein, il y a ces Popov qui avait proposé quelque chose comme ça en fait. Et moi j'ai trouvé que c'était vraiment une bonne idée, on n'arrivait pas à trouver vraiment le ton qui conviendrait parce que fallait pas que ce soit trop écrit ou fallait que ce soit bien productif aussi. Enfin,
mais comique, ouais, c'est une bonne piste.
Sur un truc comique, après c'est.
C'est sûr que le tragique, ça risque d'être un peu lourd pour le coup.
Les rôles, c'est quand même le comique. Un peu.
Ouais, mais on est dans les ténèbres.
Ouais.
Je suis plaisante.
Bon, mais alors pour répondre donc à Geoffrey alias Z le Hoop, bah écoute, franchement, on va pas le faire forcément nous, mais ce qui serait intéressant, c'est envoyez-nous vos extraits de partie si vous trouvez qu'il y a des choses intéressantes, sympas, quelque chose de
qui pourrait bien passer. Et puis même si au Nuit Télébrae, il y a des compteurs qui veulent mettre un micro pendant leur partie, pourquoi pas, enfin je veux dire,
ce qu'ils veulent.
C'est même encouragé.
C'est vrai que niveau technique, bon, si nous on doit s'occuper de ça pour toutes les tables aujourd'hui, c'est un peu compliqué, donc ouais, pourquoi pas. Après, on fait un sorte de montage avec quelques secondes, quelques minutes.
De toute façon, il faudra placer les Nuits Ténébreuses sur les Intuit Vidéo.
Ah ouais?
Autant, on peut ça.
L'épita va s'en charger.
Bien, donc ensuite nous avons Dominique qui nous dit bonjour, encore bravo pour ce numéro 2. J'ai passé un très agréable moment en votre compagnie, comme pas mal de monde, je suppose. C'est sympa. Alors après les éloges, montre-nous critiques. Alors, d'abord, si le podcast a pour but de s'adresser à tous les fans du MDT, Sion et Exalted compris, ne vaudrait-il pas mieux restreindre les rubriques un petit peu trop spécifiques à la vie ténébrée, l'assaut? Enfin, vous avez prévu de créer une rubrique critique de gamme, je précise mon propos, par exemple, pour la gamme Requiem, donnez votre avis sur chacun des bouquins de la gamme, et peut-être votre idée de l'indispensable, genre un top 5 à l'intérieur de la gamme. Bon voilà, merci encore pour ce podcast, c'est génial, continuez.
Alors, donc ça, c'est un mail auquel a répondu Cyprius, hein, et lui a dit, en gros, fils de petite merde.
Non, c'est pas vrai.
Oui, attention, ok.
Non, je fais comme ça. Non, mais c'est juste qu'effectivement, moi, ça me paraissait vraiment nécessaire de, quand même, qu'on parle un peu de l'association, et je pense pas qu'on en ait parlé vraiment beaucoup, parce que, j'estime que c'est un peu nous qui, c'est super orgueil de ma part, par rapport à l'assaut, mais c'est un peu nous qui faisons vivre le MDT, Sion, Exalted en France.
Il n'y a pas de mal à se faire un peu connaître.
Maintenant je peux comprendre effectivement qu'il l'avait dit d'ailleurs, je suis un peu sanguin par mail, disons. Il avait dit effectivement que bon, si on commence à parler de la soirée Merguez Frites qu'on a faite, qu'on ne fait jamais d'ailleurs,
tout ce qu'on fait.
À à Télébrae. Bon, effectivement, ça pourrait être chiant maintenant.
Nous, c'est...
Bon, maintenant, si tout le monde proteste en disant non, c'est bon, censurez-vous sur l'association.
Temps, c'est vrai qu'on a parlé un peu d'un buffet gratuit et tout comme ça. Et peut-être que ça a des coups. Hein.
Ouais, un buffet gratuit.
C'est deux mots. Deux mots.
il était bien en buffet gratuit d'ailleurs.
Ouais. Ah oui, il était très court.
Bref, c'est parce qu'il y avait plein de gourmands. En tout cas, on parle trop de la sauce.
Gratuit,
il n'y a pas de pépito, on parle trop de la sauce.
Non, mais
tu es reporter.
Non, je sais pas si on parle trop de l'assaut, mais en tout cas, bon, c'est-à-dire que là, en fait, nous, on est un peu en train de tester hein, le format du podcast, donc on n'a rien de vraiment... nous, ce qu'on essaye de faire, c'est quelque chose qui va plaire aux gens, après, ouais, donc on va pas dire, sous prétexte que voilà, c'est l'association Ténébrae qui fait le podcast, on va pas imposer quelque chose que les gens n'ont pas envie d'entendre. Et c'est vrai que, voilà, on est sur Internet, donc il y a probablement la majorité des gens vont jamais venir à une AG ou à une Ténébrae même, donc... Ouais. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Maintenant, on essaie de vous donner un petit peu envie aussi d'écouter ce qui se passe dans cette association. Hein. On essaie d'être comme attractif et de donner un peu, comment dire, vous faire découvrir un peu l'ambiance qui se cache derrière. Et voilà. Donc voilà. Bah, alors sinon, les réactions au podcast hein, sur les formes. Hein. Alors non, parce qu'on a dit, parce qu'on a vu au départ des clips. Oui.
Il y a autre chose aussi. Elle parle de crédit de supplément.
Ah oui, pardon. Alors oui, donc il nous dit oui, alors les critiques de Gambassa, on l'a fait déjà.
Par exemple, critiques de tous les suppléments. Bah, ça prendrait
voilà,
beaucoup de temps.
On l'avait déjà fait pour un changement et c'était assez fastidieux.
Pour non, mais changement, c'est une gamme fermée. Elle ouais, parle de Requiem.
Requiem.
On garde les gammes ouvertes. On les a mis un peu de côté parce que c'est vrai que c'est un peu
fastidieux.
Fastidieux était énorme encore. Et puis on voulait tester sur les gammes un peu fermées, c'est plus facile.
Faire une vraie critique de supplément, ça veut dire le lire en entier. Donc, c'est-à-dire que tout le monde doit prendre le temps de lire le supplément, sinon ça fait forcément il n'y a qu'un seul avis, c'est pas pareil. Et puis ça prend du temps pendant le podcast parce que d'écrire un supplément ça peut être très long, on a vu avec Franklin. La vision peut être vachement biaisée quoi, s'il y en a qu'un qui lit le truc. C'est pas une critique du supplément.
Par contre, de toute façon, on essaiera de parler à un moment de Requiem spécifiquement, je pense. Il faudrait
description rapide de chaque supplément, ou dans les grandes lignes.
Oui, ou les suppléments intéressants. On les sélectionne. Les gens sélectionnent comme ça. Ceux qui sont pas cités, ceux qui sont pas intéressants.
Alors, en fait, il dit, donnez votre avis sur chacun des bouquins et faites un top 5. Je pense qu'on va faire un top 5. On peut parler, enfin, genre dire vraiment 5 mots sur l'ensemble des trucs et s'arrêter sur celle qui. De la vie de la personne ouais. qui est le présentateur de cette gamme, voilà. Bon, et puis éditorialement, donc je pense qu'on. Apparemment, ça a l'air de plaire, hein, je pense. Moi, j'ai eu un doute à un moment, je me demandais si c'était pas un peu laborieux de présenter toutes ces gammes. Alors finalement, bon, on a reçu quelques avis de gens qui disaient non, si, continuez, on a envie de tout entendre.
Pas de mec d'insulte.
Donc pour être cohérent, là, ce qu'on va essayer de faire, c'est de remonter dans le temps. Donc là, on vous a fait Changelin, Sion, maintenant on fait Prométhéen. Peut-être le prochain podcast, on pourrait faire Mage, puis Loup-Garou, puis Vampire, et après peut-être repartir dans le premier
Exalted.
Monde des ténèbres.
Un moment
Exalted, ouais.
Ce serait
avant Requiem.
Ouais. C'est dans le MDT, ça bon. Pourquoi pas.
Donc ça a été voté, bon, on en parle. Donc voilà, donc je disais, sinon, ouais, les réactions au podcast, vraiment bien. Alors, on avait dit au début, parce que pour le premier, on a eu des critiques, genre, oui, c'est trop long. Alors pour le deux, évidemment, pour emmerder tout le monde, on a fait un 3 heures.
tu présentes bien les choses.
Ouais, donc on s'est dit, bon, on va avoir plein de critiques encore. Et donc on a dit, s'il vous plaît, bon, tant pis, n'écoutez pas d'un coup. Alors pour nous emmerder, ils ont répondu, ah, mais j'ai tout écouté d'un seul coup. Hein, genre, une fois qu'on l'a posté, une heure après, il y a déjà des gens qui disaient, ah, mais c'est trop court.
En une heure, ils avaient pu en écouter 3 heures.
C'est incroyable.
Ouais. Comme quoi,
wow.
On a vraiment du succès.
Non, ça, c'est la technologie.
Ouais. Non, parce qu'ils ont téléchargé le podcast dans leur cerveau directement. Donc, avec le débit, en fait, ça a pu. Non, mais les gens, ouais, dans la journée, avaient écouté tout d'une traite. Donc, vraiment sympa.
Ouais.
Donc, voilà.
Non, mais c'est vrai qu'au final, quand on fait un bilan, on n'a pas eu. Alors, si vous censurez, faut pas, hein, mais on a pas eu vraiment de mail qui nous critique, qui critique au niveau de la démarche, là, ou même du contenu, finalement, de manière globale.
Mais n'hésitez pas à ne pas voilà. Censurer.
Voilà, c'est ça. S'il y a un problème, on est là pour vous écouter.
Pour l'instant, on n'a que des bons échos. Enfin, ouais. Globalement, on a énormément de bons échos.
Oui, oui, oui.
On arrête de jeter des fleurs et on.
Ouais.
Sur la gestion du podcast, vraiment, la façon dont on va procéder, c'est on va vraiment écouter ce que vous voulez. Donc, si on a des choses qui reviennent, on va vraiment les prendre en compte. Et ça, parce que le but, c'est ça, c'est de faire quelque chose qui soit intéressant pour un maximum de gens, parce que le podcast, il existe un petit peu grâce à l'association et beaucoup aussi parce que les gens écoutent. Donc voilà. Sur ce, on passe aux citations des grands de White Wolf sur les forums. On commence tout de suite avec Ethan Skemp qui parle un petit peu de ce qu'il pense la relation entre le monde des ténèbres et donc l'animation japonaise. Il y a un forumite qui s'appelle Dr. Strangelove qui demande « Personnellement, moi j'aimerais bien voir un jeu de White Wolf basé sur les animés. » Donc là, bon, certains pensent que c'est Valped, mais pas forcément. Lui, il voudrait un truc totalement
il existe déjà, c'est White Wolf a repris BESM Big Ace and Small Wolves, qui était le jeu animé fait par un studio américain.
Oui, c'est
fait. Il était repris sur la licence White Wolf, mais sous Art House, une de leurs maisons, de leurs filières. D'une certaine manière, il existe déjà.
Oui, non, ouais, mais lui, il veut un monde parce qu'il n'y a pas de monde dans BESM.
Oui, c'est générique.
Peut-être qu'il veut du MDT, style manga. Et là, c'est
peut-être ça torturé. En tout cas, il dit tout le monde n'est pas pas envie d'avoir quelque chose de sombre, angoissé, voilà.
D'autres jeux que le MDT.
Le problème, c'est que anime, ça regroupe quand même tous les genres possibles et imaginables. Il y a autant de steampunk qu'il y a de trucs de science-fiction.
C'est pas forcément un genre, c'est un univers. Ça. Oui. Le genre, c'est un filtre à partir de l'univers et l'anime, ça met quand même souvent un filtre assez définissable.
Ouais, enfin c'est quand même protéiforme. Je veux dire si
protéiforme.
Si jamais la personne qui
c'est un mot savant pour dire qui est pour faire un peu.
Non pas du tout. Bref.
Protéiforme, c'est la multiple forme. En fait.
Ouais, c'est ça.
Ah je peux changer de forme.
Ouais. Change de forme.
C'est bref. Garou, donc Ethan Skemp répond. Bah en fait il y a déjà de toute façon des animés qui sont un peu angoissés et d'horreur et des choses comme ça. Puisque c'est un genre voilà. Enfin, c'est pas un genre plutôt, mais un média. Et il dit, il y a des animés en fait qui ont servi d'inspiration pour le monde des ténèbres. En fait, par exemple, Princess Mononoke, il dit est particulièrement apprécié pour tout ce qui a un lien avec l'animisme. Et même Exalted, en fait, n'est pas basé sur l'animation dans son intégralité. En fait, même s'il y a de l'inspiration de Ninja Scroll ou de Doom Royaume. On n'a pas utilisé Maison Ikoku ou Astro Boy juste parce que c'est animé au Japon. Donc il dit en fait, on s'en inspire quand ça a un sens. Quoi.
Bah, sur Exalté, au niveau de l'historique, très rapidement, c'est que au début, les illustrations étaient, la première édition était très inspirée manga. Ça a disparu légèrement pour la deuxième, mais ça persiste quand même, franchement. Parce qu'il y a eu des critiques en fait à l'époque disant que ouais, les illustrations faisaient pas forcément envie de jouer. Pour certains qui n'étaient pas des fans du manga de l'anime.
Il y a beaucoup de critiques vis-à-vis de ces illustrations.
Ouais, il y a pas mal de critiques.
Et pourtant, elles étaient bonnes.
Ouais, moi j'aimais bien.
C'est très bon aussi, notamment parce que j'aime beaucoup ces illustrations en double page qui faisaient un écran cinémascope qui donnait une dimension très épique au jeu et elles ont disparu dans les éditions.
Est-ce que le but c'est de faire un jeu qui plaît au plus de monde possible? Forcément, il ne faut pas faire le jeu plus plat pour que ça plaise à tout le monde. Si on doit mettre un genre manga exalté, qu'on le mette.
Non, mais vraiment.
Mais. En fait, Exalted, c'est pas si manga. Il est manga entre autres. Il y a quelques parties manga, mais il n'est pas entièrement manga.
L'ambiance est animée aussi.
Ouais, enfin, ça dépend comment. Ça dépend aussi.
Héroïque,
ouais, parce que tu peux très bien t'inspirer beaucoup plus de l'Antiquité grecque et romaine, par exemple.
C'est un peu pourri de
ouais,
mon truc.
L'Antiquité grecque fait par un mec, un mangaka japonais. Franchement, ça existe. Et franchement, c'est ça, c'est Exalted.
Bah, c'est vrai que le royaume des Sombragons, c'est très, très asiatique en fait.
Moi je trouve très romain, proche de l'Antiquité.
Un côté à la fois empire romain et chinois.
Mais c'est vrai que quand ils ont lancé Exalted, ça a été fait vraiment en prenant le studio donc Udum qui font beaucoup d'illustrations, des couvertures, etc. Ouais. Et c'est vrai que je pense que chez White Wolf, pour moi c'est la première fois que j'avais vu quelque chose d'aussi visuel en fait comme lancement. Ouais. C'est-à-dire que le jeu était vraiment amené comme un manga, oui, quand même. Ouais. Hein. C'était le jeu. Qui était complètement indissociable de son style visuel. Et,
manga et en même temps, je dirais très comics aussi. Oui, très comics américains.
C'est un mélange. Hein.
Des années 90, un peu les comics à l'image, très graphique.
C'était pas le style.
Ah, ouais, mais maintenant ça le devient. Toi. Ils ont fait une série de comics qui s'est arrêtée et c'est vraiment une esthétique comics.
C'est vrai que le dernier comics est quand même plus proche du dernier comics, tu vois. La dernière BD. Adaptation bande dessinée est quand même plus comics que manga. Hein.
Ça a peut-être changé maintenant, hein, mais moi, je me rappelle, au lancement, ça me semblait vraiment très manga.
C'est ce qu'on disait, je pense que ça a changé parce qu'ils ont eu pas mal de critiques à ce niveau-là.
Ils ont des critiques en même temps, mais je pense que cet aspect visuel, ils sont arrivés à une époque où du jeu de rôle, où malgré tout, enfin tout est, on est vraiment dans une époque où le visuel est vraiment important. Ouais, je pense que ça a vraiment participé au succès des Zelda, hein, d'avoir cette influence-là.
D'ailleurs, on le voit maintenant, les couvertures des nouveaux trucs sont clairement des trucs attirants, enfin qui.
Oui, les nouvelles couvertures sont vraiment faites.
Design qui attire tout de suite.
Alors, en plus, à ce niveau-là, je trouve qu'en termes de. C'est pas les seuls aussi. Les seuls. Morito, c'est pas les seuls dans ce cas-là, c'est-à-dire que. Un studio américain qui reprend une esthétique manga. Il y a aussi une série de, pour les gamins, mais qui est vraiment très bien, c'est Avatar The Last Airbender. C'est vraiment du mangaka fait par des studios américains, avec une esthétique qui est à la fois entre l'esthétique du dessin animé
et du comics
et du manga. Quoi. Il y a vraiment une influence manifeste entre eux. Et d'ailleurs, c'est une très bonne série pour tous les fans d'Exaltic que je conseille.
Oui, justement, ce que j'allais dire, oui, ça ressemble. Vraiment à Exalted.
Totalement, presque.
Il y a aussi des éléments de loup-garou, hein, puisqu'il y a aussi le Spirit War. C'est vraiment une très bonne série.
Mais du coup, alors, si on revient exactement à la question posée, donc la question c'était en fait c'était faire un animé jeu. Dans le MDT.
Faire un jeu typé de manga.
La façon dont il le dit, c'est j'aimerais voir un jeu de Whitehall basé sur les animés. Donc je pense qu'il veut dire c'est un jeu moderne.
Ouais, c'est ce que
peut-être
c'est
à la Bleach ou un truc comme ça.
Ouais.
Avec un super générique japonais au début. Et... ben, ouais. Il donne les notes et on... chaque joueur, au fait, pour faire un personnage, doit avant tout bien chanter le générique en japonais.
Ouais, karaoke, c'est bien ça.
Donc, bref, bah, de toute façon, c'est pas prévu déjà, je crois.
Ben, on verra hein, si jamais vraiment ce qui marche.
Je pense qu'il y a des problèmes.
En tout cas, voilà nos avis.
Alors, il y a du neuf pour les loups-garous, et notamment peut-être Spirit Slayer peut servir de coupe-fin un petit peu pour les fans de garous qui sont en manque d'extension. C'est ce que demande James C. sur donc, le forum. Il dit, voilà, je voulais juste savoir, est-ce qu'on peut utiliser ce bouquin de Hunter sans le bouquin de Hunter, c'est-à-dire vraiment pour loups-garous. Est-ce que ça a l'air d'être intéressant sur les loups-garous à Philadelphia, en tant que cadre? J'ai toujours aimé Garou et j'aimerais bien voir de nouveaux bouquins parce que c'est vrai que c'est un petit peu maigre en ce moment les sorties pour Garou.
La sortie de
cette année, si, 2008. Hein. 2008. Trials of the Moon.
Le début 2008.
Ouais. Le prochain, c'est Night Horrors. C'est quoi le nom
Wolfsbane, ouais, c'est ça. C'est la réponse donc, du développeur de. Bah, alors, donc, déjà, il a une réponse de celui qui s'appelle Black Hat Matt, hein, c'est-à-dire Matthew McFarland. Qui est un auteur très, très prolifique de White Wolf, qui dit oui, il y a peut-être certains mécanismes qui ne vont pas vraiment être très compréhensibles tout de suite, mais Hunter, franchement, c'est une extension du bouquin de base, finalement, du monde des ténèbres. Donc ça ne va pas être trop difficile. Et de toute façon, les informations sur le cadre devraient être utiles directement. Voilà. Donc d'ailleurs, de dire, vous pouvez y aller, si vous n'avez pas Hunter, vous pouvez utiliser ça.
Bah, ça me paraît difficile parce que on prend l'exemple du livre sur les magiciens, enfin les mages. Faut quand même connaître le mécanisme, enfin les pouvoirs qui ont été simplifiés, etc.
La différence, c'est que le livre sur les mages il traite de tous les types de magie, oui. Pas de la magie éveillée.
Et ça va être alors, c'est ça qui est peut-être intéressant. C'est que normalement, Spirit Slayer devrait surtout parler des changeurs de forme, des changeurs de peau.
Skin Changer, donc s'il apporte rien de nouveau.
Mais ça va surtout du point de vue de ceux qui chassent.
Bah,
avec des conspirations, des pouvoirs qui sont spécifiques à la chasse au loup-garou, avec du matériel spécifique à la chasse au loup-garou. Je pense qu'effectivement, pour les antagonistes, dans ce cas-là, pour loup-garou, des antagonistes Hunter qui ont des petits plus, ouais, c'est pas mal. Mais par contre, moi je pense qu'il faut quand même avoir le bouquin de Hunter de base. Surtout si on prend comme antagoniste des Hunter.
C'est pareil pour Mage et le Second Sight qui faisait la généralité des mages, ceux qui font de la magie.
Ah, c'est du psychique.
Pouvoir en
magie. Enfin,
il y a plusieurs définitions de pouvoir, il y avait le psychique, le magique,
il y a plein de trucs. Et à côté, donc Witchfinder, c'est pas Second Sight 2, quoi. C'est juste du point de vue Hunter. Et...
Ouais. Mais c'est vrai que bon, il y aura un chapitre sur Philadelphie et donc, si j'ai bien compris, ce serait une enclave de loup-garou.
C'est un peu une espèce de By Night pour le garou aussi.
Ouais,
garou
c'est rapide, hein. Donc,
oui, ça fait un chapitre.
Ouais. C'est un chapitre. Moi, je sais pas, moi, ils m'avaient déçu quand même sur leur pub par rapport à. Par rapport au livre Night Horror que je change un, où il disait que ce serait utile pour tous les jeux, bon, effectivement.
Non, là, c'était pas le cas, mais.
Là, je sais pas, pourquoi pas. Mais franchement, ça me paraît difficile. Ça me paraît difficile.
Ce que c'est, que.
Je passe à Hunter, le bouquin de base pour
Spirit. Surtout, ça risque pas de faire doublon avec Book of Spirits.
Oui, surtout que je crois qu'il y aura un chapitre sur le monde des esprits aussi.
Bah voilà, donc c'est déjà. Enfin...
C'est la chasse aux esprits également, c'est esprit et changeur de
Book of Spirit lui-même fait déjà doublon avec son complément. Enfin, Book,
c'est vrai.
Pour un MJ Forsaken, Book of Spirit déjà fait doublon. Pour un MJ Awakening, il est déjà plus intéressant. Et pour un MJ Vampire, il est intéressant que si tu décides que c'est des vampires, on découvre qu'ils peuvent avoir une psychic blocker. Il est aussi un peu bâtard, Book of Spirit.
C'est vrai. Il est fait pour les MDT de base, avec les humains. Maintenant, c'est une gamme à part entière.
Ouais. Mais bon, mais effectivement, bon à voir. Mais je pense quand même que c'est mieux quand on veut utiliser les Hunters comme antagonistes de loup-garou d'avoir le bouquin de base et avoir en plus Spirit Slayer.
Bon, et puis donc Chuck Wendig, un développeur de loup-garou, confirme, développeur de Hunter, confirme ça et dit mais vous inquiétez pas, il y a quand même quelques nouveaux garous à l'horizon, hein, dont oui. Effectivement le Night Horrors, Wolfsbane. Et il y a eu de nouvelles annonces aussi pour Garou, je crois qu'il y en a au moins un autre que j'avais vu très bien, je l'ai pas sur moi. Voilà, en gros. Donc Chuck Wendig, donc développeur de Hunter, et aussi le développeur, on vous l'avait dit la dernière fois, de World of Darkness Armory Reloaded, donc numéro 2. Et il dit ça va peut-être pas s'appeler comme ça, ils sont pas encore sur du nom, mais bon voilà. Alors il dit des petites choses, il dit que le dernier chapitre, là, la vraiment impressionné, c'était par donc toujours Matt McFarland, qui c'est vrai qu'il est vraiment doué, hein. c'est le mec qui a développé les. Moi je le connais surtout par rapport à Dark Age Fae, qui a développé. Il est aussi responsable de toute la partie fetch de nouveau changement, qui est vraiment une saveur un peu tournante du jeu. Et il a fait Innocence aussi, qui est vraiment sympa. Enfin, c'est vraiment quelqu'un de doué, hein, je trouve. Donc c'est lui qui aurait écrit la fin du chapitre. Apparemment c'est un truc incroyable. Voilà, genre.
Mais on sait pas ce que c'est.
C'est pas incroyable.
En tout cas c'est incroyable.
Il y a un truc incroyable dans Armory 2.
Ouais.
Une super arme qui va tuer tout le monde.
Alors il dit, je vais essayer de traduire le mieux possible. Il dit que ça enfonce certaines portes qui étaient jusque là fermées et que ça explose certaines notions préconçues.
Porte explose fermée.
Ouais, Armory
quelque PNP, chose. En fait. Hein. Du PNP.
Bon.
Et il dit, mais j'aime bien le reste du bouquin aussi.
D'accord. Bon, bah, à guetter.
Voilà. À guetter également. Donc, ça, c'est toujours Chuck Wendig hein, qui a peut-être trop parlé, hein, puisqu'il dit qu'il y aurait un livre sur les ovnis qui arriverait. Parce qu'il y a un fan hein, de X-Files qui s'appelle Cigarette Smoking Man, hein, l'homme à la cigarette qui parle. Donc, lui demande, voilà, j'ai acheté Hunter donc la veille et j'étais vraiment très très agréablement surpris par le bouquin, etc. etc. Et il s'est dit, finalement, ça serait vraiment génial d'avoir un bouquin qui explorerait un peu toutes les mythologies des ovnis dans le monde des ténèbres. Est-ce que quelqu'un d'autre pense que ce serait intéressant pour Hunter? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est planifié là-dessus? Donc Chuck Wendig répond, franchement si c'est faisable je sauterais sur l'occasion, c'est vraiment un truc que j'adorerais faire, et je me dis, je pense que ce serait vraiment un moyen excellent de renforcer l'aspect horreur du cadre un petit peu, avec le thème des visites d'aliens, de captures, voilà, un petit peu une espèce d'expérience médicale,
le Kratos,
voilà.
Ouais,
complètement. Et il aimerait avoir plein de, comment dire, de manipulations derrière, etc.
Manipulations gouvernementales.
Voilà.
X-Files.
Ouais, bah c'est une super idée ce supplément. C'est vraiment un truc qui manque au MDT. Et je trouve que c'est des antagonistes hyper intéressants, les ovnis, les aliens. Ils sont hyper appropriés pour du contemporain d'horreur. Et en particulier aux USA, puisqu'il y a beaucoup de villes qui sont décrites dans l'MDT, qui sont des USA, c'est fait presque pour vivre dans l'ambiance des.
Ils avaient déjà abordé un peu la question dans Second Sight. Bon, c'était des esprits extraterrestres, mais ils en avaient déjà un peu parlé. Ils donnaient aussi des clés un peu sur l'interprétation des Idigamé dans le bouquin de base de Garou, en disant que les Idigamé, en gros, c'était des êtres exilés. Qu'il revenait d'on ne sait où, il y avait une petite, un petit clin d'œil, je pense, au mythe de Cthulhu. Donc, ils avaient déjà un peu abordé ces questions, et c'est vrai que l'approfondir, c'est à mon avis une très très bonne idée.
Dans Changeling the Lost, enfin dans le supplément Ultimate Nightmare, ils avaient aussi fait des changelings justement qui ressemblent aux petits gris, à des formes extraterrestres.
Ouais, c'est pas comme une tornade en tête.
Non, ça c'est dans Ultimate Nightmare.
Ouais.
Ou avec justement une illustration et un texte. Un mec qui s'est fait capturer par les tigris, qui se souvient de la raté
en dans Winter Mask, il y a un royaume en fait.
Oui, un royaume avec.
Voilà,
un peu à années 50, enfin, science-fiction des années 50, à la flèche de l'Ordre,
c'est le mythe de l'enlèvement. C'est le mythe de l'enlèvement.
Là, c'était plus une planète avec des champignons géants, des petits arbres, des choses comme ça en fait.
Ah c'est, oui. C'est ça que le mythe de Star Trek. Mais le mythe de l'enlèvement, de toute façon, est déjà le mythe de prédilection de Changing the Lost. Mm. Voilà, parce qu'il y a, même des passages où il y a des changelins tournés sur Terre qui interprètent l'enlèvement comme étant. C'est par des petits gris, ou c'est les chirurgiens, il n'y a pas d'exemple là-dessus.
Si, tout à fait. Et, mais en fait, Ethan Skemp, là, il a fait une interview, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'entendre, mais c'est sur le site de White Wolf, encore dans les news, c'était là au début du mois dernier, je crois. Il a fait une interview que vous pouvez écouter, c'était assez intéressant d'ailleurs, et justement, je crois que c'est là-dedans qu'il disait que lui, ça lui plaisait vraiment l'idée de mélanger un peu les extraterrestres avec le mythe des fées, parce que pour lui, c'est ça nos fées en fait, actuelles. C'est ça les légendes qu'on a et qu'on se raconte et dont on a peur, en tout cas.
Oui, c'est un peu moderne.
Peut-être moins en Europe qu'aux États-Unis, mais c'est vrai qu'aux États-Unis, il y a vraiment cette espèce de culte de gens qui se réunissent pour dire ah, moi aussi j'ai été enlevé. Et d'ailleurs, ils en parlent directement dans le tout début de Changing, en fait, dans le bouquin de base, ils disent parfois les changelins vont voir ces groupes-là pour dire bah, moi aussi j'ai été enlevé parce qu'ils ont tellement besoin de parler, de se retrouver face à des gens qui les comprennent que finalement ils utilisent un peu ça et ils changent un peu leur histoire. Donc il y a vraiment ça hein, dans Changeling déjà. Donc est-ce que ça rentrera en conflit avec vrais ovnis ou
non, c'est vraiment extérieur. Non, plus enfin, sur le coup sur le supplément ovni, je pense que je prends en compte c'est la vision que les humains ont des ovnis. Donc s'il y a des complots gouvernementaux, s'il y a des sociétés secrètes, des Lone Gunman à l'X-Files qui s'en chargent, cet aspect-là est déjà
très Hunter,
très intéressant. Rajouter Hunter, c'est
c'est vrai aussi que le Arcadia est créé aussi par les pensées humaines, par les limites. Donc, si les extraterrestres existent séparément de façon réelle, il peut aussi y avoir des royaumes Arcadia qui sont basés sur ça si les humains les ont rencontrés. C'est parfaitement possible. Et le thème de l'enlèvement viendrait peut-être justement des faits et pas des vrais ovnis.
En même temps, le principe de Hunter de Vigil, c'est aussi de rajouter des éléments au niveau des antagonistes. Ils sont complètement inédits et parfois même détachés, puisque je l'avais annoncé la dernière fois, d'après le résumé qui a été fait très rapidement de Night Stalker, c'est-à-dire sur les vampires, ils expliquent bien qu'il y aura une possibilité d'avoir des vampires très caricaturaux, film de la Hammer, avec les gousses d'ail,
crucifix,
etc.
Christopher Lee.
Oui, et c'est pas tout à fait. Je pense pas que ça va rentrer en conflit, ce sera quelque chose d'autre. Comme ils le font pour.
Le but aussi c'est de surprendre les joueurs. Si tu
veux
pas que tu veux, on va jouer contre des vampires, deux heures et couillères.
Je suis très à l'aise avec le côté comme ça, genre on fait un peu n'importe quoi d'une de l'autre. Parce qu'ils ont tellement voulu centraliser toutes les gammes pour qu'elles aient un système commun et genre.
Ils ont centralisé le système pour faire une base commune, mais à côté de ça, c'est le côté boîte à outils du même DT2 avec des éléments que tu rajoutes, que tu.
Oui, et il n'y a plus MetaBlot.
Donc ils choisissent en fonction. Pour une partie de Hunter, tu pourras choisir la manière dont ton vampire se comporte, avec s'il craint les gousses d'ail. Enfin,
oui, ça peut être explicable.
Il y a vraiment ce côté boîte à outils.
Ça peut être explicable.
Et puis il y a autre chose, c'est qu'ils ont fait le MDT2 justement aussi pour qu'il y ait peut-être des jeux qui ne soient pas reliés plus au crossover. Quoi. Mmh. Il y a un crossover basique, c'est
Vampire,
Loup-Garou, Mage. Les Changelins, tu peux assez facilement. Mais après, Prométhéen et peut-être d'autres jeux qui sortent.
C'est Hunter.
c'est moins fait pour ça. Et c'est assumé, je pense que c'est. Il l'avait fait avec Orpheus avant, enfin il y a des jeux, tu peux dire non, ça c'est pas du tout fait pour le crossover. Mm-hmm. Hunter, tu peux dire ça, c'est.
Le crossover est techniquement possible, mais pas forcément sur toi.
Il est pas forcément intéressant parce que t'as tout un univers avec les Hunter, déjà des conspirations, si tu dois découvrir les autres gammes en tant qu'humain, tu découvres
ça. En fait, ça oblige les MJ à faire un choix, on va dire, éditorial sur l'enjeu, c'est-à-dire quel angle je vais aborder, quel thème je veux faire.
Et puis il y a plein de livres, il y a quelques livres, hein, que ce soit pour le garou vampire, ou mythologie, où il y a un chapitre qui explique l'origine des vampires, le chapitre suivant c'est une autre origine possible. Et après, ils font beaucoup ça depuis un moment, là dans les 2, maintenant Exalté aussi d'ailleurs.
Pour, pour Garou Force Again, c'est Blasphemies.
Ouais, c'est ça.
Pour Mage Awakening, c'est un supplément.
Il y en a un autre sur Mage.
Ouais, il y en a un truc, c'est tout sur le mythe d'Atlantis. J'ai lu il y a pas longtemps.
Avec c'est des... pas les ruines. Sacred Kingdom.
Non, le. Ouais, Ruin of the Ruined Temple. Voilà, Sacred of the Ruined Temple. Voilà. Où ils expliquent toutes les théories. Plus ou moins hérétique qu'il y a eu au cours des siècles vis-à-vis d'Atlantis et que tous les mages ont eu.
Dont le livre conseil.
Voilà, le livre conseil qui dit que l'Atlantis n'est pas encore arrivé. L'Atlantis, c'est un élément du futur.
Ah bon, donc okay. Oui, ça peut être intéressant d'avoir un livre sur les ovnis. Je pense quand même qu'il y a des gens qui doivent être très sceptiques par rapport à ça. Mais effectivement, enfin, je pense que l'histoire est plutôt d'accord pour dire que ça peut être intéressant.
Ah, pas de sceptique.
Ah, je pense que ça peut faire rigoler.
Et puis, on choisit.
Bah, oui, non, mais.
Et quand on voit les changements qui sont décrits. Enfin, les vrais faits de Hotel Nightmare en tant qu'OVNI, ça fait pas rigoler.
Non, mais d'accord, mais voilà, si tu dis ouais, on va faire une partie spéciale OVNI, ça peut faire rigoler aussi.
Il y a des conspirations, ah, c'est un jeu qui est basé sur la conspiration avec les OVNI, ça marche très bien, j'ai joué, c'est très bien.
Ce que je me demande, c'est après, est-ce que Chukunin va réussir à développer ça? Parce que là, les démons, ils sont déjà pris par l'Inferno, on va en parler juste après.
Ouais.
Donc après Geist, hein, qui reprend les fantômes, qu'est-ce qu'il leur reste comme créature?
C'est vrai que j'ai réfléchi, j'arrive pas à trouver.
Hein. Les ovnis.
Parce que les momies sont déjà dans Prometheus. C'est les aliens. Hein. Alien the Invasion, c'est abusé.
C'est vrai.
Il leur reste plus que ça.
C'est vrai que ça pourrait être, ça pourrait être l'autre jeu. Donc on jouerait des aliens.
Bien sûr.
Non, on les enlevait.
Tu jouerais des aliens.
Il y aurait plus
des ennemis.
Il viendrait de plein de planètes différentes, il y aurait les prédateurs, les aliens, mais.
Non, moi je pense que tu jouerais les aliens.
Les tigris, oui.
Moi je joue aux aliens.
Ce jeu existe, c'est Conspiracy X.
Ouais. Il y a tous les styles d'aliens classiques.
Ouais, dans Conspiracy X, il y a trois types d'aliens.
Les tigris,
les sauriens.
Les hommes lézards.
Les sauriens et les argentins, justement. Encore Atlantis.
Oui, c'est ça, c'est les hommes.
Encore Atlantis.
Je pense que ça pourrait être fait différemment dans Darkness. Il pourrait y avoir des splats, une espèce de confédération galactique.
Alors là, c'est un Traveler, qui s'appelle Fading Sun, Star Wars si tu veux.
Oui, et il faudrait absolument sur le monde des ténèbres de l'espace.
C'est cool, j'avais un projet de mal dans l'espace, donc si tu veux, c'est un truc
à la fois. Ouais, t'as beaucoup de projets.
Le monde du silence.
Ça s'appelle le monde du silence.
Non, mais il faut pas sous-estimer, je pense, le pouvoir de création de White Wolf.
C'est vrai.
Je pense que y a plein de créatures qui n'ont pas encore été exploitées. Par exemple, toutes les créatures qu'on retrouve dans les séries B, dans les vieux films des années 70. La
créature du lagon noir.
Ah là, exactement, la créature du lagon noir.
Tu tends les mains, tu fais.
les créatures des lagons noirs, par exemple, je sais pas, il y aurait cinq races de créatures qui vivraient dans des lagons.
Lagons noirs, lagons bleus.
Sur le coup, attends, mais sérieux.
Lagons bleus.
Toutes ces créatures, les ovnis, les créatures du lagon noir, en général, on peut les retrouver un peu à droite à gauche, mais souvent en tant qu'antagoniste, ou alors en tant que mythe, ou en tant que rumeur sur un. Créature du lagon noir, non, c'est pas déjà.
Non, puis c'est un groupe de créatures du lagon noir qui vont enquêter sur. La pollution des eaux.
Ah oui.
Ce sera un jeu écolo.
Ça fait requin.
Ouais, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre?
L'homme invisible.
Oui, l'homme invisible.
Ça comme invisible.
C'est très joli.
L'homme invisible. Des hommes invisibles.
Ouais, le problème, c'est que le MDTD n'est pas du tout dans cette optique parce que c'est censé être très humain. T'es proche des humains, t'es dans la société humaine, t'as des rapports avec les humains, c'est par ton rapport avec les humains que t'es défini. C'est pour ça que Geist d'ailleurs est tout à fait problématique.
C'est de rechercher ta visibilité.
Non, mais c'est vrai que.
Ouais. D'exister.
Ça, c'est Prométhéen.
On va en parler.
C'est Prométhéen, ça. Non, mais effectivement, ouais, en pensant à cette histoire d'alien, enfin hybride alien-humain, ouais, ça pourrait rentrer dans ce thème-là finalement. Mais bon. Moi, je pense que.
Les gens, on a fait des expériences, c'est des aliens qu'on a mis dans des corps humains, donc
c'est V, ça, ouais. C'est la série V des
années 80.
Ah, ce serait bien. Ah oui, voilà, il y a une autre place, un peu. On leur arrache la peau, ils ont du.
C'est des lézards en fait. Dessous,
là. Ouais. C'est bien.
Bon, on va attendre déjà que Geist soit sorti.
Ouais.
Pour voir ce qu'il est annoncé à la fin, peut-être que ce sera MDD3. Hein.
Et donc Geist, moi j'ai pas un truc à leur fuir, ça peut être.
Mais c'est pas ça, je pense pas que ça va être ça qui va être fait.
Non, je pense qu'ils veulent vraiment faire
ça reprendre.
Ils veulent faire quelque chose encore différent.
Geist, pour le coup, l'Underworld qui a été cité dans Mage et même un petit peu dans Chemin est vache très attendu. Ça a été cité mais jamais développé, donc sur tous les coups ils vont développer justement l'Underworld, le monde des morts.
Déjà ils ont le monde des morts, donc ça c'est comme dans.
Ça sera dans Geist. Oui,
ça sera dans Geist. Mais. Non, je sais pas, moi je vois bien un truc qui mélangerait Wraith et Orpheus comme dans l'ambiance, plus de nouveaux trucs, je sais pas.
C'est quand même bien spécifique Orpheus.
Oui, c'est super spécifique.
Ouais, mais je veux reprendre des éléments, je vois.
Je veux dire, Orpheus serait plus proche de Hunter que de. que de guide.
Non, c'est encore autre chose. Bah, en plus, c'est une société derrière et tout ça. Oui, bah, Hunter, c'est juste un type de gens. Non, Hunter, t'as pas de société. Tu peux être
des gens qui sont dans une
société. Non, mais tu peux
être une société. Tu peux, mais tu peux être des gens comme ça dans la rue, machin. En fait, tu peux pas.
La boîte, en fait.
La boîte qui s'appelle Arthur.
Oui, bah voilà,
tu peux pas jouer autre chose.
Oui, c'est super spécifique. Je sais pas.
Non, mais il peut reprendre des éléments dans le sens que tu peux avoir des flatliners dans Guys par exemple.
Ouais, c'est intéressant. Ah oui, d'accord. Oui, dans ce point de vue-là, oui.
Mais
oui,
si il est possible de jouer des esprits complètement désincarnés et tout ça, ça pose le problème des rapports avec les humains. Tu perds un côté du MDT2 qu'ils ont pourtant essayé de garder, même dans Prométhée 1, où les rapports sociaux avec les humains sont différents. Tu recherches ton humanité, donc par là, par rapport à
quelque chose. C'est un élément, c'est un élément du premier Brace, c'est-à-dire où tu as un fantôme dans un monde des morts et tu essaies de rejoindre, des fois, le monde des vivants par des ancres, par des
monstres. Brace n'était jamais sur le monde terrestre quasiment, donc c'est
vrai,
oui, mais en fait, quand t'es un fantôme, t'as déjà été animé avant.
Oui, voilà, c'est ça, donc t'as cette humanité, t'es après la mort.
Ce que je veux dire, c'est que dans le nouveau monde des ténèbres, il n'y a plus beaucoup de choses où tu vis complètement ailleurs, où t'es complètement à toute bête, où t'as un aucun rapport avec l'humanité.
Il va falloir des fantômes liés à Montas.
Ouais. Moi je pense que ça quand même assez proche de Wraith
ouais.
En se débarrassant un peu de la mythologie d'outre-tombe qu'il avait élaboré que parce que par exemple ça pourrait être pour les différents types de guys, ça pourrait être voilà, en fonction de tel événement qui a conduit à la mort de l'humain tu rentres dans telle catégorie
type Orpheus, c'est-à-dire le caractère
dominant ouais, dans ce cas-là c'est vrai que ça pourrait être un mélange
tu fais des trucs comme ça
accident de voiture
des splats comme ça avec ouais. Le type de caractère.
Ce qu'ils avaient commencé dans Wraith.
Et dans Orpheus, les fantômes sont encore sur Terre. Ils sont dans la pénombre, on peut dire, sur le truc. Alors que dans Wraith, c'était vraiment. C'était à faire dans l'ombre profonde. Garder le principe d'Orpheus d'avoir des fantômes qui sont vraiment parmi nous là, tout le temps, ça peut être sympa.
On verra comment ils se débrouillent.
Ouais, on verra. Ouais, donc, un mystère pour l'après-Geist.
Alors oui, on a un tout petit quelque chose, un tout petit teaser de rien du tout, mais qui est quand même intéressant sur World of Darkness.
Inferno.
Donc c'est Dread Kupala sur les forums qui demande, qui dit j'ai vraiment envie de voir ce truc-là, mais j'espère que les démons vont pas être trop judéo-chrétiens, parce que quelque chose d'un peu plus universel serait vraiment génial. Hein. Il dit également j'aimerais beaucoup jouer ces démons, donc j'espère qu'il y aurait de dire qu'il aimerait bien pouvoir avoir quelque chose pour être un gros méchant abominable grâce à ce bouquin. Et il dit, s'il vous plaît, ne me décevez pas. Donc,
vous le paierez.
Je n'achète pas.
Donc, Matthew McFarlane dit, le nouveau World of Darkness ne part pas du principe que la mythologie judéo-chrétienne est la base de tout. On va faire en sorte que Inferno ne soit pas quelque chose de totalement judéo-chrétien. J'aime vraiment beaucoup l'idée que le nouveau World of Darkness puisse fonctionner tout à fait bien sans que Dieu n'existe du tout.
Ça ne parle pas de Dieu.
Et c'est si. Peut-être bien.
Si.
Dans Prométhée 1, justement, on va en parler tout à l'heure, il y a le principe. Il y a le principe et il y a aussi
les
Cache-Malin.
Voilà.
Cache-Malin. Cache-Malin.
Cache-Malin.
On va en parler tout à l'heure.
Il y a juste. Il y a quand même un petit truc judéo-chrétien, c'est. Le judéo-chrétien. Excusez-moi.
Pas un cadet, pas un cadet, pas. J'arrive.
C'est le système des vices et des vertus.
Oui.
Non,
mais
c'est quoi
péché.
Ah bah si tu penses un rapport avec la Bible, ça a un rapport énorme. Bref,
il y a des rapports quand même, il y a des
rapports. D'accord, c'est vrai, t'as raison de dire ça, parce que je trouve qu'il y a, même si...
Mais d'ailleurs, ça aussi, on va en parler tout à l'heure.
On va en parler tout à l'heure, mais justement, c'est intéressant de commencer à parler de ça, parce que même s'il n'y a pas, la métaphysique de Dieu forcément derrière les gammes, il y a quand même ce... Moi je trouve vachement plus dans le nouveau monde des ténèbres cette pensée judéo-chrétienne de
la
vertu, et donc on va le voir avec la
moralité. Thématiquement, on retrouve aussi par exemple.
C'est très américain en fait.
C'est les Obrimos de mages qui sont clairement judéo-chrétiens, et même Garouche où c'est judéo-chrétien avec le thème du meurtre du père, du père loup, c'est un peu le meurtre originel, enfin le péché original, il y a toujours cette mythologie judéo-chrétienne avec l'apogée, le jardin d'Eden qui meurt, etc. Enfin, on retrouve ces éléments.
Bah moi en plus c'est vrai que démon, moi j'imaginais bien un système basé sur les vices en fait. il y aurait le démon de la luxure, le démon de la gourmandise, enfin j'aurais bien vu ça.
C'est avec les Mal'jin.
Mal'jin
de Garou, il y a déjà le Karnala, la déesse de la luxure, enfin l'incarnation.
Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire sur les démons, parce que si on pense aux démons genre hindous par exemple, ouais.
Ou sur le
ou chinois, ou japonais,
la couverture a déjà été montrée, oui. Je crois, la couverture du film. On voit une sorte d'humanoïde qui est dans un pentagramme.
C'est pas un humanoïde, c'est un mince.
Oui, un mince humanoïde.
Oui, il a deux bras et deux jambes. Avec, il y a un gros corps.
Avec, dans un pentagramme.
Dans un pentagramme.
Qui vient d'être invoqué.
C'est une invocation.
Non. Mais, ouais. Donc là-dessus, oui, je pense que Matt MacFarlane, justement, essaye de faire un peu un contrepoids. Moi, je l'ai vu un peu dans Innocence, là, je suis en train de lire ça. C'est vrai qu'au lieu d'avoir les vices et les vertus, voilà. Bon, c'est plus logique aussi pour les enfants, mais il y a un système de qualité et de défaut, et du coup, ils sont beaucoup plus flexibles et beaucoup plus intéressants, je trouve, et moins lourds dans le côté avarice.
J'ai vraiment du mal avec ce système de vices et de vertus.
Ouais, non, j'aime pas du tout. Hein, ouais. En fait, parce qu'il faut bien, mais c'est vrai que
c'est un peu trop bien.
Non, mais justement,
je préférais les natures d'avant, en fait.
La nature et l'attitude, c'était plus neutre, en fait.
Voilà.
Et c'est vrai que, encore une fois, on va parler aussi avec la moralité, mais ça pose vraiment ce système générique qui pose problème quand tu commences à faire des cadres historiques comme Requiem for Rome
ou géographique.
Ouais.
Comment, enfin, sincèrement, ça peut se faire, mais créer un personnage, je sais pas, chinois. D'une autre religion, ou bouddhiste, c'est peut-être un peu plus compliqué. D'ailleurs, à ce propos-là, je pensais à une chose, justement, par rapport aux autres gammes, ça fait longtemps qu'on évoquait aussi, après Geist, l'Asie. Hein. Ça n'a pas vraiment été abordé. Hein.
Mais bon, c'est autre chose encore. C'est un peu intégré, en fait, au cas.
C'est pas très clair.
C'est pas très clair, font quelque chose qui est censé être mondial.
C'est pas très clair, là-dessus.
C'est censé.
Parce que dans les Koyens, par exemple, on avait tout de suite des lignées asiatiques dedans, en fait.
Oui, quelques-unes, enfin franchement, elles sont
quelques-unes, mais en fait,
c'est minoritaire. Hein.
On a eu les Burakumin dans Requiem, mais c'était une lignée qui n'a pas été vraiment bien développée. Enfin,
puis à côté de ça,
ouais, c'est histoire de dire voilà, les vampires fonctionnent de la même façon, contrairement à Kindred of the Beast hein, qui présentait un système de vampires totalement,
totalement différent.
Il y a un petit asymptome qui est
clairement judéo-chrétienne et qui est là.
Bah, toutes les ligues, au fait, sont centrées sur le mythe du vampire occidental. Ouais. Donc c'est sûr qu'à partir de là, on peut difficilement...
Je lui-même, vampire le Requiem, ça décrit pas les vampires de l'Asie. Hein.
Non, parce que si tu fais vampire Requiem au Japon, tu vas peut-être pas mettre la langue qui a 5 tours.
Non, bien sûr. Mais même la vision du vampire, le vampire,
ça,
c'est un truc complètement occidental.
Les autres jeux sont plus appropriés pour des...
Le loup-garou, c'est moyen.
Le loup-garou aussi, tu peux plus facilement faire un loup-garou asiatique ou un mage asiatique.
Le mage, le garou, moyen.
Un changement asiatique, il y a déjà les cours directionnels d'Asie.
Ça c'était bien développé.
Tu vois, dans la fiction au Japon, par exemple, le vampire occidental, en même temps, il revient beaucoup. C'est quelque chose qui en fait pas mal. Enfin, tu regardes Vampire Mew ou tout comme ça.
Oui, c'est vrai. Mais de toute façon, le mythe du vampire, c'est pas un mythe du vampire à l'origine, c'est un mythe européen. De toute façon, les Asiatiques, le mythe qui était fait, enfin, le jeu Kindred of the Beast, c'était plutôt des personnes qui aspiraient le souffle vital. Plus que se nourrir de sang.
Il y a des histoires de vampires, en Asie, mais c'est différent.
C'est autre chose. C'est pas le même. Enfin bref. En tout cas, je sais pas, pour Demon, il a répondu, donc il a pas donné plus de détails sur.
Non, il a dit simplement, on va faire en sorte que ce soit quand même pas trop judéo-chrétien. Et c'est vrai que c'est, donc, comme on disait, Catman, donc quelqu'un qui a tendance à un peu assoupir, genre de truc. Donc c'est intéressant en tout cas.
Est-ce que ce sera jouable? Enfin, c'est pas un jeu en lui-même, ce sera plus un truc de PNJ antagoniste.
Ouais, peut-être qu'il se passe s'il y a une possibilité de jouer les démons ou non.
À mon avis, il y a un petit chapitre à la fin. Ouais. Il faut bien un petit chapitre à la fin pour expliquer comment on peut les jouer. Mais c'est à mon avis plutôt axé sur les invocations. Et les pactes.
Peut-être, ouais.
Et ça, c'est intéressant.
Voilà.
D'ailleurs, dès le début, quand tu crées ton personnage.
Bon, est-ce qu'on a des previews pas grand chose, hein.
Preview sortie, il y a le Squall of Fallen Races pour les Zeltines.
Ah, les races inférieures.
Les races déchues.
Les déchues, races inférieures, ça,
attention,
fait
attention.
Tollé, ça fait un tollé. Donc maintenant, c'est
un lapsus. Les
races d'en bas.
Les races d'en bas, voilà.
Les races d'en haut et les races d'en bas.
Grâce des gens. Oh, non.
Alors, t'as trouvé des infos sur Fallen Races?
Oui, j'ai eu deux trois trucs.
Déjà, on sait qu'ils ne sont pas blonds.
Déjà, on sait
pas les yeux bleus.
Fallen Races, bon.
Alors, oui, il faut expliquer, ce sera en fait un double livre.
Alors, c'est un flipbook, c'est-à-dire un bouquin, quand on les retourne, on peut les lire dans les deux sens. C'est un peu comme le supplément, le Black and White Treatise, qui parlait de la...
Déjà des races, hein.
Le traité noir et blanc.
Voilà, le traité noir et blanc. D'un côté, le traité blanc, c'était la sorcellerie, et on retournait le bouquin, on avait le traité noir qui parlait de la nécromancie.
Comme par hasard.
Comme par hasard.
Oui, la nigromancie. Bah oui, c'était pas comme ça à l'origine.
Voilà, voilà, donc le bouquin sera présenté sous cette forme-là. D'un côté, les rois dragons, l'ancienne race de sauriens humanoïdes qui dirigeaient création avant les humains.
Que tu connais bien.
Que je connais bien, puisque je les ai fait jouer les derniers en viendra. Et l'autre côté, donc, c'est les mountain folk, le peuple montagnard, c'est les nains.
C'est des nains.
Voilà, c'est des nains. C'est bizarre.
Non, 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 c'est des personnes de petite taille.
Ah, non, en plus, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que. Non, il y a des grands.
Oui, il y a des grands en plus.
Il y a des grands minces.
Ah, mais s'ils font des grands minces.
En fait, ça dépend de la caste.
Mince.
Il y a des grands minces. Grand, en fait, c'est les grands minces, c'est ceux qui sont en haut de l'échelle sociale. Et mais les petits, c'est des petits nains avec des barres, c'est des.
Ils aiment l'or quand même.
Oui,
c'est bien.
Oui, ils aiment l'or.
C'est bien.
Ils aiment tous les matériaux.
Oui, ils aiment tous les matériaux. Parce que l'or, c'est un peu dépassé sur création.
C'est l'orical, tu vois. Ah, eux, c'est plus le jade.
Des clics comme ça, c'est un peu fasciste quand même.
Oui, là. Oui, bon, on va. De toute façon, on va faire.
Non, non. Donc voilà, un double livre. Alors, il n'y a pas eu beaucoup d'infos. Moi, j'ai pas vu beaucoup d'infos sur le forum.
J'ai vu un truc. C'était le même. C'est en fait un des exemples des boîtes, des pouvoirs de rois des rois dragons. C'est-à-dire que les rois dragons avaient déjà été abordés dans les premiers raids dans Bane of Waffes.
Et dans Guide des joueurs.
Et dans Guide des joueurs. Dans Guide des joueurs, on permettait donc, on donnait toutes les races, on donnait les pouvoirs des dragons, permettait d'en faire des personnages jouables. Et ils avaient donné donc les pouvoirs des rois dragons. En revenant sur Wayne Rassès, ils n'avaient pas parlé, par contre, ils avaient repris un peu les éléments de Wayne Rassès, mais ils n'avaient pas expliqué tous les le côté sombre des rois dragons, les cultes de Dieu.
Oui, les voies noires, les voies noires.
Et les voies noires. Et donc là, on a eu en avant-première une clause d'une des voies noires. On peut faire de la magie bizarroïde.
Donc ça veut dire que les rois dragons vont devenir méchants.
En tout cas, le nouveau Scroll of Anansi au niveau de Roi Dragon est plus développé que l'ancien.
C'est pas magnifique.
Ce qui est déjà bien.
Tout le monde peut être méchant, c'est vrai.
Ouais, mais bon.
Non, moi je peux pas.
Les gentils lézards. Bon.
Les gentils.
Non, ils sont gentils.
Et donc, on a bien prévu qu'il y aurait plus d'informations au niveau du contexte, du background et tout ça.
Donc, oui, ouais. Je pense qu'ils vont reprendre les éléments de Ruin of Frances avec les éléments de. Les vies des joueurs avec plus de ajouts, c'est-à-dire une repasse déjà. Pour Mountain Folk, déjà tout le chapitre de l'ancien Fair Folk.
J'ai pas trouvé un peu copier-coller par contre pour Pop Montagnard. Parce que si c'est la moitié d'un livre, ça correspond à peu près aux pages qu'il y avait dans l'ancien Fair Folk.
Il y a forte chance que tu aies du copier-coller. De toute façon, les Mountain Folk étaient plus approfondis que les Roi
Dragon. Ils peuvent employer des auteurs pour paraphraser tout, clairement. Tiens, prends ça et puis écris sur un
Non, mais il doit y avoir au moins un nouveau
système. Il avait déjà fait en plus sur
Il doit y avoir un nouveau système. Qui a des pouvoirs spécifiques au peuple montagnard, qui nous donnera d'ailleurs des indices intéressants.
Oui, ils en avaient déjà, été très bien développés.
Ouais, mais ils vont les refaire pour la seconde édition. Ouais. Ce qui nous donnera un indice, peut-être, des pouvoirs des Fairfolk à venir.
De toute façon, Fairfolk, ce sera janvier 24, je crois. Non,
21, pas sûr. Il y a beaucoup de choses prévues en janvier. 21 janvier.
Dans les doigts.
Alors, tu m'as dit qu'il y a eu des choses qui m'ont été repoussées. Sortir,
ouais, on avait parlé la dernière fois qu'il y avait beaucoup de sorties prévues le 17 décembre.
Ouais, finalement, donc t'avais raison,
et finalement, il n'y a qu'une. Enfin, il y en a deux. Ouais. Bah, il y a un peu jeu de plateau pour Hunter.
Ouais.
Et il y a Skull of Owen aussi.
D'accord.
Et c'est tout. Okay, tout le reste, 21 janvier. Dont Mekke, qui était prévu déjà en novembre.
Enfin, 21 janvier, ce sera repoussé encore.
Mekke Je pense qu'il y aura la moitié. Non, mais je pense que ceux qui étaient déjà repoussés, à mon avis, comme ils sont dit d'être prêts, ils vont les sortir. Et c'est pour ça que Inferno, c'est prévu. Ce sera prévu à mon avis beaucoup plus tard, faut voir, sauf s'ils arrivent à travailler comme des malades pendant les vacances de Noël. Et juste un petit mot sur. Enfin, un petit mot parce que j'ai pas grand chose à dire finalement, mais parler du jeu de plateau qui va sortir sur Hunter, Deadly Prey, qui sort aussi le 17 décembre. Bon, apparemment, c'est un jeu d'enquête urbaine. Je veux pas dire que c'est un Cluedo.
Cluedo Hunter.
Pour Hunter. Mais bon, voilà. Donc il y a un jeu de plateau qui sort déjà pour Hunter, ce qui est quand même. Enfin, moi je trouve que ça va très vite hein, pour Hunter quand même. Je le plateau au bout de quelques mois.
Est-ce que ça veut dire que Hunter marche très bien ou alors ils pensent que ça peut marcher très bien et ils mettent le paquet?
Je crois que Hunter c'est un peu un patchwork du monde de ténèbres.
Ouais, c'est comme ça.
Ça fait rentrer un peu tout à l'intérieur. Donc ils se disent peut-être que.
Ils auraient peut-être dû commencer par ça d'ailleurs.
C'est facile à comprendre.
Ils auraient peut-être commencer par ça hein, parce que
finalement les mortels au départ c'est un peu
ça serait barbaté.
Ouais.
C'est plus facile à comprendre pour le néophyte.
C'est un peu des gens qui enquêtent sur le monde qui les entoure et qui essaient de découvrir ce qui se passe en fait. Donc, qui en sont les victimes, alors que les hunters sont peut-être un peu plus, un peu moins les victimes.
Ouais, les hunters c'est plus proactif. Ouais. Alors que quand tu es mortel, tu tombes sur des trucs.
Tu subis. Voilà.
Donc voilà, et puis bah, les prochaines sorties, je vous dis, c'est le 21 janvier. Regardez la page d'accueil du site. Il y a toutes les couvertures qui sortent le 21 janvier. Plus, j'en ai rajouté d'autres après, on n'a pas forcément des dates pour la suite. Voilà.
Bon, bah voilà, on verra bien ce qui se passe, mais bon, mais rien dans l'immédiat.
Voilà, et sincèrement, comme je dis souvent, quand il y a trop de sorties prévues, une seule date, c'est qu'il y a la moitié qui va être repoussée.
Ça me dit un peu. Ah, d'accord. Bon, alors on passe au top des ventes. Alors là, cette fois, donc, je suis allé sur le site whitewolf.com et je commence un peu à douter.
Non, mais je vais t'expliquer un truc aussi. Hein. Tu doutes de
la véracité de ces chiffres. Hein.
Ça change tout le temps en fait. Une fois, j'ai vu Changelin disparaître du top 10, revenir après le lendemain en 1.
J'ai l'impression qu'il y a 5 mecs qui achètent. Et... quand il y en a un qui achète un truc, ça passe au top 1. Ouais.
C'est vrai, quand on regarde un peu tous les jours, il y a des gros changements quand même d'un seul coup. Ouais. Ça paraît un peu suspect.
Surtout que le total des ventes de Whitewolf qu'ils font, c'est gigantesque, ça devrait être super universinant.
D'ailleurs, Hals s'est offusqué hein, sur le forum, il a dit, mais comme, j'aimerais juste savoir, sur le top des ventes de Whitewolf, comment se fait-il qu'il n'y ait pas le livre de base pour le monde des ténèbres dans le top 15, pourtant un achat indispensable pour pouvoir jouer.
C'est clair que c'est tout à fait bizarre.
Et c'est vrai.
Non, ça s'explique très facilement en fait, parce que au fait, le livre de base, on l'achète une fois. Et ensuite, ben, y a tous les autres jeux de toute la gamme qui...
Oui, mais ça veut dire que... Comme toi.
Non, mais ça veut dire tout simplement qu'il y a certainement un MJ dans un groupe qui va acheter le livre de base du monde des ténèbres. Et une fois que les règles sont bien connues par les joueurs, ensuite on va s'intéresser à autre chose, etc.
Eh bien, c'est faux. C'est faux parce que j'ai la preuve ici. Ouais. Grâce au site Amazon.com. Alors voilà ce que j'ai fait. Donc pour avoir quand même un top des ventes, parce que ça serait trop con de se laisser abattre, hein. Je vais sur Amazon et j'ai filtré la recherche pour avoir les best-sellers, donc là c'est .com, donc plus le site américain en fait. Donc j'ai fait, voilà, donc si vous voulez avoir un peu ces chiffres-là, vous pouvez voir, donc ça va être sur fantasy et science-fiction, et après vous affinez la recherche sur gaming, et là vous tombez sur un peu tous les bouquins donc, de jeux de rôle, et donc là j'ai pu faire du coup comme ça un top 6 en prenant un peu les bouquins de Whitewolf qui apparaissaient là-dedans. Donc sur les 100 best-sellers, il y en a 6 hein, de Whitewolf. Alors le premier c'est Hunter du Vigil. Donc
bon, en même temps, non mais c'est pas étonnant, il
vient de sortir.
Il de base qui est sorti.
Ça veut dire que c'est un top 100 des derniers mois, je sais pas.
Top 100 du moment en fait, parce qu'il a été.
Mais top 100 sur quoi? Il y a que les jeux de Whitewolf dans celui-là.
Non, alors ça c'est.
Qu'est-ce que ça veut dire du moment?
Top 100 du jeu de rôle.
Voilà. Et moi j'ai.
Donc Dragon compris.
Donc Dragon compris. D'accord. Que j'ai dû épurer énormément pour avoir ce top 6 hein, sur le 100. Oui. Mais donc, ouais, donc, bon, Hunter arrivait vraiment loin, hein, c'est-à-dire qu'il y avait évidemment Donjons et Dragons 4ème édition, on prenait beaucoup de produits dérivés, de choses.
Ouais.
J'ai pas tout regardé, mais bon, pour vous donner une idée, Hunter, je crois qu'il arrive en 40, vous pouvez aller les voir
directement. Hein.
Mais bon, donc Hunter de Vigil, en numéro 2, on a donc Changeling the Lost, pas beaucoup de surprises, et en numéro 3, donc, et ben, le bouquin de base du World of Darkness. Hein,
donc, c'est. C'est quand même un peu bidon le truc du top vente de Whitewolf.
Ah, on voit.
Ça ne ressemble pas.
Ben, c'est pas terrible. Hein.
Enfin, c'est leur vente. En même temps, c'est leur vente qu'ils ont eux.
C'est leur catalogue. C'est peut-être pas représentatif. Puis Amazon n'est pas forcément représentatif. Donc, c'est vrai que c'est différent. En numéro 4, on a le bouquin de base de Werewolf. Hein, donc, quand même, hein, le jeu.
Vampire, il
n'est pas là.
Ça m'étonne vraiment.
Amazon, c'est bidon aussi. Vampire, en fait, le problème, c'est que Vampire a du mal à vieillir par rapport aux autres jeux. Je trouve que.
On parle pas de la créature, alors on parle de.
Ah, non,
non. Il serait qu'il tourne un peu en rond au niveau des suppléments.
Voilà, il tourne un peu en rond et. C'est un livre qui, à la base, proposait très peu d'interactions avec le monde des ténèbres en général. C'est normal, hein. Vampire, à la base, c'est une créature qui est faite pour vivre avec d'autres vampires. Qui va,
avec lui-même, surtout.
Voilà, avec lui-même. Donc. Ça, encore une fois, je vais faire une petite métaphore, mais ça sent un peu le renfermé. Donc, donc du coup, c'est vrai que bah, pour ce qui est des ventes...
C'est une belle image.
Voilà.
Non, puis c'était quand même 4 ans qu'il est
sorti. Déjà, oui, ça fait
donc, il a dû être très, il est déjà épuisé.
Ouais,
2004, hein,
2003.
2003. 2004. LDT2, c'est 2004.
Alors dans
oui,
le 5,
c'est 2004, donc c'est sûr.
En tout cas, donc numéro 4, donc Loup-Garou et les déchus. Numéro 5, nous avons la première extension, hein, c'est World of Darkness Antagonist, première extension de ce top. Hein.
Ah, il est dedans quand même.
Et, ouais, Antagonist.
Il est vieux aussi, enfin il est vieux, c'est un des premiers.
Hein. Bah, oui, mais en même temps, je me dis que c'est logique parce que c'est un peu le truc qui va servir pour tout le monde.
C'est un incontournable.
Ouais. Ouais.
Il a même été traduit en français.
Oui, oui,
c'est vraiment un compliment. Je sais pas, mais le dernier, c'est lui
qui a été traduit en français. Non, il y a eu.
Ah oui, Requiem, le dernier.
En parlant des news d'Hexagonal.
Et le 6, t'as pas dit le 6. Le 6, c'est quoi le 6?
Et le 6, c'est. Alors, est-ce que vous avez deviné?
Rise of Spring, c'est ça?
Non.
Exalté?
Et qui est dans son rôle?
Non.
Il n'y a pas Exalté dedans d'ailleurs.
Non, il n'y a pas Exalté.
Non, c'est nul, c'est
Sion?
Eh oui, c'est Sion. Sion. Hero.
C'est vrai que c'est un bon succès
numéro 6.
Et il vient d'être traduit.
Et il vient d'être traduit, lui.
Waouh.
Lui. Oui, c'est pas les mêmes gens.
Donc, oui. On vous rappelle que Hexagonal, dans leur professionnalisme incroyable, avait annoncé pour octobre Mage Level.
On est quel mois?
Décembre. Décembre.
Alors.
Mais dire qu'ils sont trompés au niveau du... non. De l'année
c'est ça.
Bah, déjà, c'était déjà.
Octobre
c'était
2013.
C'était déjà octobre 2006, il y a deux ans, en novembre.
Ouais, mais 6, 8, 9. Mais ce qui s'était passé il y a deux ans, au moins ils l'avaient annoncé. Tu vois, ils s'étaient expliqués, il y avait eu de la communication. Là, il n'y a rien eu du tout. Et je trouve ça scandaleux. Je trouve ça scandaleux.
Sur le forum, il y a des Furax et d'autres aussi.
Je suis furieux. Je veux dire aux gens d'Hexagonal que je n'ai rien contre eux personnellement.
Contre la boîte.
Si tu veux, j'ai des numéros perso. Hein.
Voilà. Donc là, ça commence à faire quand même un peu beaucoup, parce que quand on prend comme ça les, oui voilà, quand on prend comme ça les joueurs qui sont quand même des clients pour des cons, voilà, faut pas s'attendre à ce que
c'est anti commercial. Voilà. Clairement, tu peux leur faire. Bon, finalement, nous on a bien fait d'acheter Mage en.
Ouais.
Ouais,
moi
aussi, voilà.
Non mais.
Je pense que
pour un jeu,
c'est
plus.
Ouais.
C'est pas grave.
Non mais ce qui serait drôle, c'est que si Hexagonal commençait à lancer des méthodes d'anglais. Genre apprenez l'anglais
facilement. Voilà, je pense qu'il gagnerait beaucoup d'argent. Ouais. Là, il y a un marché à faire.
Drôle, hein. Comment traduire les livres de jeux de rôle, surtout Mage.
Bref, donc gros point d'interrogation. Ou d'exclamation d'ailleurs.
Traduire Mage pour les nuls.
Bon, mais on a quand même des bonnes nouvelles en France, hein, parce que Ténébrae continue de lutter encore et toujours hein,
contre l'envahisseur.
Contre l'envahisseur.
Quel envahisseur?
Le l'oubli.
Ouais.
Et on était présent à Objectif Jeu, je crois.
Ah, alors
avec un K.
Et on y était.
Objectif Jeu.
Donc, Objectif Jeu, convention. Non lucratif, on pourrait dire. C'est une convention faite par une association qui est le collectif Jeu, par définition, c'est non lucratif. C'est une association. Voilà. Et qui est une convention qui existe depuis un petit bout de temps, quand même. Et on y était. Donc, j'y étais avec Popoff et Nomastar. Et Daniel et aussi Lord Winter. Donc on était à cette convention et c'était plutôt sympa. Alors c'est bon, sympa. C'était cool. Par contre, on va dire que d'abord, un petit problème déjà. Le lieu était sympa, mais trop.
Pas assez de place.
Voilà.
Ah oui, j'ai mis des photos, c'était. On dirait une taverne.
Alors c'était les voûtes le chapelet, donc c'était des voûtes. L'ambiance était assez.
En fait,
c'était plutôt pas mal. Bon, par contre, c'était humide et un peu froid, et à cause de la proximité. La proximité des gens, ça sentait un peu la
merguez. Et la saucisse.
Ouais, voilà.
Et le geek,
mais alors, c'est des points négatifs
qui dit on s'emmerde, est-ce qu'on peut passer.
Donc ça c'était un point négatif. Par contre le point positif c'est qu'il y avait plein de gens cool, on avait fait plein de parties, ouais. C'était vraiment sympa, donc c'était.
Il n'y avait pas de Saint-Ténébré, mais il y avait des parties faites par des gens de Ténébré.
Ah là, c'est pour ça que Ténébré n'apparaît pas. Après que Ténébré n'apparaît pas dans la liste des associations.
Oui. Bah parce qu'on avait pas ça forcément.
Et vous devez faire des grands gestes pour montrer qu'on existe.
On a fait ça. Hein.
Vous des pop-up girls, la T-E-N.
On a essayé de le faire.
On s'est même bourré la gueule avec eux, avec les gars d'Objectif Jeu, et ça n'a pas marché.
Ouais, ça va être plus visible quand même.
Bon, et l'année prochaine, ils ont dit de toute façon le problème de place serait réglé, ça c'est sûr. C'est
ouais. D'ailleurs, on n'a pas eu d'écho. Est-ce qu'ils ont rempli leur objectif finalement? Enfin,
alors, Objectif Jeu.
Bah, ils ont joué.
C'est-à-dire qu'en fait, il y avait un problème, c'est qu'on ne savait pas s'ils étaient rentrés dans leurs frais, vivaient ou pas ça. Là, je sais pas.
Mais tout était gratuit.
Tu rentrais. Non, c'était pas gratuit, c'était prix libre en fait.
C'était prix libre.
C'était
par contre,
bonne idée.
Eux, ils ont loué la salle.
Et la petite info, c'est que.
Je dis pas.
Non, il a info, c'est une méchante question.
15 000
Non,
15 000.
De quoi l'entrée?
5000 euros pour la location de la salle.
La location de la salle.
Ensuite, il y avait eu des frais par rapport à la location de meubles.
Mais le but, c'est pas d'être lucratif, c'est de perdre de l'argent.
Bon, enfin, en tout cas, c'est
positif. Cool.
Ouais, non, c'était pour cool. Il y a eu beaucoup, pas mal de critiques, je le trouve d'ailleurs un peu trop extrême. Ouais,
bon,
il faut aussi voir le bon côté.
Beaucoup de gens qui sont venus en fait le samedi, donc c'était bondé.
Ouais.
Mais qui ne sont pas, qui ont dit, ah, il y a trop de gens, on reviendra pas. Donc évidemment, ils ne sont pas revenus, ce qui fait que les jours suivants, bah, il y avait plein de MJ pour.
Deux joueurs. Joueurs.
Ouais. C'est-à-dire qu'on était à 1 MJ pour 2 joueurs. Ah, je me souviens que.
Merci, toi le joueur.
C'est
moi qui l'ai
vu. C'est
très intimiste. On va dire que le dimanche, quand on a fait des annonces de parties, il y avait 11 parties d'un coup qui sont proposées. À chaque fois, il gagnait 2 joueurs. Et ça s'est passé, donc non, avec les MJ. Puis les parties s'annulaient, genre ouais, mais non, j'ai pas assez de joueurs, donc moi je sais pas la partie.
Est-ce que vous êtes
battu? J'ai quand même réussi à faire d'autres parties.
Et il a fait une changement.
J'ai fait changement, et il y avait 5 joueurs.
Et t'avais des persos et des backgrounds. C'était bien, les joueurs jouaient bien, tout ça. Enfin, c'était.
Ouais,
on s'est trouvé bien cette partie.
Ouais, ça c'était bien.
Si tu veux, t'as une technique, c'est de mettre des grands miroirs pour faire un petit plus de joueurs.
Il y a Daniel qui a fait une partie des déchus, je crois aussi.
Ouais, il a fait une partie de Forsaken qui s'est bien passée. Qui a été trop cool.
Oui, qui a été faite sur la dernière heure.
Les deux seules parties télébrailles qu'on a eues en fait.
Oui.
Voilà, bah, bon. C'est-à-dire que Nomadstar avait proposé,
J'avais proposé La Montagne Sauvegagne, une partie mortelle, mais
partie mortelle.
Encore une fois, une partie mortelle qui n'a pas eu lieu.
C'est les vrais fonds du ski, c'est ça.
Exactement. Qui n'a pas eu lieu, bah, tout simplement parce que j'arrivais à des horaires un peu bizarres. J'arrivais en plein milieu de l'après-midi, donc forcément tout est l'étape était déjà prise et j'ai peut-être été un peu trop timide, je ne suis pas assez.
Ouais, il faut. Non, mais c'est ça. Les gens, il faut les agripper.
Faudra des néons, Télébrail.
Voilà, exactement.
Des néons.
Et toi, Pablo, ça fait une partie de choc.
Ça n'a rien à voir avec Télébrail.
Ok, donc on passe à la suite.
voilà.
Explique-toi.
Alors, quelque chose qui a à voir avec Télébrail, c'est la dernière AG et. Bon, il y a quand même.
Et la nuit qui a suivi.
La plus grande nouvelle, c'est quand même ce qui s'est passé à l'AG. Hein.
Le fanzine ?
Non,
l'édition ? Cyprius est à nouveau élu président.
Mais non !
Oui, je suis pas dit. Oui, ça c'est pour dire que.
Applaudissements,
s'il vous plaît. Bravo ! La
bataille de
président !
Yes, weekend !
C'est vrai que personne n'a voté contre, moi. Tout le monde avait l'air ravi de voter pour moi.
Vous avez peur,
c'est vrai.
C'était même suspect.
Je plaisante. C'est la peur. C'est la peur qui les motivait.
Non, mais c'est vrai que pour les votes.
C'est pour risquer.
Pour les votes, on a une. Bah, déjà, on a une ACA qui est bien renouvelée. Avec pas mal de monde finalement.
On est 12.
On est 12. On était 10 l'année dernière.
Ouais. Et donc en gros, on a renouvelé quelques personnes en plus. Toi, Popov.
Le secrétariat a évolué.
Attends, tu es secrétaire. Tu m'as pris ma place enfin.
Donc voilà, mais ça s'est très bien passé.
Sauf que trop longue. Il faut faire au moins 2 AG par an.
AG, c'est beaucoup trop long. On a dû régler certains problèmes trop rapidement. Il faut vraiment les problèmes. Regarde, JDR Mag, on a passé beaucoup de temps dessus.
Ouais, mais c'est parce que je voulais laisser parler Guillaume aussi.
C'était nécessaire.
Ouais, c'était nécessaire.
Il y avait beaucoup de sujets où c'était nécessaire. L'AG l'année dernière, c'était pareil. En général, tous les AG, on évacue tous les problèmes.
C'est pas parce qu'on a fait des erreurs avant qu'il fallait faire. Sincèrement, je trouve que n'empêche, je suis content de l'AG parce que on a quand même plus de monde que l'année dernière. Parce que l'année dernière, on était quand même un tout petit comité.
Ouais, bah en gros, ceux qui sont en CA.
10, presque. Dans une quinzaine, en fait.
Maximum.
Des lycéens, on est tout.
Donc, ça s'est bien passé. On a réglé, on va dire, plus ou moins définitivement le statut Télébrail, puisque officiellement Télébrail devient maintenant association. Francophone du monde des ténèbres, d'Exalté et de Sion.
Ah, ça va faire plusieurs storytelling.
Non, ça n'a pas été voté, ça en fait. Non, parce que moi j'ai hésité entre les deux, mais bon, il fasse un choix parce que je ne peux pas voter pour deux choses. Et c'est vrai qu'on a été à la simplicité.
Et alors, et les tables off
Alors les tables off.
Parce que ça aurait pu être du monde des ténèbres, de la tête, de Sion et des tableaux.
Non, alors les tableaux off, comme le nom l'indique, c'est off statut.
Ah,
voilà, c'est comme ça que c'est réglé. Et donc, on a la possibilité, à une nuit ténébrée, ce n'est pas une obligation, j'ai vraiment insisté là-dessus. C'est-à-dire que si personne propose une table off, il n'y aura pas de table off. Quelqu'un peut proposer, Bisounours RPG, comme. Non, enfin, ça existe.
Oui, pourquoi pas. Si, ça existe en plus. Daniel nous a dit que ça existait bien.
Bref.
Et elle n'a pas la priorité sur les joueurs.
Non, elle n'a pas la priorité. Bon, en même temps, voilà, s'il y a des joueurs qui viendront pour ça, je vais pas leur dire bon, bah, c'est il y a une table, on vous déplace sur une table qui vous plaît pas, et le compteur va se retrouver avec des joueurs qui font la gueule.
Alors, on avait dit qu'on donnait envie de.
Non, mais les gens doivent mettre trois choix.
Écoutez, oui, trois choix.
Bon, c'est bon. Voilà. Allez, c'est pas grave.
Donc, de toute façon, les tableaux off, ça a été voté, c'est possible.
Voilà, donc les nuits ténébreuses, ça ne concerne peut-être pas tout le monde, mais le fond de dîne, par contre, ça, hein, nul ne peut. Y échapper, si vous pouvez y échapper, vous pouvez le commander si vous voulez le lire.
Ah, faut payer quoi.
Oui, faut payer.
Comme y échapper, ouais. Mais c'est pas bien d'y échapper.
Bon, donc, en tout cas, le voilà. Nous avons un nouveau fanzine en cours là dans le four.
Oui, vrai. Alors il est en cours depuis très longtemps, mais là on peut dire que la phase de cuisson arrive à son, et,
ça
à son apogée.
Peu, ça sent un peu le crâne.
non, malheureusement, justement. Non, en fait, ça commence à progresser un peu. Bon, je dois avouer que j'ai mis un peu du mien pour... j'ai pas trop harcelé les gens.
Alors, c'est quoi? C'est le veilleur numéro 3.
Alors, veilleur numéro 3, thème les abysses, donc à la fois abysses aquatiques et abysses de l'esprit, donc la folie. Et là, j'ai commencé à recevoir pas mal d'articles vraiment bien, bien intéressants, très bien développés, et qui abordent pratiquement tous les jeux du Monde des Ténèbres, plus Exalté et plus Sion. Donc...
le peuple.
Donc ça risque d'être assez dense. Il est même possible, à vue de nez, j'ai pas fait les calculs, mais normalement on était à 70 pages sur le Veilleur 1, 60 pages sur le 2. Là je dirais qu'on pourrait arriver aux 80 pages pour le 3.
Un numéro exceptionnel. Alors.
Bah, en même temps je pense qu'il faut qu'il le soit parce qu'on a pris un peu de retard. Bah,
donc, c'est ça me paraît... la donne est inclue en fait.
Ça me paraît logique. Ouais, ça peut être ça.
C'est ça.
Bah, peut-être qu'il va falloir que je trouve que je coupe des trucs d'ailleurs, mais bon.
Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre dans ce Veilleur?
Alors, dans le Veilleur, il y aura des scénarios. Ce sera pas la majorité des articles, mais il y aura des scénarios. Il y aura surtout, en fait, il y aura pas mal d'aides de jeu. Alors qu'au début, je sais qu'on avait du mal à en trouver. Donc finalement, parce qu'il y a deux rubriques en fait, en plus du scénario dans le Veilleur, il y a la rubrique inspiration et la rubrique aide de jeu. Donc là, il y a pas mal de choses. Autant d'ailleurs sur, par exemple, le bestiaire des profondeurs par Nomastar. J'en dis pas plus pour que quand même les gens aillent acheter le fanzine.
Non mais bon, c'est ça. On peut dire que ce sont des bêtes qui sont dans les profondeurs, par exemple.
Oui, comme bestiaire des profondeurs.
D'accord. Alors, c'est... Par exemple, il y a le poisson rigolo avec la lumière.
Non, alors c'est profondeur souterraine. C'est souterrain, c'est ça?
De tout, en fait. Il y a la profondeur souterraine. En fait, j'ai un peu mis toutes les légendes françaises. Je me suis limité au territoire national. Hein. Je suis pas allé chercher trop
Chauvin.
Loin. Je suis pas allé chercher trop loin, mais toutes les légendes françaises, en gros, qui parlent de bêtes ou de monstres vivant dans les ténèbres, des profondeurs, alors que ce soit les profondeurs des lacs, des puits, des cavernes.
Il y a la chèvre du fossé, du grand fossé, par exemple. Il paraît que c'est elle, parce qu'elle mange des enfants, c'est dans les fossés.
Non, il y a une bête comme ça qui vit dans une fosse. Il y a une bête qui vit dans une fosse.
Non, mais il s'y connaît vraiment beaucoup.
Mais c'est pas une chèvre. C'est pas une chèvre. Non, mais peut-être un jour il y aura peut-être une. Voilà. Je parlerai d'une chèvre, mais qui vivra pas dans un fossé.
C'est Monsieur Seguin.
Bon, très rapidement, il y aura une présentation du monde des abyssaux, du labyrinthe des abysses dans Exalté. Moi, je suis en train de travailler sur une synthèse de la folie malcave, la malcavie en fait, dans Requiem. Il y aura un article de Nessae sur en fait, la folie dans Requiem après l'étreinte, comment l'étreinte peut avoir un impact sur l'esprit donc des vampires.
Qu'y aura-t-il du mage sur les abysses?
Eh ben, j'aimerais bien qu'il... Ben, c'est en cours, alors il faut que je trouve quelqu'un pour le faire, sinon ce sera moi.
C'est quelqu'un qui écoute et qui a envie de prendre sa plume, hein, et de rejoindre la fabuleuse équipe.
Parce que c'est vrai que ce serait un peu bête de faire un volume sur les abysses sans parler de mage. Enfin bref.
Je sais qu'il y a quelqu'un là qui écoute, même malgré...
Aussi de personne, c'est pour ça qu'il y en a plusieurs.
Donc, toi qui nous écoutes là, maintenant, tourne pas la tête, non, touche pas à ce volume, reste ici. Et appelle-nous.
Voilà, envoie. Il suffit d'envoyer un mail à cyprius@laposte.net et comme ça vous serez harcelé pour que l'article sorte.
Je faisais envie.
Donc voilà. Non, mais sinon ce sera moi qui l'écris.
Non, non, s'il vous plaît, venez, voilà.
C'est un truc bien.
Voilà, il y aura, j'ai pas prévu de rajouter un petit encart sur, parce que il y a plusieurs, c'est plusieurs fois abordé dans certains bouquins, et un petit encart sur la plongée, la pression sous-marine, bon, c'est très spécifique, mais, on a une rubrique, non, mais on a
une
rubrique.
Sur la plongée sous-marine.
Non, la ouais, plongée, ouais. La pression sous-marine. Et on a une rubrique,
la pression?
Non, ouais, dans le monde des ténèbres, le système de la pression sous-marine dans le monde des
ténèbres. Arrête de rigoler. Parce qu'en fait, il me manque la rubrique règle d'or, donc ça pouvait être pas mal pour. Et voilà. Et la rubrique inspiration, donc il y aura un petit billet philosophique bien sympa. Il y aura un encart sur les villes englouties, en mythologie universelle. Et Nessae, encore elle, a fait une petite liste personnelle d'inspiration en BD, en livre, en manga, du thème des abysses, aussi bien la folie que aquatique. Voilà. Dans la rubrique Alter Mundis, qui est en fait la rubrique hors MDT, normalement, on devrait avoir un article sur Polaris, qui est en cours.
Il y aura un article sur Polaris.
Et un article sur Patient 13.
Et donc moi je suis dans les scénarios.
Et voilà, et Better Dead dans le scénario pour changer The Lost, et bon, moi il y aura le volet 2 de la campagne d'Exalté que j'ai commencé depuis le numéro 2.
Voilà. Rien sur les Rokéas.
Je voulais peut-être parler d'un supplément, mais ça va peut-être faire beaucoup, et puis bon, ça va finir, ça va dire le fanzine de Cyprius bientôt. Mais je voulais rajouter peut-être un supplément, alors si quelqu'un veut le faire, une critique de supplément qui était très... comment dire, très mal vu à l'époque.
Ouais. Blood Diamond Tide.
Enfin, il est encore mal vu maintenant.
Oui, à cause de
ça. Je vais faire un supplément de critique.
Un supplément de critique, ouais, vas-y. Quel est ton scénario aussi. Oui, parce qu'il y avait un supplément sur le monde de l'eau, mais qui est pas si mal que ça. Je pense que les gens n'ont pas aimé à cause de la couverture où il y a évidemment un crabe géant. Voilà, c'est un crabe géant, la couverture.
Ah oui, c'est... Est-ce qu'on dit Blood
Diamond?
Blood Diamond Tides.
Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un supplément crossover.
C'est bien,
pour le FDT.
Non, mais il y avait des super trucs pour
changer. Merci. Voilà, parce que tout le monde se moque de moi quand je dis que
j'ai rien lu d'autre. Je crois que sur Raid, ça devait avoir pas mal aussi.
Non, il y avait les Patients Fantômes, le Hollandais Volant.
Les Rokéas.
Arrête avec les Rokéas, les Rokéas c'est un supplément spécial, c'est encore autre chose les Rokéas.
Ils sont même pas dedans les Rokéas en plus. Si, j'ai vu quand même un requin garou traîner dans le bouquin.
Ah oui, il traîne, mais forcément. Faut bien, mec, il y en a un qui traîne dans l'océan.
C'est ridicule. je sais pas si c'est mon souvenir, mais je me rappelle une espèce de grosse tête de poisson avec des jambes.
Tu vois, j'aurais pu me... C'est un hybride de poisson.
Ouais, c'est comme dans les dessins animés pour enfants horribles.
C'est ridicule.
Scooby, pense à Scooby, le futur.
Mais ça a un côté un peu sexe.
Sexe?
Non, mais tu
vois. Sur pattes.
Un peu verge à pattes. Hein. Tu vois,
bon, peut-être que ce sera coupé. Ça.
Bref, non, et c'est un supplément où il y a en fait le monde de l'eau dans Vampire. Bon, c'est un peu pour ça que Vampire c'est un peu nul. Non, il y a les Lassombras qui vivent. Non, parce que les Lassombras vivent dans les abysses parce qu'il.
Ah bah oui.
Mais les Lassombras sous l'eau.
Mais il y a les Lassombras, je crois qu'il y a une cité. Arrêtez de jouer.
Bref, heureusement, il n'y aura pas de critique de supplément.
Si, peut-être.
Ah, c'est pas grave.
Mais non.
Si.
Non, mais pourquoi pas parler du supplément en tant que tel, et puis faire une fiche là-dessus. Ouais, si j'ai le temps.
Un petit encadré.
Voilà. Et rien que pour la couverture, j'aimerais bien la mettre dans le fanzine. C'est quand même une belle couverture, bien particulière.
Non, mais bon, allez, il va être bien quand même, franchement, achetez-le, il va être super. On a tout.
Oui, on aura une très belle couverture de Miss Gizmo.
Qui tue tout.
Voilà.
On n'en dit pas plus. Après, des chèvres du gouffre.
Hein. Non, mais pour synthétiser, voilà, je pense que
c'est pas une chèvre.
Je pense que ce sera un veilleur assez dense, en fait.
Ouais, ça me rend un veilleur très éveillé. Bon, bah voilà, donc vous avez rendez-vous pour. En tout cas, alors, c'est ça.
On va dire début 2009.
Début 2009.
Ce sera prêt quand ce sera prêt. En tout cas, voilà. Vous avez rendez-vous dans un instant, juste après cette pause, pour la présentation de nos amis les Prométhéens.
Oui, la rubrique Prométhéens.
Voici pour Vox Ténébrae, la radio de la bière et du jeu de rôle.
c'est une belle impro.
Surtout Xavier. Alors, maintenant, Prométhéen par Cyprius.
Pas que moi, il y aura.
J'espère. Par. Non,
Matt, par tout le monde.
Et par Jérémy. Non, pas par moi.
Mais si tu veux, dans ton point de vue.
Et nous avons un nouvel arrivant.
Voilà.
Surprise, c'est un ancien de Ténébray. Hein.
Un grand ancien.
Oh, grand ancien. Michael, aka Mika Chewbacca, qui est surtout accumulé le fortune de l'illustrateur. Et aussi pour mes coups de gueule passagers, parfois, bon, certains s'en souviendront, d'autres l'auront oublié. Mais bon, c'était pas grave, je suis là avec vous ce soir pour parler de toutes ces belles choses.
D'accord, alors donc je t'explique un petit peu les règles du studio. Hein. Et, d'ailleurs, Nomad Star, on
t'a pas d'armes,
t'as pas d'inampé.
Ouais. Donc, déjà, normalement, voilà, si on veut parler, tu vois, pour éviter d'interrompre, ouais. Il faut allumer une petite lumière en fait, comme ça. On t'appuie sur ce bouton là, okay. Et en fait, quand on voit la lumière donc, qui s'allume, on sait que.
La rose ou la bleue?
La jaune.
La rouge.
Non, c'est la jaune.
Non, parce qu'on est dans un nouveau studio. Alors, on s'excuse vraiment. On sait qu'on n'a pas un son qui est super dans ce studio-là, mais
parce que la table de mixage, on la connaît
je
pas.
Préférais l'ancien. Hein.
Mais alors, en fait, depuis le début du podcast, là, j'ai été super impoli parce que je vous ai coupé sans allumer la lumière.
Oui, mais on va dire que c'est ta faute qu'il y a un mauvais son et tout.
Donc. D'accord. Oui. C'est normal. Ce qui se passe depuis le début, c'est moi. Hein.
Bon.
Ah bah oui, ça peut être quelque chose, de toute façon, il y a un coupable.
Alors, on revient.
Il paraît qu'il torture des petits enfants cancéreux.
Oui, tout à fait.
On en parlera après pour la nuit ténébrée. Ouais. Prométhéen.
Prométhéen, on peut dire que c'est le quatrième jeu du nouveau monde des ténèbres.
Et c'est le premier jeu à gamme limitée.
Et le premier jeu original depuis...
Et original en plus. Ouais, enfin, au thème original, parce que les jeux, c'est des nouveaux jeux. Oui, parce que...
Et qui ne reprend aucun jeu existant du MDT1.
Exactement.
À part Momie.
Un petit peu de Momie.
Une partie, un petit peu de Momie.
Un petit cinquième.
On va parler des népris, des osiériens.
Voilà, alors, bon, Prométhéen...
Ils osent jamais rien.
Exactement.
Donc Prométhéen, alors sous-titre, alors...
Népris, on aurait pu
le créer aussi.
Le créer, moi j'aime pas trop, mais en français c'est vachement difficile.
La créature artificielle.
Voilà, j'aurais bien aimé le mot d'artifice en traduction, mais vraiment.
Anglais,
on s'en fiche, ce sera jamais traduit de toute façon.
L'assemblée.
Hein?
Ouais. Quoi.
J'ai pas compris.
L'assemblée.
Ok. Non. Ça passera pas.
Non.
Alors, c'est un jeu où on joue des créatures artificielles, c'est-à-dire qui ont été
assemblées
ou pas,
qui ont été créées par les mains de l'homme, hein, qui ne sont pas issues de la reproduction naturelle des choses, la reproduction naturelle de l'homme, en fait. Et donc, nous incarnons soit des descendants de Frankenstein, soit des descendants du golem, soit des descendants de Galatée, du mythe de Pygmalion.
Quand il parle de descendants, évidemment, il parle de créer de la même manière.
De lignage.
Ça s'appelle des lignages. En fait, c'est vrai que, effectivement.
On détaillera plus tard, voilà. Il finit.
Bah, c'est ce qu'il décrit les lignages.
Et des descendants en fait d'un mythe sibérien, du chamanisme en fait, des Ulgan, donc qui sont des créatures qui ont une certaine affinité avec le monde spirituel, avec les esprits, les ténèbres, les fantômes, les ectoplasmes, les...
Alors,
vous devriez avoir un bruitage spécial Better Days.
Il le fait très bien lui-même. Par rapport à ce que tu as donné comme liste, que j'aime bien moi, dans le jeu de Xenaborg. Les népris.
Les népris qui sont en fait des descendants d'Osiris qui, comme tout le monde sait, a été découpé en morceaux par son frère Seth.
Oui.
Et qui a été réassemblé
par sa femme Isis.
Alors justement, rien qu'avec la liste, on voit déjà que c'est un jeu qui moi m'a évidemment intéressé par rapport à toutes les références littéraires et mythologiques.
Exactement.
Puisque Frankenstein évidemment, c'est issu de l'œuvre de Mary Shelley.
Frankenstein, ça s'appelle Frankenstein ou le mythe du Prométhée moderne.
Voilà. Oui, d'ailleurs, il faudrait revenir sur le nom de Prométhéen. Effectivement, c'est basé sur ce sous-titre-là. Le Golem, c'est donc une autre œuvre
messianique
de la littérature fantastique. Le golem, la créature
du rabbin juif,
du ghetto d'Arcevie.
De Prague.
C'est le ghetto de Prague aussi.
Écrit par Gustav Meyrink.
Oui, très juste, très belle œuvre, mais qui n'a rien à voir avec le mythe original, qui est, on va dire, une sorte de pèlerinage philosophique, mais qu'on retrouve aussi dans le jeu, justement.
Ouais. Effectivement. Pareil pour une bonne partie de la description des Ouïghans est issue des recherches de, alors, pour ceux qui connaissent, c'est assez quand même assez pointu, de Mircea Eliade sur le chamanisme en Sibérie. Donc c'est, surtout ceux qui ont fait des recherches en littérature connaissent un petit peu.
Ça donne quoi le chamanisme sibérien?
C'est assez violent, enfin moi je suis pas un expert, mais bon, les Ouïghans sont décrits. Alors les Ouïghans c'est un peu particulier, c'est-à-dire qu'on démembre des gens. C'est ça, hein?
Non, c'est les esprits qui les démembrent.
C'est oui, c'est les esprits qui les démembrent.
Voilà, on démembre par les esprits.
Et
Et reconstitué par les esprits.
D'ailleurs, lorsqu'un Ouïghan devient humain, il laisse sa part spirituelle se faire démembrer, encore une fois, par les esprits.
Mais c'est vrai que tout ça, c'est vraiment issu de recherches véridiques hein, sur les pratiques chamaniques en Sibérie. Voilà.
C'est-à-dire qu'en Sibérie, on se démembre.
Oui, mais apparemment ailleurs aussi. Hein. Je crois qu'il y avait, il a écrit un livre où il explique qu'il y a pas mal de, c'est Mircea Eliade, hein, il y a pas mal de points communs entre chamanisme en Sibérie et dans d'autres civilisations. Et puis Galatée, hein, avec les Galatéens, c'est évidemment, c'est chez Ovide, un auteur latin, dans les Métamorphoses.
C'est même plus vieux, je crois que c'est. On le retrouve dans certains auteurs grecs, il me semble, des auteurs grecs anonymes, par contre.
C'est dans une anthologie peut-être oui. Palatine qui en fait une sorte de regroupement d'auteurs dont on n'a pas le nom. Mais le mythe a vraiment été mis en scène par Ovid dans les Métamorphoses. Isis et Osiris évidemment, c'est le mythe connu. Donc c'est vrai que pour ça, c'est assez intéressant. Il y a pas mal de références à l'intérieur du livre, justement, à toutes ces œuvres-là. Donc c'est vrai que moi voilà cette personne ça m'intéressait beaucoup et ça peut être les sources hein, justement pour créer les histoires de Prométhée. Elle est trop de lumière là, il y a ce qui est moi je décide pas, je ne vois plus rien. Sinop était le premier
justement. Alors Prométhée, qu'est-ce qu'on joue exactement, quel est le but, quel est le thème et l'ambiance?
La grande ligne, ça fait beaucoup là. Alors, le principe c'est de jouer ces créatures là qui sont donc artificielles et qui sont des créatures qui ont un corps mais qui n'ont pas l'âme humaine. Voilà. Et leur but, il leur manque quelque chose. Donc, on joue une créature qui éprouve un manque. Et, Betardez, une question? Tu viens d'appuyer sur une lumière, tu t'es trompé.
Ah merde, je voulais pas appuyer, désolé.
Et donc, il rejette.
Je voulais demander en fait.
Ah, d'accord, ok.
Non, mais c'est des créatures qui sont quand même vachement différentes l'une de l'autre.
Voilà. Hein.
Donc, par exemple, entre une momie et.
Est-ce que c'est une momie? C'est pas une momie en fait. Oui, les népris, peut-être qu'on peut parler de la création à la rigueur. Les népris en fait sont créés, si je me souviens bien, c'est à partir de l'eau. C'est dans l'eau.
Des cadavres immergés.
Voilà, c'est des cadavres immergés.
Il leur manque, comme Osiris, normalement, il leur manque une partie d'Osiris, il lui manquait son sexe. Pour les népris, il leur manque.
Tous les népris, sinon, seraient des eunuques.
Non, pas tous.
Il leur manque une partie de leur corps, mais pas forcément l'entrejambe.
Leur taille droite.
Les Prométhéens peuvent-ils avoir des relations sexuelles?
Alors oui, ils peuvent même avoir des enfants.
Exactement.
Non.
On va y revenir dans un supplément.
C'est très rare.
C'est très rare. On va y revenir dans un supplément. Bon, les Frankenstein, hein, là c'est l'image classique. En fait, plusieurs membres rassemblés pour faire un seul corps.
Rassemblés par l'énergie de la foudre. C'est toujours une question d'énergie, l'énergie de la terre, l'énergie de l'eau, l'énergie du feu.
En fait, c'est vraiment un jeu qui est centré sur l'alchimie.
Voilà. Bon, le golem, c'est de l'argile et des invocations. Enfin, c'est aussi le nom de Dieu.
Émet.
Ulgan, on l'a décrit, c'est spirituel principalement.
Oui.
Et Galatée, donc là, c'est.
C'est...
Alors, contrairement à Frankenstein, qui est plutôt une création d'un corps gigantesque, fort et.
Oui, là, c'est.
Et résistant. Là, c'est plutôt essayer de créer le corps parfait,
la beauté ultime.
En mettant les goûts, les
coups. Comme l'a fait Pygmalion avec Galatée, en créant une statue à l'image de Vénus.
Oui, ils ont des éléments, pas forcément, ils ont des éléments aussi de mannequins. Enfin, c'est aussi des éléments d'autres matières que les corps humains, les Galatéens. C'est pour ça que ça peut être des mannequins, il peut y avoir des genres de.
Oui.
Enfin, c'est peut-être de cire.
C'est peut-être plus spécifique, ça, je crois.
Ça, c'est. En fait, à chaque fois que. Un Prométhéen utilise ses pouvoirs, donc ses transmutations en face des humains, il ressemble à son aspect physique réel. Par exemple, les Frankenstein, on voit des cicatrices partout, ou des boulons peut-être. Les népris, on voit que c'est une sorte de momie qui sent bon. Les galatéites, c'est des poupées, etc., etc. Et ce n'est pas tout le temps. C'est seulement lorsqu'ils utilisent ces pouvoirs-là qu'ils sont.
Oui, c'est transmutation, guérison avec la foudre.
Si on peut parler aussi de quel rôle de l'alchimie dans, dans la vie des Prométhéens, vis-à-vis de leur but aussi.
Alors justement, le but, on en parlait tout à l'heure, donc ils n'ont pas d'âme, donc ils vont chercher une âme humaine, ou une identité humaine, et ça c'est un peu le but ultime, hein, c'est l'ultime d'une, finalement d'une campagne de Prométhéens, parce que ça va pas, arriver au bout de, d'un scénario. C'est vraiment la fin.
C'est ce qu'on appelle le pèlerinage.
Le pèlerinage.
Moi j'ai juste une question, parce que donc, Prométhéen, donc par contre le nom est fort. Prométhée. Prométhée, l'origine de Prométhée, c'est quand même un peu le celui qui a amené le feu aux hommes.
Oui, alors justement, parce qu'il y a une métaphore
du feu. Il y a une notion de feu qui est importante dans ce jeu, il me semble.
Oui, oui.
Qui rassemble déjà, les types.
En fait, pour Prométhée, d'ailleurs, il faudrait peut-être s'intéresser à savoir pourquoi Marie Shelley a appelé son œuvre Frankenstein ou Prométhéen moderne. Le Prométhée, là, c'est plutôt le docteur Frankenstein, qui est considéré comme il a été au-delà des limites imposées par Dieu, puisqu'il s'est pris pour Dieu en créant la vie. Et donc, c'est pour ça que ça s'appelle le Prométhée moderne. Et il y a cette notion qui apparaît aussi. Mais c'est vrai que par rapport à ce que tu disais, c'est aussi le voleur du feu. Et là, on arrive à l'essence, hein, l'énergie, qui est appelée Pyros. Le Pyros, en fait, si on prend le mot grec. Voilà. Qui en fait l'énergie des Prométhéens qui leur permettent d'accomplir justement pas mal de choses.
C'est l'énergie qui les anime.
Qui les anime.
Cette énergie, ne serait
qu'un et qui peuvent aussi contrôler.
Oui, voilà. C'est ça qui les anime, c'est ça qui fait qu'ils sont vivants. Alors je me vais de revenir. Ils sont à la recherche de cette humanité et ils peuvent acquérir cette humanité. Donc
il y a plusieurs. En fait, c'est comme une sorte de. C'est un peu. Finalement, il y a un pareil avec l'alchimie et évidemment à la recherche de la pierre philosophale où il y a plusieurs étapes. Pour accéder à l'humanité.
Donc c'est assez original ça comme type de jeu finalement d'avoir quelque chose qui a finalement un but, hein, parce que c'est vrai que tous les univers de jeux de rôle en général sont une boucle sans fin, c'est-à-dire qu'on peut continuer à jouer éternellement. Donc là on a un but, hein, final qui est accessible en fait.
C'est un jeu qui peut vraiment se finir, surtout qu'à la fin normalement quand le Prométhéen est devenu humain il oublie sa vie de Prométhéen. Enfin, moi j'ai vu. Enfin, j'ai pas lu tous les livres, mais moi j'ai vu qu'il y avait un oubli à ce niveau-là.
En fait, c'est pas vraiment un oubli parce que le Prométhéen peut aussi mourir et ressusciter plusieurs fois. Et au fait, ce qu'on dit, c'est que lorsque le Prométhéen abandonne son corps, lorsqu'il meurt, son corps ne donne aucune information. Par exemple, si un vampire essaye de lire les derniers instants de la mort ou un mage,
il n'a jamais été mort.
On voit que on voit rien parce que c'est vraiment un corps disloqué, composé de plusieurs morceaux, donc il n'a pas d'identité propre. Par contre, lorsque le Prométhéen ressuscite, il garde en mémoire tout ce qu'il a fait dans son ancienne vie. Et pareil lorsqu'il acquiert donc son corps définitif, son corps d'humain, son identité humaine, il se souviendra de ce qu'il a fait en tant que Prométhéen.
Parce que moi j'avais cru voir autre chose. Ok.
Donc, alors. C'est en fait, en gros, le jeu, enfin Prométhéen sur le jeu, c'est en gros c'est un peu la Golconde de vampire, sauf que c'est une sorte de passage obligatoire et c'est faisable.
Attention, ce n'est pas un passage obligatoire. Il y a des Prométhéens qui peuvent très bien dire moi le pèlerinage je m'en fous, je veux juste exister dans ce monde. On appelle ça des sanctimanies, et qui pour le coup ne font rien de ce que font les autres Prométhéens, qui décident plutôt de trouver les énergies qui leur permettraient de grandir en tant que monstre, hein, d'endosser vraiment leur identité de monstre une bonne fois pour toutes. Et donc, pour ça, ils utilisent l'énergie du chaos, qu'on appelle le flux.
C'est des antagonistes
normalement des antagonistes.
Oui, parce que le flux, c'est le revers du
revers de la médaille.
Et parce que c'est l'énergie destructrice, alors que le pyro, c'est plutôt l'énergie créatrice.
Exactement.
Alors, Popov.
Il y a deux, donc, comme dans tous les jeux du MDT, il y a deux types de splats. Le splat inné, qui est donc comme on l'a décrit, les types, comme on a été créé.
Oui.
Et le deuxième type de splat, c'est la façon de devenir humain, en fait.
Le chemin spirituel.
C'est très souple comme système.
Très souple, mais c'est quand même un truc qui est très varié, c'est-à-dire qu'il y a celui qui veut devenir humain au sens de ressembler aux humains, mais il y a aussi celui qui renie complètement l'humanité, qui assume le fait d'être un monstre. Ça se rapproche
bizarrement d'ailleurs de ce que tu viens de décrire. Ça m'étonne un peu, parce que je pensais que ça suffisait à décrire les splats.
Dans le livre de base, en fait, il est bien expliqué qu'un prométhéen, finalement, va souvent passer par plusieurs distillations, enfin, raffinements, je sais pas comment on pourrait le traduire. Ouais, mais là, je trouve que c'est quand même beaucoup plus dur, parce qu'on explique même qu'il vaut mieux que le prométhéen passe par toutes ces étapes différentes. C'est une possibilité, c'est pas obligatoire, mais c'est vrai que c'est... Moi, entre les lignes, j'ai senti que pour devenir humain, il y avait aussi cette capacité de passer par vouloir s'intégrer auprès des humains, s'isoler des humains...
Ça fait partie, au fait, de son pèlerinage. Dans le pèlerinage, il y a plusieurs milestones, on pourrait dire des pierres de passage, en fait,
milestone, c'est plus un... une étape.
Voilà, c'est une étape, exactement. Et donc, le chemin, la quête de l'humanité du prométhéen doit forcément se composer de plusieurs étapes. Par exemple, une milestone pourrait très bien être identifiée comme étant, par exemple, le passage d'un prométhéen face aux esprits, ou le passage des prométhéens face aux loups-garous. Enfin, voilà, c'est lorsqu'il apprend de nouvelles choses, le prométhéen accomplit, au fait, un de ces milestones, un de ces passages.
Gravit les marches vers son humanité.
Gravit les marches.
Et c'est vrai que je trouve que c'est plus souple quand même que les autres, parce que dans le Dramont,
les autres devraient être souples.
Oui. Et donc là, c'est vraiment le prométhéen qui choisit, en fait, cette voie, même si c'est assez simple, en fait. Moi, pour le système, c'est assez simple de changer de voie. Hein, j'ai vu ça.
C'est très très simple de changer de voie, et c'est même, on va dire, conseillé de changer de voie plusieurs fois pour pouvoir vraiment approfondir le. Son état, sachant que le prométhéen, en fait, c'est radicalement un couteau suisse vivant qui va qui va essayer plusieurs manières de
moi j'ai juste mais continue je veux juste finir la phrase après.
Donc oui, c'est un couteau suisse vivant qui va par exemple ça sert à quoi de voler ? Ben, je vais me faire pousser des ailes ou des trucs dans le genre. Enfin.
Oui, non, mais c'est vrai qu'il y a cette question-là sur les possibilités, en fait, de son corps et de.
C'est vraiment le.
Et du coup, en pratique, c'est vachement pratique.
C'est vachement pratique.
Parce que t'as besoin de t'ouvrir une bière. Hop.
Alors, en parlant de chronique, moi, c'est justement par rapport à la dynamique qu'un meneur peut avoir avec ses joueurs, dans le compteur, si
on
parle.
On dit MJ des fois.
Oui, voilà.
Ouais. Bon. Même certains qu'on dit MD.
Tout le monde l'a déjà dit.
Ça fait donc jouer de
Non, on n'a pas dit MD, jamais.
C'est vrai qu'on dit MD, je crois.
Bon. Et donc là, on parle justement de ces milestones qui peuvent être, je pense, des ressorts dramatiques très intéressants au niveau du scénario, de la dynamique qu'on peut avoir au niveau de l'histoire du personnage. Par contre, je me pose une autre question qui est autant qu'à Loup-Garou, on a une dynamique de groupe entre plusieurs joueurs qui vont se fédérer autour d'un territoire, d'un scénario, etc. Autant là, on a plusieurs créatures qui ont rien à voir au niveau de leur background mythologique, qui se retrouvent peut-être ensemble ou pas. Alors, est-ce que Prométhéen est jouable un peu comme tous les autres, tout mélangé ? Est-ce que ça peut être vraiment jouable et intéressant qu'en petit groupe, genre 2-3 joueurs ? Quelle est la configuration idéale pour jouer à Prométhéen, et quels sont les trucs qu'on peut pas faire ?
Parce qu'en fait, oui, c'est ce que j'ai cru comprendre, c'est que ces créatures, elles sont finalement très rares. Hein, et, déjà incroyable d'en avoir finalement deux ensemble, et du coup donc il y a cette question déjà, est-ce qu'ils sont compatibles même quand ils se rencontrent, et finalement d'où est-ce qu'il y a une culture prométhéenne, c'est-à-dire comment est-ce qu'ils arrivent à se passer un peu le savoir de cette alchimie et tout ça, s'ils sont aussi peu finalement pour se transmettre ce savoir.
Alors c'est des questions très très intéressantes que vous venez de soulever, parce que ces questions là sont poussé à leur extrême, en fait. Le prométhéen est non seulement une créature solitaire, mais en plus une créature rejetée par la nature.
Oui.
C'est-à-dire qu'elle, dans tous les endroits où elle ira, elle ne peut pas y rester trop longtemps, sinon elle pourrit la nature d'une certaine façon.
Et les gens aussi.
Et les gens.
Ça, c'était une critique un peu qui était souvent donnée au jeu, c'est que finalement, il n'y a jamais de lien possible entre le personnage et ce qui l'entoure.
C'est exactement ça.
C'est bien durable.
Que le prométhéen est obligé de se déplacer, il est obligé de voyager.
C'est une créature nomade. Alors que les autres sont plus sédentaires. Ouais.
Sinon, en fait, tout est chaos autour de lui. Tout devient chaos au bout d'un certain moment.
C'est une des premières créatures mammas de, du monde.
Oui, je sais peut-être même peut-être la, la seule parce ouais. que il y a pas
vampires, non, mais... peut-être les oui les Ravenos.
Ouais, mais il y a pas de système par exemple où c'est quand même très spécifique au MDT2 où on va créer la coterie, on va créer le refuge, on va créer le territoire, on va créer pour changer un Freehold. Il y a pas ça parce que les créatures se déplacent. Et d'ailleurs, c'est le seul jeu aussi du MDT2 où finalement la chronique de modèle, c'est en fait une chronique qui a pour but de faire déplacer les Prométhéens de ville en ville, parce qu'ils peuvent pas trop rester. Ils ont essayé, on en parlera, il y a un petit setting, hein, c'est à Michigan, mais voilà, c'est vraiment des créatures nomades par excellence.
C'est quand même une grosse différence vis-à-vis de les autres jeux. Disons qu'il n'y a plus les structures politiques, il y a une ville qui en général prennent une bonne partie de chacun des jeux. Là, ça devient vraiment une. On est vraiment centré sur le joueur, de toute manière. Il n'y a que les joueurs et. Par le personnage, les PJ, et autour d'eux, des humains.
Sachant que c'est un jeu qui est vraiment fait pour la chronique personnelle. Je pense que c'est le jeu fait pour la chronique personnelle, parce que c'est bien simple. Si on, il est possible d'avoir plusieurs Prométhéens ensemble.
Oui, c'est possible.
Mais dans ces cas-là, en fait, on pourrit plusieurs éléments. Par exemple, l'Osirien a une affinité avec l'eau, la Galatéide a une affinité avec l'air. Si on combine les deux ensemble, ça veut dire qu'ils vont pourrir non seulement l'eau et l'air en même temps, et que ça va être remarqué plus facilement par les humains, les autres créatures, et qu'ils n'ont pas intérêt à rester très longtemps.
Ce qui est avec ça, c'est qu'ils sont sur un chemin philosophique qui n'est pas le même, qui ne sont pas dans les mêmes étapes de l'ascension vers l'humanité.
Alors, en dynamique de jeu, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire et pas faire dans Prométhéen pour les joueurs, parce que
Avant de parler de ça, paradoxalement, il faut quand même noter que les Prométhéens ont besoin, parce qu'ils sont rejetés, de se regrouper aussi. Ça peut expliquer pourquoi il y aurait des Prométhéens aussi différents ensemble.
D'accord.
Voilà, ça c'est l'explication de base pour le groupe.
Ils se rejettent pas entre eux, c'est ça?
Non, ça marche pas le disquiet, c'est-à-dire l'inquiétude.
Oui, ça s'appelle disquiet, comment ça?
L'inquiétante étrangeté.
L'inconfort.
L'inconfort, ouais, c'est ça.
Au fait, ils ont aussi besoin de communiquer entre eux. Et pour cela, ils disposent de signes, en fait, d'un langage runique bien propre à eux, comme chez les mages, où ils se laissent des messages.
Ah,
par exemple, moi, je suis passé par là. Fais attention ici, il y a des gens méchants. Donc, ce sont des créatures qui communiquent beaucoup par les symboles, qui ont besoin de cette communication entre eux. Mais qui ne vont pas forcément aller les unes vers les autres, qui ne recherchent pas forcément la compagnie des unes et des autres.
Mais d'où vient cette communion entre ces différents Prométhéens? Parce que autant qu'il y a des sociétés, il y a des structures qui sont posées dans les autres jeux, dans, même quand il y a différents clans, différents trucs, là, qu'est-ce qui fait que la poupée animée à la japonaise et la momie venue d'Égypte vont s'entendre? Et d'où ça vient,
tu vois? Artificiels tous les deux.
Déjà ils sont artificiels. Et
comment ça se justifie dans un jeu?
Ce que je viens de dire, c'est que
comme ils sont rejetés, il y a un background, mis à part qu'ils sont artificiels, tu vois.
Il y a pas de métaplot, il y a pas de background.
Et vraiment l'explication, c'est qu'ils sont rejetés, donc sauf finalement, enfin entre eux, ils peuvent se comprendre, et les seules personnes qui ne sont pas affectées par leur, on disait donc la confort, ce sont les autres Prométhéens. C'est ça en fait, ça pas. C'est très simple comme justification, mais c'est vrai que c'est ça.
Mais alors du coup, on arrive à justifier un groupe de 5 personnes qui parlent vraiment le hasard.
C'est pas par le hasard, parce qu'il y a les pictogrammes qui peuvent faire que justement, quand vous commencez moi c'est comme ça que je vois, on commence une campagne de Prométhéen, ça peut être intéressant de commencer avec un petit groupe, et ils cherchent quelqu'un d'autre sur leur quête, parce que c'est important qu'ils comprennent aussi les différentes philosophies, qu'ils voient chez les autres différentes philosophies, qui mène vers l'humanité.
Alors d'un point de vue système de jeu, le pictogramme,
c'est...
Il y a un système
C'est pas considéré. Enfin, il n'y a pas de jet de dés de pictogramme.
Voilà.
C'est chacun communique selon les moyens qu'on lui a donné. Par contre, ça fait partie du... Pas du pèlerinage, mais ça fait partie de leur être. Ils ont besoin de le faire, soit sur eux, soit sur les choses. Ils ont besoin de marquer, au fait, chaque milestone, de dire j'ai fait ça, ou ça a été intéressant. C'est vraiment mis en avant dans ce jeu. C'est surtout, au fait, le crossover est compliqué avec ce jeu-là. Parce que toutes les autres créatures, donc les loups-garous, les mages, les voit un peu traviole, hein. Ils ont quand même la vision humaine de la chose. Même les vampires peuvent les voir.
Oui. Et puis le l'étrangeté, j'ai son peu. On a traduit l'inconfort. L'inconfort marche aussi sur les créatures surnaturelles.
Mmh. Oui, tout à fait. Donc,
c'est pour ça que les Prométhéens, faut...
c'est
difficile
c'est,
de les.
C'est difficile à mélanger. Maintenant,
c'est pas ça, je crois.
Dans une chronique à long terme, enfin une grande chronique, faire des chroniques personnelles de Prométhéens d'un côté et chroniques personnelles de mages de l'autre, et de temps en temps ils se rencontrent. C'est difficile, difficile à jongler avec ça, mais.
Ça, c'est ce que tu fais en fait. Tu fais un crossover mage.
Voilà, je fais un crossover mage prométhéen avec des mortels, avec des loups-garous. Enfin, j'essaie de mettre un peu de tout partout. Parfois, ça marche bien, parfois, ça marche pas trop bien, mais bon, ça fait quand même un an que ça marche. Donc,
C'est pas évident comme
c'est
qu'ils
mettent en place. C'est pas évident à mettre
en place. Ce que tu peux faire, c'est qu'en fait, ils peuvent peut-être venir. Ce que tu fais, c'est qu'ils viennent à un endroit, ils repartent en voyage et ils reviennent de temps en temps.
Oui, de temps en temps. Par exemple, le Prométhéen ne peut pas rester plus de deux semaines dans le même endroit. Sinon, voilà. Ou il doit changer, il doit avoir plusieurs lieux, tu vois, au moins six. Six habitats pour pouvoir rester dans la même région.
Qui laisse toujours une terre un peu en jachère.
Voilà.
Je n'avais pas pensé comme ça parce que finalement, les contacts humains ne sont pas forcément si impossibles que ça à partir du moment où ils sont très espacés et épisodiques.
Voilà.
C'est-à-dire qu'un Prométhéen pourrait venir tous
les
jours.
En même temps, ça agit. L'inconfort, ça agit très rapidement.
Ça marche très rapidement, mais seulement si le Prométhéen utilise ses dons, enfin ses
transmutations.
C'est seulement lorsqu'il utilise ses transmutations, et là, l'inconfort devient permanent. L'inconfort commence à s'installer.
Oui.
Si par exemple le Prométhéen utilise ses transmutations dans un bar bondé de monde, toutes les personnes qui ont vu le Prométhéen utiliser ses transmutations vont commencer à faire des cauchemars sur lui. Et il y a plusieurs étapes comme ça, jusqu'à l'émeute de la foule qui va le poursuivre, le pourchasser avec les torches, avec les fers.
Ça fait pas des malus sociaux en permanence, l'inconfort?
Il y a quand même des exemples dès le début où ils expliquent par exemple que voilà, c'est assez bien écrit, je trouve. Ils expliquent qu'il y a un Prométhéen qui a l'apparence d'un clochard par exemple, et les gens vont pas lui donner de l'argent tout en passant parce qu'ils comprennent pas pourquoi il l'aime pas, mais il l'aime pas.
Oui, mais voilà, c'est ça, il n'y a pas des malus sociaux en permanence.
Non, ça dépend.
Comme les garous, il y a ça.
Ça dépend des lignages en fait, parce que par exemple, les galatéides sont très belles. Elles ont une beauté surhumaine.
Mais comme
elles
sont belles,
oui, mais en même temps, tu vois, voilà, les gens, par exemple, pour les galatéides. Voilà, s'il y a un problème dans le voisinage, il y a les femmes, les commères du coin qui vont dire « Ah, c'est elle, c'est une prostituée. »
Ça ne vaut pas des malus sociaux directs.
C'est ça que c'est au niveau...
C'est
au niveau de roleplay. Du
coup, si l'inconfort n'arrive qu'au moment où les pouvoirs sont utilisés, on a l'impression qu'ils pourraient rester... se priver de leur pouvoir, mais finalement, rester tranquillement...
Non, parce que ça arrive pas que...
Non, c'est deux choses différentes, l'inconfort et la pourriture de l'environnement.
Ah, d'accord.
Il y a la pourriture
sur les acquis. L'exemple que j'ai donné, ça s'appliquera tout le temps.
Parce qu'il y a aussi la nature qui le rejette. Ouais. Et ça, c'est le plus problématique chez les Prométhéens.
D'accord,
c'est que humains. Oui. C'est que, par exemple, un Prométhéen un Osirien qui se met dans un lac et qui reste dans le lac pendant un mois... les poissons, ils vont pas survivre.
Alors donc du coup, ça force un road movie perpétuel. Hein,
exactement.
Et c'est vraiment vraiment une des critiques principales du jeu. Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Road movie, ça veut aussi dire pèlerinage, découverte de nouvelles choses.
Oui, mais ça force vraiment ce type de.
C'est cohérent avec l'alchimie et tout ce thème de la découverte de soi.
Bon, franchement, je conseille pas du Prométhéen one shot. C'est très difficile. Enfin, c'est pas assez. Enfin, c'est vrai que toutes les gammes du monde des ténèbres en one shot, c'est très difficile de les mettre en place. Mais Prométhéen encore plus, parce que justement, il y a tout un système, tout un roleplay qui doit se dérouler sur la durée, qui n'est pas possible.
Sur les critiques qu'on avait fait à Joa, c'était comme quoi, l'obligation de bouger. Le parti pris assez original, c'est-à-dire on veut devenir humain, qui est un peu à contre-courant de pas mal d'autres jeux. Ça en fait un jeu qui a eu un succès d'estime
auprès d'une certaine population. C'est-à-dire que certaines personnes ont vraiment aimé ce jeu et d'autres n'ont pas aimé. Enfin, c'est vraiment un jeu d'aficionados à ce niveau-là. C'est
Un
succès critique, mais pas public.
Au niveau du, de l'évolution, c'est un jeu à l'envers par rapport à ce qu'on joue, puisqu'on est une créature naturelle et on essaie de redevenir humain. Voilà. Et justement, il n'y a pas de règles par rapport aux autres jeux. Vous savez, au début, on fait un modèle humain. Et après, on rajoute le modèle surnaturel, mage, vampire. Là, de toute façon, vous jouez directement Prométhée.
Et s'il y avait un autre jeu qui était régressif comme ça,
lequel?
On va pas dire que Changelin était un peu comme ça. Hein,
oui,
parce que, ouais. Finalement, les Changelins étaient condamnés.
Oui, c'est vrai.
Ils étaient condamnés à devenir humains. Ça, ils n'étaient pas vraiment humains dans le sens que c'était pas complètement épuré de leur. De leurs caractéristiques surnaturelles, mais leur intérêt était complètement endormi. Ce qui fait que techniquement, au niveau de leur esprit, de leurs souvenirs et dans leur vie tous les jours, ils étaient totalement humains. Quoi.
Sauf que tu devenais changelin, parce qu'il y avait des moments où ça se réveillait chez toi.
Mais en fait, oui, c'est qu'ils étaient dans une espèce de. Enfin, leur âme féerique était entourée d'un sommeil, c'est-à-dire avant leur. C'était la chrysalide, ils sont humains, jusqu'à ce qu'ils se réveillent.
C'est comme les garous, ils ont ça dans le sang dès le début, mais ça se réveille un jour. Donc,
ouais, mais ça ne disparaît plus jamais.
Voilà.
C'est comme une espèce d'ascension, quoi, pour nous.
Ouais. 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 Enfin, toujours voilà. Un peu métaphysique.
Moi, ce point de vue-là, je trouve que c'est quand même assez. C'est un jeu qui quand même exige une certaine maturité, je trouve, au niveau de la, enfin, la création du personnage et son évolution surtout.
Surtout oui, au niveau de l'évolution, ouais. Sachant que on n'a pas parlé des transmutations, mais les transmutations en fait sont totalement tournées vers l'alchimie vraiment, mmh. Sur toutes les le raffinement de du thym, du fer, de l'argent. Il y a vraiment tout, enfin, une connotation vraiment, vraiment alchimique.
Oui, les métaux sont présentés. Voilà, il y a la théorie des humeurs aussi.
La théorie des humeurs, exactement. La bille noire, la bille jaune. Et il y a aussi le fait que dans son pèlerinage, le Prométhéen a, au bout d'un moment, l'obligation de créer un autre Prométhéen.
Oui, alors, pour revenir sur la création d'origine,
c'est comme ça qu'ils naissent. C'est comme ça qu'ils naissent.
Toutes les lignées de Prométhéens ont un créateur originel qui a donné en fait sa forme, qui a créé cette lignée. Alors qu'on appelle un démiurge.
Un démiurge, par exemple, Osiris
Arki.
A été le premier Prométhéen, il a été créé par Isis, c'est ça.
Alors c'est très mystérieux, hein, ces démiurges, on ne sait pas trop. Ce sont des mortels, des créatures surnaturelles. Voilà. Il y a un supplément qui évoque le fait que ça pourrait être, par exemple, des vampires qui ont créé.
Peut-être.
Voilà, pourquoi pas. Enfin,
n'importe qui peut peut-être.
Voilà, il y en a porté. Voilà. Mais il y a un démiurge à l'origine.
Après, toute la lignée est faite par les Prométhéens de cette lignée qui créent des nouveaux du type similaire.
Donc, chaque Prométhéen n'est pas le résultat d'un démiurge mortel ou d'un.
Voilà, c'est le premier en fait. C'est celui qui est à l'origine du premier Prométhéen.
Uniquement.
Voilà.
Les Prométhéens sont construits, enfin sont créés.
Mais c'est.
Par d'autres Prométhéens.
Le meilleur exemple, c'est Frankenstein, dans le mythe, hein, puisqu'il y a Frankenstein qui crée le monstre.
J'ai une réaction par mail qui dit, là, depuis tout à l'heure, Frankenstein, qu'il faudrait dire la créature de Frankenstein.
Oui. Non, mais là, je parle de Vector Frankenstein, le démiurge,
d'accord.
Qui est donc le mortel qui a créé
le
monstre. Et dans certaines versions, après, il y a le monstre qui crée aussi une compagne.
Oui.
Bon, c'est raté, mais pendant la fin, il essaie de créer une compagne. Voilà, et ça c'est.
Donc là, c'est intéressant parce que finalement on part du principe que le film était dans la réalité ou parce que Frankenstein c'est.
Non, c'est pas un film, c'est un.
C'est un livre, Marie Shelley.
C'est un roman à la base.
Par contre, La fiancée c'est un film.
De quand? C'est de quand?
La fiancée de. Le livre,
dans le livre ça y est aussi.
J'ai même la date exacte, 1818.
1818, oui.
D'accord. Par le principe, oui, que toute la fiction de Frankenstein, c'était vrai, en fait. C'est vraiment arrivé,
c'est ça. C'est arrivé dans cette époque. C'est-à-dire que les Prométhéens, en plus, ont une
identité qui est totalement différente. Comment vous définissez la réalité, parce que vous faites peur.
Et d'ailleurs, non.
C'est fiction, hein, la réalité.
Parce que dans le jeu, d'ailleurs,
là, on parle de choses réelles.
Dans le jeu, il y a Frankenstein, en fait, qui a fait son livre, sa version de l'histoire de Frankenstein, en fait. Enfin, la créature de Frankenstein qui a fait sa version du livre.
Ouais, c'est un peu le serpent qui se mord la queue.
Voilà, exactement.
C'est un peu ça.
Moi, juste pour faire un petit pont qui sera certainement salué dans quelques minutes, les Prométhéens veulent aller vers l'humanité, mais qu'est-ce qui va temporiser justement leur morale?
Oh là.
Alors,
parce que c'est à la base, c'est quand même un monstre, hein, je veux dire, dans le Frankenstein.
Oui,
il démembre un chien, il fait pauvre bête. Mais d'accord, mais
c'est en fait d'abord. Enfin moi, c'est comme ça que je l'ai vu. C'est des personnes qui expérimentent et qui sont curieuses. C'est-à-dire qu'avec ne comprennent pas l'humanité, elles vont essayer de voir comment elles réagissent.
Un peu comme des souris et des hommes avec le gros colosse qui va tuer la femme.
Sachant qu'attention,
George et la souris.
Attention, un Prométhéen qui tue un humain, ça reste quand même un péché.
Oui.
Ah oui, là, un péché, voilà. Un péché aux yeux de quoi?
Aux yeux de son pèlerinage. Donc il veut devenir humain, donc il doit se comporter comme un humain.
Il y a des hiérarchies donc de péchés.
C'est l'humanité.
D'accord.
Là, si vous voulez, je vous propose
de l'introduire.
Ouais, on va peut-être, parce que ça va être un peu long. Juste expliquer, c'est rapide, c'est que le Prométhéen va faire des essais pour créer d'autres Prométhéens et ils seront, enfin je dirais souvent, enfin ça peut facilement être raté, et ils vont créer donc des aberrations qu'on appelle alors des Pandoréens.
Des Pandoréens. En référence à la boîte de Pandore.
Voilà.
Donc une horreur qui s'abat sur le monde.
Une horreur qui s'abat sur le monde et qui doit être détruite.
Ce sont les antagonistes, des Prométhéens.
Donc les enfants loupés sont en fait leurs ennemis. Donc exactement. Quelque part, c'est un peu, je veux dire, t'es pas bien, t'es pas dans les critères, donc on te tue. C'est finalement la réflexion de Prométhéen.
Je
trouve ça vachement, c'est un peu facho.
Sachant que la plupart des enfants créés par les Prométhéens, la plupart des Pandoréens en fait sont des créatures totalement bêtes, totalement dénuées d'intelligence. Et vraiment monstrueuses. Il y a quelques exceptions. Mais...
Ouais. Cette fois-ci, on va pas vous présenter.
Très vite. Juste pour expliquer en fait à quoi ils servent, parce que c'est un peu touffu quand même, contrairement à d'autres gammes du Monde Éternel.
Si tu veux, là j'ai ce qui est écrit. Alors en fait, on a un quick start, un livret introductif qui arrive très bientôt, qui a été écrit par Gilles 111 sur les forums. Et donc j'ai un peu écrit ce qu'il disait sur les extensions. Donc là, on va pas prendre le temps de vous faire vraiment quelque chose de très...
Non, j'ai juste rajouté deux trois choses pour dans le détail. Enfin, pas dans le détail, mais dans les détails quand même synthétiques.
Je te rappelle que le studio ferme dans moins d'une heure.
Non, mais juste pour expliquer, il y a quatre extensions, un écran et un PDF. Voilà.
D'accord.
Voilà. D'abord, dans l'ordre, donc la boîte de Pandore.
Donc Pandora's Book, le livre de Pandore, on pourrait dire... Donc Gilles nous dit, le premier des quatre suppléments est un guide des antagonistes.
Oui.
On y trouve une description plus détaillée des Pandoriens et des...
Quintimani. C'est un terme latin.
D'accord.
En fait, c'est le jeu sur le flux, en fait.
Ouais.
C'est le livre sur le flux, c'est-à-dire le côté sombre, en fait, du Pyros.
Le chaos...
L'énergie destructrice.
Donc ce supplément décrit également les Quashmalin, dont on a parlé un petit peu. C'est le Quashmalin. Ce sont donc des entités nées du feu divin qui apparaissent sous une forme.
Ah oui, on n'en a pas parlé. En fait, juste vite fait,
spoiler, MJ.
Les Prométhéens ont juste parfois des visions, ils ne savent pas trop d'où ça vient, des présages qui les guident. Et ils appellent ça les Quashmalin, qui peuvent être des espèces d'anges gardiens, mais là, c'est un peu grossier.
On nous dit que ce sont des entités nées du feu divin qui apparaissent sous une forme angélique et les guident pour leur bien, peut-être, certains Prométhéens. Ensuite, on a donc les étranges alchimistes. Strange Alchemist.
Alors c'est une sorte de guide des joueurs en fait.
Voilà, c'est un supplément apparemment qui s'adresse plutôt aux joueurs de Prométhéen, détaille les lignages et présente de nouvelles transmutations qu'on peut utiliser en cours de jeu. Il fournit également plusieurs réflexions et conseils sur le jeu en lui-même façon un peu de l'interpréter.
C'est un supplément qui parle beaucoup.
Voilà.
Beaucoup de conseils.
Alors ensuite on a Magnum Opus,
le grand œuvre,
qui intéressera particulièrement le compteur, du vigile, permet de créer des Prométhéens à partir d'autres matériaux que des corps humains, comme le bois, l'argile, les animaux.
La pierre, je rajoute. Il y a aussi, on parle des Prométhéens oniriques, créés à partir des rêves,
c'est
certain. Et il y a aussi des rumeurs, c'est très rare, mais bon, ça peut être intéressant, les Prométhéens qui tombent enceintes.
Oui, voilà. c'est rare.
Et donc, à part ça, des nouvelles distillations et autres transmutations spécifiques. Et enfin, la gamme donc se concluait sur.
Les nuits saturnines. Oui, c'est un peu très spécifique.
En tout cas, donc, ce supplément permet d'étendre le champ de Prométhéen d'Exclated. Il introduit la notion de robot devenu conscient grâce au feu divin.
Oui,
c'est le fameux Prométhéen nucléaire.
Oui, alors il y a les Prométhéens technologiques. Il n'y a pas les clones aussi. Prométhéens technologiques et les clones.
Oui, voilà.
Et le Prométhéen nucléaire dont on parle dans le livre de base, Donc créé à partir de, c'est pas des catastrophes nucléaires type
Tchernobyl.
Tchernobyl, c'est ça.
C'est un peu ça.
Alors
c'est
lui, pour ça. Le coup, il est rejeté mais à mort.
Alors oui. En fait, qui m'a inspiré pour me partir hôpital qui ne s'est pas passé parce que c'est des créatures nucléaires qui peuvent parler au cancer des gens.
Ah bah voilà, tout s'explique. Il y a aussi non, ce qui est c'est un peu une sorte de livre des révélations,
un peu inconfortable. Hein.
Bah, t'es vite fait irradié. Hein.
C'est dans ce livre aussi qu'on parle des démiurges et qu'on soulève un peu le voile sur les démiurges, qui enfin avec beaucoup de questions, hein, qui ils pourraient être, ça pourrait être des créatures surnaturelles, qu'est-ce qu'on peut en faire, qu'est-ce
que les mages peuvent faire.
Et c'est dans, et j'ajoute parce que je crois pas que ça figure dessus. Il y a aussi c'est là où comment dire, les auteurs ont rajouté un setting avec la ville de Michigan, un setting pour Prométhéane, voilà.
Oui, on oui, en parle un petit peu. Bon, en tout cas, il nous dit qu'il propose aussi de nouveaux lignages, de réflexions sur les démiurges surnaturels, qui tient en lien avec les Frankenstein, on en a parlé avant. Chaque supplément, alors ouais, non, là il termine, donc effectivement, ouais, donc il y a ce petit.
Cette espèce de road movie en fait. Alors ce qui est super, ce qui est la bonne idée, je trouve, de White Wolf, c'est d'avoir en fait.
Voilà. Alors, chaque supplément de la gamme, en fait, y compris le livre de base, contient un scénario qui forme avec les autres scénarios des suppléments une chronique itinérante donc dans les États-Unis, Nouvelle-Orléans, Boston, etc.
Et à noter que Nouvelle-Orléans, Boston, c'est Nouvelle-Orléans, c'est chez les vampires.
Ouais.
Boston, c'est chez les mages.
D'accord.
Il y a Détroit aussi pour les loups-garous.
Denver.
Non, c'est Denver, oui, je confonds. Denver. Comme ça, en fait, on fait, ils ont repris finalement les scénarios qu'ils ont utilisés avant. Ouais. Et ils font le tour, en fait.
Donc attention, parce que les scénarios se jouent mieux dans l'ordre des livres présentés.
Oui.
Donc chronologiquement, tel qu'on les a dit. Donc attention, si vous voulez vous faire la gamme, prenez-la bien dans l'ordre.
Voilà, et je rajoute juste, parce que bon, il n'y a pas grand-chose à dire dessus, mais il y a To the Flame.
C'est un PDF.
Qui est un PDF, qui est le fameux, enfin le fameux, vous savez, le supplément SAS dont on a parlé précédemment.
Ouais, oui.
Qui est en fait un scénario voilà, avec une équipe de Prométhéens qui doivent enquêter sur des événements un peu étranges qui se passent dans une petite ville rurale. Voilà.
Donc ça c'est vraiment bien pour les fans de Prométhéens qui puissent avoir un petit peu plus de choses grâce au PDF.
Oui, parce que c'est un exemple, enfin il est comme les autres, c'est un scénario bien détaillé. Hein.
Ouais.
Donc bon, la campagne c'est quand même des éléments hein, au final, hein, c'est quand même sur quelques pages simplement.
Eh bien. Donc, quel, voilà. Quoi de, alors voilà, donc on a parlé des Prométhéens, donc ils sont à la recherche de l'humanité. On fait prochainement une nuit ténébrée, Good Guys. Donc on a pensé qu'on allait vous parler un petit peu de la moralité dans le monde des ténèbres.
Et de tous les systèmes qui s'y rattachent dans les autres.
Ouais, voilà, et puis de voir un petit peu discuter la moralité dans le jeu de rôle, avoir cette échelle comme ça. Comment est-ce que ça peut se faire de façon plus ou moins efficace? Alors,
ce qu'elle apporte, ce qu'elle.
Ouais.
Ce que ça contraint.
Alors en fait, cette échelle de moralité, en fait, ça vient évidemment de Vampire la Mascarade, hein, le premier jeu du monde des ténèbres, qui amène cette espèce d'échelle d'où on peut tomber, en fait, donc un score d'humanité.
Voilà, à l'origine, il n'y avait que l'humanité.
Exactement, il n'y avait que cette humanité, et finalement, voilà, avec le temps. Alors, c'est intéressant de voir que Vampire la Mascarade a cette échelle-là. Mais finalement, les jeux qui sont venus après, Loup-Garou, l'Apocalypse, Mage, l'Ascension, Wraith, le Néant, et Changeling, le Songe, n'ont pas ces scores, en fait.
C'était pas le thème du jeu, le thème de Vampire la Mascarade, c'était
L'horreur personnelle.
Ah, le thème d'origine, parce qu'on sait dans l'évolution du jeu de Mascarade, ça s'est un peu perdu. Hein.
Alors, ça s'est complètement perdu, parce qu'effectivement, à la troisième édition de Vampire, on arrive à un stade où... finalement, chacun peut avoir sa voie de l'illumination, en fait, puisque le sabbat est devenu vert. Évidemment, on ne pouvait plus vraiment comment dire, avoir cette voie de l'humanité en faisant partie du sabbat, puisque vraiment pas le genre de la maison. Donc du coup, on a la voie de la bête, où par exemple, il faut absolument attaquer un ennemi véritablement supérieur, c'est un péché, mais il faut absolument défier un chef qui est vraiment faible pour prendre sa place, tuer une autre... bon, alors, parce qu'il y a par exemple la voie du diable, la voie de la chevalerie, la voie du paradis, ça c'était dans Dark Age. On a la voie du sang, la voie du paradoxe, la voie du typhon, où là il faut.
C'est l'esthétique,
ça. Ouais. Donc il y a tout un tas de.
Ça sort complètement l'humanité.
L'échelle, en fait, oui.
Oui, parce qu'au final, l'humanité devenait finalement la voie la plus rare choisie, parce que quand il y a tout ce choix de voie, bah évidemment, les gens veulent essayer.
Quelque part, c'est tout à fait logique avec la dynamique de l'ancien jeu Vampire la Mascarade, puisque Vampire la Mascarade c'était clairement. Une montée en puissance et une chasse à la génération la plus basse, c'est qu'un groupe de joueurs, avec le temps, devenait de plus en plus puissant et se déshumanisait totalement. Donc c'est vraiment une quête monstrueuse du pouvoir, au final, une grosse campagne de vampires. Ouais, mis à part le petit Golgonde qui donne un autre aspect, la plupart, c'était la quête du pouvoir.
Ouais, mais dès qu'on joue un nouveau-né, l'essentiel de l'humanité.
Forcément, tu pars de l'humanité, tu descends, et évidemment, le thème, à la base, tel qu'il était imaginé au début du jeu, c'était se voir devenir un monstre, hein, c'est-à-dire se voir perdre son humanité, alors que là, évidemment, dès que le sabbat a ouvert ses portes, je dirais, au PJ, ben là, effectivement, il fallait trouver de nouvelles choses, et donc là, c'était renoncer totalement à son
humanité. Moi, c'est ce qui m'a fait quitter vraiment Mascarade, c'est le passage de la première à la troisième édition à cause de ça, ça donnait vraiment n'importe quoi.
Alors, c'est aussi symptomatique du changement presque... Le changement d'orientation du jeu, un jeu basé sur l'humanité, c'est devenu un jeu basé sur un peu plus n'importe quoi.
Mais bon,
c'est devenu Donjons et Dragons pour les gothiques.
Attention, voilà. Oh là, on va débat.
On va pas rentrer là-dedans.
Alors, et en plus, il y a Mickey en plus.
Grand
ancien.
Grand ancien, moi je ne suis pas de la première génération non plus, car on est loin. Mais.
Pas loin. Deuxième.
Mais cependant, je suis un fervent admirateur de la nouvelle mouture de vampire.
Requiem.
Voilà. Qui est beaucoup plus intéressant.
Bah justement.
Mais alors du coup, donc Justin Achilli, développeur de vampire. Alors moi, en fait, à vrai dire, je suis assez plutôt en la faveur d'avoir ces différents. Quitte à avoir un système de moralité, autant je trouve que le joueur puisse avoir sa propre échelle de moralité, son propre code d'honneur, je dirais. Que d'imposer le même à tout le monde en fait. Et bon, alors Justin Achille n'était pas d'accord avec ça, pour lui c'était vraiment, il fallait garder cette espèce d'aspect moral, donc il a créé le livre de base et Requiem du Nouveau Monde des Ténèbres, et du coup il y a cette moralité finalement qui se retrouve non plus que chez les humains et chez les vampires, mais chez absolument toutes les créatures, puisqu'on part d'une feuille de persil humaine, et bien tout doit s'appliquer. Donc évidemment les vampires gardent leur voile d'humanité qui est assez similaire finalement.
Les précisions, c'est que les humains, pour eux, c'est la moralité, simplement.
Voilà, tout simplement la moralité. Et évidemment, pour les vampires, c'est l'humanité, puisque ils ont plus qu'un écho, finalement, de leur moralité, des valeurs qu'ils avaient en tant qu'être vivant. Et alors, du coup, donc, on arrive aux garous qui ont eux-mêmes leur code d'honneur dans l'harmonie. Donc là, c'est vraiment très différent, parce que bon, c'est plus du tout la moralité humaine.
C'est bien, en fait, par exemple, autant les mages, c'est vraiment la moralité. Avec des ajouts qui sont liés à leur capacité magique, du style tu ne voleras pas une âme, tu ne feras pas des. Tu ne tueras pas. Enfin,
tu ne changeras pas quelqu'un en une autre créature.
Voilà, c'est ça.
C'est des ajouts.
Dans
Garou, il y a des remplacements.
Et à Garou, ça devient. Là, c'est vraiment intéressant l'échelle, l'harmonie, parce que ça devient. Il y a des ajouts, mais en même temps, il y a
Disons que c'est plus sur le coup, en fait, ça devient vraiment intéressant.
Ça devient. On a vraiment l'impression de jouer une autre créature, une chose humaine, par exemple, pour les Garous. Voler, pour eux, c'est pas un mal, parce que si on vole quelque chose à quelqu'un, ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne sait pas protéger ses affaires. Et donc, c'est vraiment un rapport très prédateur. On a un point de vue très prédateur. Donc là, je trouve, au niveau de l'harmonie, c'est très bien fait.
L'harmonie est chier, voilà, c'est pas spirituel. Ouais, ça n'a plus rien à voir, parce que, par exemple, ça va être s'accoupler avec un autre data, ou, tuer un autre garou dans les hauts péchés
les plus bas, normalement un garou ne doit pas quitter une meute
c'est le pire crime qui puisse arriver.
Le pire c'est
manger un autre garou.
C'est le niveau 1
c'est le niveau 10 hein. niveau 10 c'est quitter être sans meute pendant un petit bout de temps. Alors, niveau 1 c'est tuer
niveau 10 j'ai ne pas se changer pendant plus de 3 jours
hein.
Ça reste quand même très surnaturel, c'est intéressant parce que c'est vrai que les autres sont plus dans la négation un petit peu de son aspect surnaturel puisque le vampire doit éviter
les mages.
Alors donc les mages, ensuite on a donc la sagesse en fait qui est éviter d'utiliser sa magie à tort et à travers et surtout pour faire le mal en fait hein.
Les changements, c'est pareil aussi. Les changements ont pas mal de changements. Par exemple, pour eux, le crime d'emprisonner quelqu'un est un crime bien plus grave que pour un humain.
Je leur ai parlé de changement de narration. Tu pouvais peut-être nous présenter la moralité telle qu'elle est vue chez Prométhéen.
Chez Prométhéen ?
Ouais.
C'est l'humanité, non ?
C'est la même que Vampire ? C'est la même. C'est pas vraiment la même que Vampire. C'est de la moralité humaine. En fait, ça dépend sur quoi se calque le Prométhéen. En général, c'est la moralité humaine.
D'accord.
Prométhéen qui torture, c'est toujours un péché parce que c'est un grave manquement à sa voie de l'humanité.
Ça peut un peu plus se négocier alors chez Prométhéen.
ça peut plus se négocier en fonction de ce qu'il fait lui, en fait, en fonction de son pèlerinage. Moi, j'ai un Sentimani qui loue de temps en temps avec sa monstruosité, et de temps en temps avec son humanité. Donc là, il est à deux en humanité. Voilà, il peut tuer des gens, les torturer, ça.
C'est voilà. Vrai, on peut dire qu'on était infirmiers, ils se la créent leur moralité. C'est, le, voilà. C'est partie de leur étape pour arriver
ça
à.
Ça fait partie de leur étape, tout à fait.
Donc, encore une fois, c'est un jeu qui prend un peu contre-pied les autres là-dessus. Et alors, enfin, donc, il y a donc, le dernier jeu de date, donc, Changelin, les égarés, n'échappe pas à la règle puisqu'ils ont la clarté, donc qui gardent absolument tous les péchés donc, de la moralité avec, un peu comme dans Mage, quelque chose de rajouté.
Il y a aussi des changements de valeur, c'est-à-dire certains clients qui sont plus importants pour les changements.
Je crois pas, hein. Non, je crois pas. Tuer un humain, c'est pareil. Que
oui, tu as raison. L'emprisonner, par exemple.
Fait partie des choses qui sont rajoutées par rapport à l'expérience. Évidemment, le fait de kidnapper quelqu'un, puisque c'est des gens qui ont tellement souffert d'avoir été arrachés, comme ça, capturés par des êtres surnaturels. Mais alors, évidemment, tous ces mécanismes ont des bonus et des malus, en fait. C'est-à-dire que si tu te bats. Oui, alors dans Hunter, ils ont la moralité un peu modifiée.
Des façons de modifier la moralité. Voilà, mais en fait, normalement, pour terminer, pour en effet, c'est des humains. Voilà, c'est la moralité humaine, en fait. Mais je vais qu'on fasse le point.
Oui, tout à fait.
Voilà. Dans Hunter, il y a ça.
Donc, ils ont tous des malus si vous êtes bas, en fait. C'est-à-dire que le vampire, par exemple, va avoir beaucoup plus de mal à rester éveillé le jour et à interagir avec les humains.
Il n'y a que les créatures surnaturelles qui ont des malus et des bonus liés à leur position sur l'échelle de moralité.
C'est pas vrai, puisqu'il y a tout simplement le système de dérangement.
Mais les humains ont des dérangements. Tout le monde a des dérangements. Tout le monde a des dérangements, mais en plus, les créatures surnaturelles
ont des bonus, malus.
Par exemple, un changelin, plus sa clarté baisse, plus sa perception de la réalité devient.
Ouais. Alors, moi, je trouve que les changelins, du coup, c'est ceux qui s'en sortent le moins bien parce que, en fait, ils mélangent. Ce qui est mélangé dans ce concept, c'est celui qui était appelé de l'acuité, en fait, dans le premier. Dans le songe. C'est-à-dire le fait de pouvoir distinguer la réalité féerique de la réalité humaine. Et là, c'est particulièrement punitif parce que non seulement vous avez le système des dérangements où le personnage n'arrive plus à gérer finalement les crimes qu'il a fait dans ce monde, mais en plus il devient vraiment complètement taré, complètement injouable très très rapidement, quoi. Et donc c'est vraiment une façon, j'imagine, d'obliger les PJ de Changelin à être les bons, finalement, les gentils dans ce monde par rapport aux. Bref, à aimer. Moi, ce qui me gêne, c'est là, j'ai vu le film sur Mérine il n'y a pas longtemps, et vraiment, avoir un personnage comme ça en PNJ, c'est complètement enlevé au MJ, parce que tu peux pas avoir un personnage criminel qui garde sa lucidité, et au contraire, qui devrait être très intelligent et très beaucoup de perception de ce qui l'entoure.
Un niveau de lecteur Mérine, est impossible à faire.
Voilà. Si tu prends l'exemple de Mérine, il est quand même assez mégalomaniaque.
Il est complètement mégalomaniaque et ça correspond au dérangement. J'ai rien contre les dérangements, je les trouve très crédibles, en fait. Le fait que les changelings aient des hallucinations perpétuellement, ça les rend très difficiles à gérer, en fait, parce qu'ils ont ça en plus de leur
dérangement. Quand même les dérangements, hein. Quand tu commences à les accumuler, tu deviens jouable. Enfin, Hannibal Lecter, j'ai pas l'impression qu'il ait d'autres dérangements que l'obsession.
Mais en fait, les dérangements, ils restent. Tu pourrais dire qu'Hannibal Lecter a réussi tous ses jets de dégénération et qu'il a gagné aucun dérangement.
Ouais, ok, c'est super fort. C'est vrai que, dans un certain sens, c'est mal défini leur système de moralité. Par exemple, passer d'un crime abominable à un génocide, c'est contestable. C'est contestable d'une certaine mesure, parce que, par exemple, séquestrer quelqu'un et le torturer pendant 10 ans, est-ce que ça peut être considéré comme de la torture simple, ou est-ce que c'est pire que ça?
C'est obligé de voir ça.
C'est toujours, oui, voilà, c'est toujours laissé à l'interprétation du
MJ. C'est vrai que si on applique les règles telles quelles, il y aura des aberrations à un moment donné.
Oui, voilà.
Mais je pense qu'il y a un truc qui est important quand même à souligner, c'est pourquoi l'humanité, ce ressort dramatique, a été mis en place dans la gamme du monde des ténèbres. C'est au début, on avait donc. Pour rattacher, donc pour refléter la chute donc, du vampire de son état d'humain à l'état de bête. Et après, on a eu une succession de jeux dans ce monde des ténèbres qui n'avait pas du tout cette dynamique. Donc, du coup, on avait un loup-garou qui était plutôt, disons, épique et fantastique. On avait un mage qui était exponentiel et très puissant. On avait beaucoup de créatures très variées qui amenaient à des styles de jeu et des problématiques qui étaient différentes. Là, maintenant, tout le MDT s'est recentré en un jeu plus intimiste, plus horrifique. Donc plus proche des questions qui sont liées à l'humanité. Donc tout a été rapproché à ça, peut-être par une volonté justement de transformer la gamme non plus en une espèce de défilé d'effets spéciaux de gros gore, mais plutôt dans une optique d'horreur, où que que soit la façon dont on joue, quelle que soit la créature dont on joue dans un milieu horrifique. Mmh. Et quand on joue horrifique, bah quelque part, on subit les choses, on n'est pas les maîtres de l'univers, et on a la faiblesse.
Bah, tu viens de définir le MDT2.
C'est ça,
tu viens de définir le MDT2 là.
Alors, il y a une autre moralité dont on n'a pas parlé. Oui. Je suis en train en ce moment de lire Innocence, et donc le livre de base qui est sur les enfants dans le monde des ténèbres, deuxième édition. Et je dois dire, franchement, pour l'instant, ce que j'ai lu, je le trouve vraiment, vraiment bien. J'adore ce livre. Et c'est Matt McFarlane qui fait ça, et qui est vraiment très, très, on en a parlé un petit peu, qui est vraiment très doué. Malgré tout, j'ai vraiment un problème là avec cette moralité en l'occurrence, parce que ça met les enfants, les péchés vont être torturés, un animal par exemple pour la curiosité, ou un insecte, ou un oiseau, ou un lézard, ou des choses comme ça, et le vandalisme, c'est-à-dire qu'il y a deux concepts, je trouve, assez différents, qui est la cruauté, le fait de faire du mal physique à un être humain, à un animal, et le fait de ne pas respecter les règles qui sont données à un adulte. Alors, par exemple, ce qu'ils disent, c'est un péché de niveau 6, ça va être du vandalisme mineur, c'est-à-dire le fait de faire un graffiti, ou de mettre du papier toilette partout dans la classe, ou quelque chose comme ça.
Est-ce qu'ils ont génocide aussi?
Non, alors, ils ont la torture pour la curiosité, en fait. C'est-à-dire, ce qui est plutôt bien vu, puisque c'est les signes d'un sociopathe, en fait. Un enfant qui tue un chat, qui le noie, ou des choses comme ça. Donc c'est ça leur plus grave péché, ça je trouve que c'est assez fin. Ce qui me gêne en fait, c'est que, donc, comme je disais, le fait de taguer, c'est considéré comme un péché donc, de niveau 6, ce qui fait que s'il chute à cause de ça, parce qu'il a fait un graffiti, finalement il n'en a plus rien à faire de tuer un animal, même si c'est involontaire. Je trouve ça vraiment bizarre en fait, parce que...
Mais la moralité est complexe, et le problème de la mettre sur une seule ligne, voilà.
Exactement.
C'est le problème de plein de dimensions. C'est le problème des tableaux.
D'ailleurs, je voudrais revenir là-dessus, parce qu'en fait là, on a des tableaux justement de moralité, et qui sont quand même, bon, on va dire, White Wolf a été américain très longtemps.
Il est toujours.
Oui.
Il est islandais maintenant.
Oui, il est islandais. C'est pour ça que je dis ça. Et donc, il a été américain très longtemps, et donc les valeurs véhiculées par le jeu, quelque part, sont quand même imprégnées des valeurs américaines.
C'est très chrétien.
Ouais, c'est très chrétien, hein, c'est voilà. Très wasp.
Ouais. Bah, le vice-vertu.
Oui. Alors que je veux dire, si on voudrait vraiment jouer l'humanité dans son sens large, on devrait avoir une certaine souplesse au niveau des péchés, que suivant dans quel endroit dont on vient, le vol peut être plus important pour une personne ou pour une autre, ou un certain crime peut être plus important pour une personne ou pour une autre. Et c'est peut-être ce qui manque en souplesse de jeu.
Bah, je crois que c'est le compteur qui doit apporter la souplesse, et c'est pour ça qu'il ne faut pas appliquer forcément...
Il n'y a pas de conseils, il y a des conseils pour des milliers de choses, et pas pour ça. Alors ça, c'est, moi je trouve que ça peut vraiment devenir un problème. Moi, personnellement, là où j'ai vraiment, vraiment trouvé ça incroyable, c'est qu'en feuilletant Requiem for Rome, qui présente une société pré-chrétienne, en fait.
Qui n'a donc aucune valeur chrétienne.
Qui n'a a priori aucune valeur chrétienne, puisque le Christ n'est pas né.
Il n'y a pas de justement
à cette moralité.
Si. Requiem for Rome, alors, le setting officiel, c'est le début du christianisme.
D'accord, mais alors donc le christianisme, dans ce cas-là, est une secte complètement marginale. Hein.
Oui, non, il y a quand même des esclaves.
C'est pratiquement la rente chrétienne au niveau du setting de base. Après, effectivement, normalement, le système de Requiem for Rome devrait être plutôt applicable pour toutes les périodes. Moi sincèrement, Requiem for Rome, j'adore. J'aurais quand même préféré avoir un setting qui se passe pendant l'époque de Néron, par exemple.
D'accord.
C'était beaucoup plus intéressant, je trouve, pour les vampires.
Ça semble plus intéressant, mais bon.
Mais c'est pas le cas.
Je savais pas que c'était dans cette époque-là, parce que j'avais vu qu'il propose plusieurs époques,
ouais,
quand même. Hein,
mais le setting final, le plan que t'as à la fin du livre, mm-hmm, c'est la Rome, c'est le début de la Rome de Constantinople.
D'accord.
Est-ce qu'il serait pas intéressant, pour revenir à un peu sur ce dont on parlait, c'est peut-être une réflexion à poser, hein, quelque chose à plancher, des valeurs morales au niveau du MDT2, est-ce qu'il peut y aurait pas y avoir des ajustements, une réflexion par rapport au background culturel du personnage, ou tout simplement de dire ok, bon, ce personnage a eu telle ou telle éducation, de tel ou tel milieu, donc peut-être il peut y avoir certains ajustements qui peuvent être faits. Et peut-être qu'un conteur qui a envie de se pencher là-dessus devrait réfléchir à d'où viennent les personnages, quelles sont leurs cultures et l'éducation, et du coup quelles seraient leurs valeurs. Les valeurs génériques restent les mêmes, mais il y a certainement des nuances qui devraient être faites, qui donneraient beaucoup plus de richesse à la différence de deux personnages qui se rencontrent qui n'ont pas exactement les mêmes valeurs.
Alors, c'est vrai, c'est dit, un argument de la moralité comme ça imposée à chacun, c'est que finalement elle sert un petit peu de garde-fou.
C'est vrai, ce que j'ai dit.
C'est-à-dire que oui. On a, si vous avez un joueur qui aime bien comme ça, hein, comment dire, passer certaines de ses frustrations sur les PNJ, les torturer, des choses comme ça, finalement ça donne une façon de limiter ce genre d'attitude. Finalement, moi j'ai envie de demander, est-ce que si on a un joueur à problème, est-ce qu'il va pas rester un joueur à problème? Est-ce qu'on peut imposer la finesse à un joueur à problème?
Ouais, mais là, là...
Moi je pense qu'on peut pas imposer la finesse. Et d'autre part, il faut pas imposer la finesse, tout simplement parce que le jeu de rôle, c'est il y a un contrat social. Quand on se met autour d'une table pour faire un jeu de rôle, c'est on a tous la même vision de jeu de rôle, en tout cas une vision qui est compatible. On peut pas, par un système de jeu, forcer quelqu'un à faire un bon jeu de rôle avec nous.
C'est évident.
Quelqu'un qui sera mauvais par rapport à ce contrat social, qui ne rentrera pas dans le contrat, c'est pas le système qui va le forcer à être bon.
Donc quoi qu'il en soit, la vraie question n'est pas joueur ou pas joueur, c'est si de toute façon t'es avec des joueurs matures qui veulent arriver à quelque chose d'intéressant, bah, tu peux très bien mettre des nuances. Mais c'est pas le garde-fou qui fera que la partie sera bonne ou pas.
Mais au-delà du garde-fou qui permet d'éviter peut-être des dérives qu'on avait vues peut-être dans la voie de la bête dans les anciens empires, c'est aussi l'échelle de valeur, c'est aussi une manière de montrer la dégénérescence de ton personnage. Si tu fais un personnage qui au fur et à mesure chute de plus en plus, se permet de faire des trucs de plus en plus lourds, par exemple je pense à Hunter où ils sont obligés de faire des choses de plus en plus horribles en fonction, là t'as presque une symbolisation de ta perte, de ta chute, de ta dégradation qui devient intangible. Alors que l'échelle soit un peu grossière et un petit peu des fois pas très finose, je l'accorde. Mais en même temps, c'est quand même cet outil vachement intéressant de putain, je commence à tomber, je commence à devenir un petit peu un psychopathe. Quoi.
D'accord.
Et ça, c'est le côté descriptif de cette échelle qui peut être très intéressant avec des joueurs matures. Parce qu'un joueur mature, justement, il va le prendre en compte. Il fait, c'est descriptif, ça représente ma déchéance, et donc il va le prendre en compte dans son évolution psychologique. Ça, c'est intéressant. Le côté punitif, je le trouve ridicule, dans tous les jeux, surtout dans Changement, parce que c'est carrément tes perceptions qui changent. Mais le côté punitif, mais aussi le côté si le joueur il s'en fiche et qu'il n'utilise pas ça dans son background, bah ça sert à rien. C'est là, ça te met des dérangements. Ça...
Je t'attends avec ça. Et moi je pense que en fait c'est simplement les développeurs de jeux qui font un jeu et qui voient des gens mal le jouer en fait et qui se disent mais c'est horrible, il faut qu'on fasse quelque chose pour que les gens le jouent bien. Donc ils essayent d'imposer quelque chose. Je crois que le problème c'est que non seulement un joueur à problème n'arrivera pas à être quelqu'un de... Enfin, c'est pas en lui imposant des règles que ça va changer vraiment la qualité du roleplay, mais en plus, finalement, oui, ça limite tout le monde, en fait. Quoi. C'est-à-dire que les gens comme... Enfin, les gens de bonne compagnie, comme on peut mis autour de cette table, qui pourraient justement avoir eux-mêmes cette gestion de la chute et de leur moralité, de leur code d'honneur, finalement, oui, c'est intéressant, leur échelle, mais on n'arrive pas vraiment... C'est pour vraiment jouer certaines idées du personnage et de la moralité quand même.
Je pense pas que les échelles de moralité ont pour but de rattraper un joueur à problème. Un joueur à problème, un joueur bourrin qui ne réfléchit pas, qui joue pour décharger sa frustration, ça restera, peu importe le système, ça restera ce qu'il est. Quel est le but? Je pense c'est pour donner une échelle de valeur sur laquelle on peut s'entendre vis-à-vis de cette dégénérescence. Parce qu'on parle de la dégénérescence, si on est entre joueurs de bonne volonté, oui, mais moi je pense que ce truc-là vaut plus que ça. Est-ce que même un joueur de bonne volonté va pouvoir...
Est-ce qu'un humain de bonne volonté a pas
un joueur de bonne volonté aura la franchise de dire, ouais, j'ai fait un truc grave, je prends des points de dégénérescence parce que je veux... Enfin, ça donne une certaine...
C'est l'humanité aussi, mais il n'y a pas un humain qui a le même code de valeur non plus. Donc est-ce que tu retrouveras chez les PJ, tu retrouveras chez les humains aussi, non? Ça semble plus réaliste comme ça.
On
n'a pas tous la même échelle.
Dans la vie de tous les jours, t'as quelqu'un qui va trouver tout naturel de donner une pièce à quelqu'un qui va pas bien, l'autre qui va dire mais ça va pas, cette personne elle devrait travailler pour avoir de l'argent, tu vois.
Là c'est pas de la moralité. C'est de la moralité, mais c'est pas un péché, tu vois. Ne pas donner une pièce à un clochard, c'est pas un péché dans l'idée, c'est juste un acte de charité.
Un acte égoïste, tu connais?
L'égoïsme,
c'est dans la moralité.
C'est l'un des
pensées égoïstes. Ah
non, l'acte égoïste. Enfin, là, j'ai pas la même vision. Vous savez,
ah, tu vois, bah,
l'acte égoïste.
Et bien voilà. Là, on n'a pas la même vision.
L'égoïsme, c'est-à-dire que l'égoïsme que je n'accepte pas.
C'est dégueulasse que tu dis.
Pas du tout. Je veux dire que c'est même. Toute charité bien ordonnée commence par soi-même.
Mais d'accord.
Pas de proverbe.
Alors, ça, c'est un péché ce que tu viens de dire.
C'est pas la Bible, ça, attention.
Tu vas avoir des dérangements, je te dis tout.
On peut juste dire que, en fait, ça a toujours été un sujet à problème, cette histoire d'humanité. mais c'est toujours au compteur finalement d'imposer un certain équilibre entre les joueurs, de dire bon, j'accepte la plupart de vos visions, je vais essayer de faire une sorte d'équilibre, je vais pas accepter tout par contre, parce que il y a certains d'entre vous qui ont des petits problèmes par rapport à la vision globale, on va dire, mais voilà, ça peut apporter des choses intéressantes. Mais par contre, c'est moi qui décide comment interpréter tout ça.
Attention, je sais que le débat est animé, mais il faut respecter les lumières. Hein.
Ouais, enfin juste un mot pour revenir à l'origine quand même. Moi, je pense que cette moralité a surtout été, comment dire, on a mis l'accent là-dessus pour la DT2 à cause de... Ah bah, c'est pour Vampire. Hein. C'est parce qu'on s'est éloigné un peu du concept d'origine un peu romantique. Hein. C'est Vampire, juste le vampire qui est toujours entre sa bête et son humanité. Et après, ils ont peut-être voulu faire un système plus uniforme pour que ça s'applique à toutes les créatures. Et apparemment, c'est... Ah, si on fait une confiance dans le débat, c'est plus ou moins heureux en fonction du jeu et puis en fonction de chacun des souhaits. Mais effectivement, il faut que les systèmes soient plus souples. Mais ça, c'est au compteur de rajouter
compteur
et à s'adapter faire. En fonction des circonstances et du personnage.
Il y a une question aussi à se poser assez importante par rapport au système, c'est est-ce que c'est bien que ce soit aléatoire ? Est-ce qu'on peut très bien tuer quelqu'un de sang-froid et ne rien perdre du tout ? Et à côté, on peut pénétrer par effraction chez quelqu'un. Ça, c'est d'expérience. Pénétrer par effraction chez quelqu'un et boum, passer d'un coup à un niveau où on s'en fiche de blesser quelqu'un.
Tu veux dire que t'es déjà rentré chez quelqu'un?
en jeu. Bah, c'est le problème de l'aléatoire. Ouais,
ouais.
Hein,
non, parce que moi, ça m'est arrivé. Non, mais c'est du vécu, ça. De tuer quelqu'un dans la rue, ah ouais, sans faire exprès. Alors, moi, je me retrouve à rentrer chez les gens, je comprends pas pourquoi.
Non, mais voilà, et c'est vraiment un problème. C'est
le problème de l'aléatoire,
c'est-à-dire.
C'est le problème de l'aléatoire dans le jeu de rôle.
Mais pourquoi ce système-là devrait-il l'être? Parce qu'il faudrait des points d'humanité,
dans ce cas-là,
faire une vraie déchéance.
Là, ouais, alors si on fait un crime, tu perds automatiquement un point,
bah ouais.
Ça va devenir vachement dur. Enfin, ça va devenir.
Non, mais à ce moment-là, t'en mets plus des points. Enfin, c'est pas le problème. C'est, non, c'est le fait que ce soit aléatoire, c'est ça. On ne parle pas de juste transformer.
Non, est-ce que tu perds un point direct? Justement, là, c'est un côté plutôt jeu, dans le sens plus que rôle. C'est-à-dire que voilà, si t'as une échelle fixe, si t'as une valeur, tu fais ce crime-là, tu perds un point automatiquement. Au final, les joueurs vont être des petits enfants sages. Si tu permets d'y réchapper, là, ça fait un jeu genre, ouais, je vais quand même essayer de le faire. Et le joueur, enfin là, c'est vraiment un jeu, je vais essayer de le faire. Et si j'y réchappe, tant mieux pour moi. Si je réchappe pas, tant pis. Ah, là, ça peut pousser le joueur à faire, ouais, bon, j'ai quand même faire ce truc-là, c'est un truc de dégueulasse, pour qui je ferai mon jet.
Ça veut dire que tu contrôles plus du tout l'évolution psychologique de ton personnage.
Non, là, c'est du jeu de rôle, c'est du jeu de rôle.
Et ben justement, deux façons de faire du jeu de rôle. Tu peux avoir une façon où tu contrôles un maximum de l'histoire de ton personnage. Et tu peux avoir du jeu de rôle où tu contrôles pas, où tu regardes en fait ton personnage évoluer dans le monde. Le MDT, c'est un truc, c'est du compteur, c'est-à-dire que tu comptes une histoire. Et l'histoire, c'est pas voir le personnage.
Là, on arrive dans un autre débat.
C'est un débat très idéologique.
Bah non, parce que c'est la moralité, je trouve que c'est un truc au centre de ta psychologie.
Oui, lumière, parle.
Oui, non, mais je suis assez d'accord finalement. Enfin, moi, je trouve que je suis pas totalement opposé à ce système, parce que c'est vrai qu'il ajoute une certaine valeur, un certain poids aux actions. Et pour le GD, on pourrait dire que finalement le personnage perd un peu le contrôle, c'est plus très bien où il en est, et donc il y a une partie aléatoire dans le sens, dans la narration finalement, tout ne t'appartient plus, et donc ouais, je peux comprendre ça.
C'est un choix.
C'est les limites d'un système appliqué à de la psychologie, au final.
Oui, ça, bien sûr. Moi, je pense que le système serait meilleur si on pouvait un petit peu moduler ça, c'est-à-dire que si on pouvait un peu négocier, c'est-à-dire avoir cette échelle, mais que, voilà, suivant le personnage, on puisse un peu l'arranger. Enfin, moi, j'ai eu beaucoup de problèmes, par exemple, quand j'ai voulu faire la partie Pirates des Caraïbes, tu vois, de changer. Je me suis dit, bon, comment je gère leur moralité à ce moment-là? Parce qu'ils tuent à longueur de journée, c'est leur boulot, les mecs, ils n'ont pas le choix. En même temps, bon, j'ai fait des personnages qui avaient une famille à nourrir sur une île, voilà, ils devaient ramener les vivres là-bas, parce que sinon, leur famille, leur femme et enfants allaient mourir, donc ils étaient obligés de voler, de tuer, de piller. Donc comment est-ce que je gère la moralité là-dessus, les mecs? C'est vachement dur quand même.
Non, mais c'est vrai qu'effectivement il faut que ce soit souple et adapté aux circonstances. Et
puis même cette échelle elle est
on n'a pas
une
pas
façon
la même,
de voir les choses, voilà.
Mais comme tu l'as dit, effectivement, bizarrement, c'est le point sur lequel on revient jamais dans les livres
de White Wolf. Aucun conseil sur la moralité,
parce qu'ils veulent éviter les dérives,
c'est vrai, c'est vrai.
Même dans la vraie vie, on n'a pas la même moralité en temps de guerre qu'en temps de paix. Enfin, l'histoire nous le prouve.
Ça, c'est géré parce qu'il y a des petits bonus ou des petits malus selon la situation.
ça, quand t'entends c'est dans guerre.
Non, mais c'est dans le système de base. T'as des petits bonus ou malus selon la situation.
Ouais, et j'ai vu, là je lisais aujourd'hui justement le système de l'humanité dans Requiem. Et, je trouve ça intéressant ce qu'il propose au compteur de laisser à la personne de s'expliquer, c'est-à-dire de dire bah écoute, j'ai fait ça parce que j'avais pas le choix, enfin qu'est-ce que tu voulais que je fasse. Et à partir du moment où c'est vraiment une bonne raison, peut-être donner un avantage au
dé. Dans ce cas-là, il y a justement ce principe de tempo, enfin ce principe de nuance.
Ça fait une petite nuance sur quand même une échelle assez stricte. C'est pas forcément idéal.
Mais peut-être que encore cette juge, en fait, du coup, si je vais en parler encore de ressort dramatique, en fait, tout dépend de l'ambiance qu'on pose à cette table. Par exemple, on veut quelque chose d'horrifique, de quelque chose de très intimiste, forcément. L'humanité va être un point central, on va faire quelque chose de plus épique, de plus enlevé, de plus aventureux à la Pirates des Caraïbes. Tout d'un coup, ça va passer en retrait, ça va devenir plutôt secondaire. Donc je pense que tout dépend de l'ambiance qu'on veut mettre à sa chronique. Si c'est porté justement sur la chute, sur l'humanité, sur quelque chose de très intimiste, sur l'horreur personnelle, ça va être un pilier central. Si c'est une chronique plus légère, ce sera quelque chose d'annexe. Ce sera un repère, mais ce sera pas le pilier.
C'est pas forcément léger comme chronique, ça peut être juste une chronique, c'est pas le centre.
Oui,
ça peut
c'est
être
pas
une enquête.
Sens.
Voilà, ça peut être une enquête, autre chose. Non, mais juste pour aussi compléter, parce qu'on a parlé du MDT, mais il y a aussi. Et, alors finalement, le système est tout à l'extrême, parce qu'il est peut-être un peu trop vague. Il y a aussi le système pour Sion ou Exalté, où c'est des vertus, il y a des jets à faire, pour faire telle ou telle action.
Alors, ouais, le système des vertus.
Mais là, c'est beaucoup plus vague.
Alors là, c'est plus vague. En même temps, c'est même. Alors là,
c'est
autant.
Plus héroïque.
C'est plus héroïque.
Alors là, c'est différent. C'est que l'échelle des vertus, en fait, l'échelle des moralités et variantes, c'est une échelle punitive, c'est-à-dire d'échelle à faire.
Mais il n'y a pas vraiment d'échelle.
Et sur Exalted, c'est,
ah oui,
c'est
oui.
Bonus à voir. C'est plus tu es vertueux, au contraire, plus ça te donne des bonus. Quoi.
Non,
mais
t'as
c'est
aussi,
vraiment.
T'as aussi, quand tu transgresses. Voilà, non, mais c'est bien de montrer qu'il y a les deux, en fait.
Quand tu transgresses la vertu.
Mais c'est vrai qu'entre les deux, voilà, il faut faire preuve de souplesse. Mais c'est vrai que ce serait bien que ça apparaisse dans les livres, dans la description, plus modulable.
Bah oui, voilà. Parce que c'est vrai que le MDT essaie d'être le plus universel possible, de plus avoir un supplément sur les vampires d'Orient, machin. Et pourtant, le système de moralité est purement occidental.
Très restrictif.
C'est hyper restrictif. Et en fait, moi je trouve que t'as vraiment raison, Mika, tu vois, de dire oui, ça devrait pouvoir prendre plus ou moins d'importance dans une chronique. Le problème, c'est que c'est vraiment. Il faut un peu renier le jeu, finalement, parce que c'est tellement un pilier central de toute leur gamme, en fait, cette échelle de moralité où il faut vraiment la respecter, que si tu peux évidemment décider d'avoir la règle d'or et de faire ce que tu veux, mais ça t'oblige finalement à un peu renier les valeurs qui te
sont... Disons que je trouve que c'est...
Est-ce que c'est renier un jeu et avec des règles, est-ce que le fait de s'améliorer les règles, de se les approprier, est-ce que c'est renier le jeu? Non, je pense pas. Au contraire, on va au-delà, on se l'approprie. Et on se l'approprie dans le sens de la chronique que vont faire ces
joueurs. Je trouve qu'un bon jeu a des règles qui entourent un cadre, qui sont flexibles d'emblée, en fait.
Oui.
Celle-là ne
pas obligé d'aller à contre-courant de l'ambiance pour faire la partie qu'on veut.
Oui.
Et d'ailleurs, se réapproprier les règles de moralité, c'est un péché de cœur.
Mais pour revenir là-dessus, pour terminer peut-être,
dans la voix du MJ, c'est niveau 4.
N'empêche, Vampire Requiem, quand on lit le livre, on insiste beaucoup là-dessus, et là je pense que c'est vraiment le jeu où il faudrait vraiment l'appliquer peut-être le plus strictement, si on veut vraiment respecter l'ambiance qui est décrite dans le livre.
Voilà. Il y a plein de choses
bien sûr. Mais quand tu lis le livre, quand tu lis le livre, tu vois qu'ils ont insisté et
politique.
On... Ouais, d'accord, mais vraiment, c'est le jeu sur l'humanité, Requiem, particulièrement.
Oui, c'est le jeu avec le plus.
Ils insistent beaucoup là-dessus dans pratiquement chaque paragraphe, parce que je pense qu'ils ont vu que ça s'est perdu un peu dans la mascarade, et ils sont revenus là-dessus.
D'un côté, c'est le cas aussi avec les garous, on peut dire que c'est l'un des buts d'être
harmonieux. Ouais, mais franchement, quand tu lis le livre en entier,
non,
ça paraît pas autant. Ça paraît pas autant. Bref.
Donc, pour conclure, je sais pas, moi, je pense que ça amène un certain poids, c'est vrai, parce que quand on joue un personnage fictif, c'est pas forcément facile d'avoir conscience des actions qu'on fait, mais ça devrait être plus flexible. Je sais pas, quelqu'un d'autre à conclure là-dessus.
Bah, c'est quand même mieux que l'alignement dans Donjons et Dragons.
Ouais, mais moi,
excusez-moi.
Bon,
côté ton alignement, tu le choisis.
On va peut-être
arrêter là.
Bon, donc
sur la nuit Good Guys, on en parle vite fait.
Bah là, on va pas avoir le temps, on va faire un
petit. Bah, on peut dire que c'est le 10 janvier.
10 janvier.
Ça, c'est clair. Et venez tous. Et que, voilà, c'est pas une nuit où on va faire des. Il y aura une récompense.
Il y aura que des gentils.
De qui est gentil, qui est méchant. Voilà.
Oh, ça serait bon. On fera la récompense de celui qui a moins tombé dans l'échelle de moralité.
Voilà. On aura une table de Prométhéen, c'est assez rare, donc je le signale. On a une table de Prométhéen, ça arrive une fois tous les ans.
Par Tim Burton, par Gilles 111. Voilà. Moi j'aurais le plaisir de vous proposer une table spéciale enfantine.
Avec Innocence.
Voilà, que je suis en train de dire.
Moi j'ai fait un.
Mais quand même, thème changement.
Avec beaucoup de changements dedans, ouais.
Moi je proposerais un Sion demi-god.
Voilà. Demi-god.
Demi-dieu donc. Demi-dieu, bah oui.
Ça n'est pas très vibrant.
Bah oui, parce que.
Avec de vrais morceaux de god.
Il n'y aura que du social, aucun personnage physique. Enfin, physique, tu veux dire combat. Combat
PS, physique. Allez voir l'illustration sur le forum.
Il y aura peut-être des combats sensuels.
Et il y aura peut-être des femmes au sein nu. Ouais. Sûrement.
Donc moi je ferai jouer.
Interdit au moins 18 ans.
J'ai le droit d'exister la table.
Allez,
off,
on passe la table off peut-être. Non, c'est interdit ça.
C'est interdit, non. Je ferai jouer donc une partie de Nobilis. Nobilis, le jeu où on joue des dieux super forts et on joue avec eux. Le jeu le plus élitiste.
C'est le plus élitiste du monde du jeu de rôle.
Encore un jeu fasciste.
Ah, c'est le jeu plus. C'est simplement quand tu dis que tu joues à Nobilis. C'est comme si tu dis je comprends tous les films de
jeu. Je crois qu'il y a déjà un synopsis pour ce scénario.
Et il y a la table de Nomastar, donc la mienne, qui est sur les moines tibétains.
Mortel.
Ça c'est
mortel.
Plus sympa déjà.
Ce n'est pas une table sur la politique de la Chine en ce moment. Non, pas du tout.
Les moines tibétains en face terminale. Voilà.
Presque. Ce sont des moines tibétains enfermés par les forces de la nature dans leur monastère. Et c'est une ambiance un peu au nom de la rose où il y a un meurtre et il y a aussi la sainteté qui joue, la sainteté des personnages. Voilà.
Donc la sainteté,
la sainteté.
Non, pas état terminé.
En fait, chaque personnage sera saint, enfin sera un homme saint, interprétera un homme saint.
Donc allez-y, une partie très saine. Oui, elle a
une partie très saine. Comparé à l'autre qui était très malsaine, qui est très saine, donc.
Franchement, ça a l'air cool. C'est une bonne idée.
Voilà le problème de la League Good Guys. Bon, on espère que ça marche. Ah, évidemment.
Allez, on conclut sur les inspirations extérieures. Donc, moi, il y a un truc justement lié à Prométhéen dont je voulais absolument parler. C'est une série télé qui s'appelle Terminator de Sarah Connor Chronicles.
Ouais, on en parle beaucoup, ouais.
Donc, j'ai découvert ça et je suis pas particulièrement adorateur des films de Terminator ni de Gouvernator. Voilà.
Tu parles de quelle saison ? Tu parles des deux saisons ?
Je parle des deux saisons de la série en son intégralité. J'étais vraiment surpris.
Franchement, comme ça, j'avais vraiment l'impression que c'était un vieux nanar.
Tout le monde m'a dit. C'est pas qui s'est moqué de nous à propos de Terminator, Jérémy, quand on a parlé sur un salon l'année dernière.
Je sais plus.
C'est pas Méternaise. Non. En tout cas, on s'est moqué de nous quand on a dit qu'on a parlé de la série. Parce que justement, ça avait l'air d'être un nanar, mais en fait, pas du tout.
Alors, la série part du principe que cette sombre merde qui est Terminator 3 n'a jamais eu lieu, en fait, et donc part sur l'aventure entre Sarah Connor et son fils, John Connor, qui sont toujours chassés, puisque John Connor, comme vous le savez, va devenir le héros de la rébellion humaine contre les machines.
Au niveau temporel, ça se passe entre le Terminator 2 et Terminator 3.
Voilà, alors tout à fait, enfin, Terminator 3 n'existe pas du tout, en fait, c'est une timeline différente. Okay.
C'est ça, les voyages dans le temps, parce que faire plein de séries qui se recoupent.
Alors, il faut quand même partir du principe. Si vous arrivez à accepter la gestion temporelle très étrange de Terminator, où on peut être un homme du futur qui est envoyé par son propre fils, enfin, des trucs complètement absurdes comme ça, si vous arrivez à accepter tout ça, vous allez avoir une série vraiment intéressante parce que les voyages dans le temps se démocratisent hein, avec la. Donc les Terminators arrivent de plus en plus hein, dans le passé et les humains de la résistance aussi, donc c'est vraiment intéressant finalement comme cadre parce qu'il y a une guerre à la fois dans le futur entre les hommes et les machines mais aussi dans le présent, ou en tout cas dans leur passé puisqu'ils sont en train d'essayer de changer le futur. Là il faut complètement oublier l'idée de l'effet papillon parce qu'ils essaient de changer des trucs perpétuellement mais finalement il n'y a rien qui change parce qu'il y a toujours les machines qui vont arriver et, bon voilà, donc ça c'est, si vous arrivez à accepter ça c'est quand même intéressant.
Et donc tu parlais du thème lié à Prométhéen parce qu'il y a un des personnages.
Alors la clé de voûte un peu de la série, c'est qui s'appelle Cameron, qui est la fille en fait qui est donc une Terminator envoyée pour protéger John Connor et qui
a modifié. J'ai pas tout vu encore, je crois que c'est un peu obscur encore sur les.
Elle a quelques secrets dont on va pas révéler, mais en tout cas elle a été évidemment reprogrammée pour les humains comme les Terminators, comme tous les Terminators disons alliés, et donc elle est. C'est un personnage résident dans la série qui est absolument incroyable.
parce que vraiment la crise est absolument excellente. Et alors c'est vraiment intéressant, je pense, pour un premier terrain ou même peut-être un fetch dans Change Ring, parce que elle essaie de mimer l'humanité avec beaucoup de maladresse. Il y a des choses qu'elle comprend pas, elle tourne un peu la tête.
L'actrice Satchel le fait très très bien, il y a une espèce de froideur en même temps, ouais, c'est peut-être de curiosité.
C'est-à-dire, par exemple, on lui dit un truc, elle arrive à comprendre dans son programme qu'elle doit sourire à ce moment-là, donc elle sourit d'un seul coup d'une façon complètement, complètement incongrue, quoi, oui, artificielle. Donc il y a ça, il y a également d'autres Terminators qui arrivent, il y a beaucoup de personnages, c'est vraiment bien foutu. Le personnage de Sarah Connor est différent de celle du film. Elle est plus féminine et
C'est vraiment. Elle a des mitraillettes, mais elle est plus féminine.
Oui, oui, mais elle reste.
c'est vrai.
Voilà. Non,
c'est
vrai. Ça me rappelle un jeu, ça. Macho Woman with Gun.
Non,
anthologie.
Non, parce que il y a le rôle. C'est une mère, mais en même temps, elle protège son fils. Alors, ce qui fait que bon, son fils passe à côté d'une certaine vie.
Ouais.
Enfin, il y a ça qui apparaît aussi.
Drame familial.
Oui, il y a un drame familial, mais c'est assez bien. C'est pas trop gros.
C'est un des personnages récurrents de Cameron, les femmes fortes.
Oui, c'est vrai.
De ce que soit de Ellen Ripley.
C'est vrai.
C'est un des thèmes récurrents.
Non, mais c'est vrai que
la maternité est
alors,
c'est fait avec beaucoup de finesse, musique très très belle. Hein. Le thème, moi je trouve, point de série télé, c'est vraiment sympa.
Bon, par contre, je suis pas sûr qu'il y ait une saison 3 parce que je crois que ça marche moyennement.
Ouais, peut-être.
J'ai cru vu ça pour l'instant, ils savent pas trop encore.
Et moi j'ai une question, si on parle de série, qu'est-ce que tu penses de comme inspiration Heroes pour le fameux jeu des demi-gods? Est-ce que ça peut être une belle inspiration ou est-ce que au final c'est pas du tout le même truc?
Si, tout est bon à prendre, puisque j'avais expliqué, il n'y a pas de background dans Sion.
D'accord.
Donc tu peux très bien imaginer effectivement que les Sions découvrent, tu peux très bien imaginer un setting où les Sions se découvrent au fur et à mesure, et l'humanité aussi peut-être, parce que bon, dans Heroes c'est ce qui va se passer.
Par contre, arrêter à la saison 1 Heroes, c'est ça.
Oui. Exactement. Et donc
je suis à 3, c'est pour ça marrant.
C'est vrai, putain.
C'est possible dans la mesure où on découvre des super pouvoirs, l'origine est un peu obscure effectivement, mais
ça fait un peu mage moi aussi.
De quoi? Heroes, ça fait mage
parce que ça leur tombe dessus, mage, ils cherchent le pouvoir. Là, ça leur tombe dessus.
Donc, mais pour l'héroïsme effectivement, le rapport entre je suis un demi-dieu mais je suis quand même un humain. Ça peut être une source d'inspiration, mais tout est bon à prendre. Moi, j'ai un autre exemple d'ailleurs de série. Alors, je tenais à le dire parce que elle a été annulée. C'est un peu triste. C'est Valentine.
C'est quoi ça?
Ah ouais, personne connaît parce que de toute
façon. Qu'elle était annulée.
Alors, en fait, c'est.
Elle a commencé quand même.
C'était.
C'est. Oui, elle a commencé. Il y a eu 4 épisodes.
Ah ouais.
C'est une série en fait qui prend pour principe que sur Terre, Aphrodite est descendue sur Terre et elle a créé une agent qui s'appelle Valentine. Qui se charge de réconcilier les gens, de faire rencontrer les âmes sœurs alors qu'elles sont séparées.
Ah, de ton setting de scénario.
C'est exactement ça, voilà. Okay. Et c'est bien parce qu'on voit Aphrodite, qui s'occupe d'une, qui est en fait une agence patrimoniale. Il y a son fils qui est en fait Eros. Alors bizarrement, c'est exactement la même chose que dans Sion, puisque Eros, le fils d'Aphrodite, a un pistolet. Il tire sur une femme et la femme est amoureuse. Et c'est exactement le personnage de Donny Woods, qui est le fils d'Aphrodite, qui a le.
Plus d'avocat depuis UNESCO de Underworld.
Alors je suis un peu déçu parce que c'était vachement intéressant parce qu'il y avait. À un moment, il y a. Dans un épisode, il y a. Donc Aphrodite, elle est mariée finalement à Arès et a pour amant Héphaïstos. Alors que dans la mythologie.
Il est censé être le boiteux.
Oui. Mais là, c'est... alors,
elle est mariée à Héphaïstos.
Et elle le trompe avec Arès. Dans la mythologie. Donc ils ont inversé le truc, pas mal. Et Héphaïstos, c'est un mécanicien, il est dans le garage, je ne sais pas trop ce qu'il fait. Enfin, il répare des trucs. Et il y a Arès qui arrive avec sa.
Un militaire,
son gang.
Non, c'est pas. Ouais, c'est presque son gang, les hommes en noir. Il a une grosse BMW.
C'est un peu cliché quand même.
Ouais, mais c'est Sion en fait en même temps. Parce que Sion, il faut voir les dieux. Les dieux décident de descendre sur Terre, bon, ils restent quand même, il faut quand même que vous les reconnaissez. Oui. Non, mais c'est pas mal, moi je trouve que c'était intéressant, il y a une sorte de prophétie, il y a les titans aussi qui reviennent, enfin, il y a beaucoup de Sion finalement, mais. Alors donc, moi je trouvais ça assez drôle comme série parce qu'il y a un ton très très léger. Les titans étaient marrantes en fait, au début ça commence simplement, c'est à chaque fois la même chose, hein. il y a un des personnages qui va consulter l'oracle, et il voit des personnages qui sont un peu esselés. Par exemple, il y a un épisode où il y a l'oraculaire qui voit qu'une femme est destinée à être mariée de force, dans la tradition de la famille. Et Donc elle va être mariée de force et le destin montre que si elle poursuit cette voie-là, elle finira en femme battue, etc. Donc faut absolument la sauver, etc.
Donc ça pour toi c'est une inspiration fiction.
Bah moi je vais l'utiliser pour ma partie Good Guys, parce que ça sera mon setting en fait.
D'accord.
Ça sera ça.
Donc, comme voilà. Quoi les séries, ça sert.
Ouais. Y a un truc dont je voulais parler, c'est le film qui s'appelle L'Échange en français, mais qui est là-bas, c'est
Changeling.
Je sais pas si quelqu'un l'a vu.
Je l'ai vu.
Tu l'as vu.
Alors Changeling, voilà, j'en avais parlé sur le forum. Donc, c'est le dernier film de Clint Eastwood, le dernier grand cinéaste classique de Hollywood. Ah oui. Avec, donc l'histoire, c'est une femme, dans les années 20, si je ne m'abuse, qui, enfin les années 20 d'ailleurs, ou années 30 plutôt, qui, son fils se fait en fait enlever. Et s'ensuit un long combat avec la police pour retrouver son fils. Au départ, la police, au bout de 5 mois, retrouve son fils, mais en fait, ce n'est pas son fils. Sur le quai de la gare, le policier lui montre, voilà, c'est votre fils, bah non, vous ne le connaissez pas, il a changé, blablabla, donc la femme est totalement choquée, et elle est obligée, sous la pression du policier et des photographes, de la presse, de considérer que ce garçon est son fils. Au bout d'un moment, elle insiste auprès de la police pour que son fils soit retrouvé, mais la police ne veut absolument pas admettre son erreur, déjà qu'ils sont pas en odeur de sainteté dans la vie. Donc s'ensuit un combat avec cette femme et contre la police et elle devra.
C'est
une histoire vraie.
C'est intéressant parce qu'on voit finalement que le terme changeling c'est un mot très commun finalement en anglais. Et c'est vrai qu'en français, j'ai toujours trouvé que ça a assez peu de sens finalement le terme changeling parce qu'on le voit quasiment jamais finalement arriver dans les légendes. Et finalement on devrait dire échanger quoi si on voulait vraiment avoir. Le même impact que Changeling.
L'impact, c'est l'histoire de Changeling qui est vraiment le faux bébé laissé et par le fée derrière.
Alors évidemment, le terme a grandi depuis, et quand un enfant est un petit peu bizarre, on dit qu'il y a un Changeling, ou quand quelqu'un qui est très changeant, très lunatique par exemple, on peut dire que c'est un Changeling. C'est un terme qui revient très souvent en anglais.
Mais sur le film, en fait, l'histoire de la relation avec ce nouveau fils ne prend qu'une partie du film. Tout le reste de la partie, c'est le combat contre la police et aussi contre une institution psychiatrique pour retrouver son fils. Donc,
c'est une petite partie qui peut être une inspiration.
Je conseille.
Non.
Oui, alors c'est pas un des meilleurs films d'histoire.
T'as pas l'air convaincu. Hein.
Je m'attendais à un grand chef-d'œuvre, pour se présenter, mais en fait c'est un bon film. C'est un bon film d'histoire, c'est pas son meilleur, mais c'est un bon film. Mais à ce niveau filmique, là, je rejoindrai sur BTS et aller voir les Mérines. La bille,
vraiment
biologie sur les deux films de Mérines sont très bien documenté et en même temps de très bon Cassel, vachement bon acteur.
Cassel, sûr.
Très bon acteur Cassel. Quand il est bien dirigé, c'est un très bon acteur.
Moi, j'ai préféré.
Et la mise en scène. Ah oui, peut-être
parce que. Alors, je connaissais moins l'histoire de Mérine, évidemment, dans ses débuts, en fait. Donc, peut-être que c'est avec la surprise.
Oui, c'est vrai que le premier, on considère que le premier est un peu meilleur. Le deuxième, de toute façon, il faut voir les deux, parce que c'est un film en deux parties, on peut presque le dire. Le deuxième est peut-être un petit peu plus. On s'attend à la fin, parce que. Quand on sait qu'il va mourir en 79 et qu'on va sortir en prison en 77, on se dit putain, dans deux ans il va devoir faire tout ça. Sur le coup, j'étais en train de dire, il y a cette scène dans la bande-annonce, faut qu'il le fasse, faut qu'il le fasse. Donc, j'étais en train de dire, il faut qu'il fasse tout ça quand même.
J'ai pas vu la bande-annonce, mais
j'ai jamais regardé la bande-annonce. Enfin,
c'est vrai que c'est des étapes de sa vie qu'on connaît beaucoup parce qu'il était très médiatique, donc on sait vraiment.
Il y a très bonne mise en scène.
Vraiment excellent, allez le voir sans hésiter, hein. C'est un très bon film français. Ouais.
Et des scènes d'une tension, c'est incroyable.
Ouais, on va vous laisser.
Elysian Rice.
C'est quoi cette espèce de virus là? Non, attends, tu veux faire un truc comme ça? On peut parler du dernier roman de Dan Simon.
On peut parler de Lovecraft.
Joyeux Noël, bonne année. Oui, parce que.
Il n'y en aura pas d'autres.
Ah non. On ne dira pas, mais je dis quand même.
Joyeux Noël.
Joyeux Noël, bonne année, bonne fête.
Joyeux Noël et joyeux Noël à tous les fêtes.
Et venez le 10 janvier en masse.
Bonne fête.
Bonne fête. Allez, sur cette parole,
au revoir.
Au revoir. Thank you.
la montagne sauve gagne, une partie mortelle, mais